Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour Internet. Bonjour, bonjour Adibou. Bonjour Mary. Merci beaucoup d'être là. Et comme je le disais, le chat est très très chaud puisque j'ai essayé de rattraper le chat pour dire bonjour à tout le monde, mais c'était chaotique parce que vous êtes déjà en train de débattre de c'est quoi le choix de Joël et de Ellie à la fin, est-ce qu'il y avait vraiment un choix, machin. Et on va en parler, ok? Détendez-vous. On va parler de The Last of Us saison 1 en entier et The Last of Us saison épisode 9 en particulier. Tout ira bien. On a fait un petit all-star pour ce dernier débrief, puisque je suis accompagnée non pas de une personne, mais de deux personnes, et en plus de deux personnes qui sont déjà venues parler de The Last of Us avec moi. Deux fois pour toi, Adibou, une fois pour toi, Mary. Je vais quand même vous demander de vous représenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Du coup, Adibou, qui es-tu? Que fais-tu sur les internets? Et pourquoi tu viens parler de The Last of Us? C'est quoi ton rapport à ce jeu finalement très niche, très peu connu?
Très peu connu, je crois que c'est un jeu indé qu'il a fait il y a peut-être 6 mois. Mais tout est allé très vite. Ah, la caméra me dit non, pas 6 mois.
Oui. Peut-être non, c'est un an. Moi, pardon. J'ai touché un câble, il fallait pas toucher le câble.
Je fais sur les internets? Bah, sur certains internets, je commente l'Overwatch League, donc je suis caster.
Oui.
Sur d'autres internets, je travaille avec le stream en tant que chroniqueur ou animateur pour parler manga, jeux vidéo ou débattre de trucs à la con, en tout cas avec légèreté, on va dire. Et puis dans...
Ici, on respecte la pop culture, tu vois. Dans ce stream, on prend tellement la pop culture au sérieux qu'on fait 2 heures par semaine de débrief de 1 heure d'épisode de pop culture, donc.
Et
peut-être qu'un jour, on fera un stream manga, un stream animé, débrief d'animé ensemble.
Je serais ravi de venir, bah, littéralement ravi. Et dans d'autres internets, ben on stream le matin, voilà, de 9h à midi, pour parler justement de pop culture, séries animées, jeux vidéo, tout ça. Et on rentre d'un event caritatif en Belgique qui a duré genre 6 jours au global.
My God.
Et je suis chaos technique, mais quand Mimi te demande de venir, tu ne peux jamais refuser. Donc je suis là avec grand plaisir.
Seules les grèves peuvent me séparer de mes invités potentiels, mais aussi la maladie.
La maladie,
c'est comme c'est les fléaux d'Égypte, tu vois.
Tout à fait.
Les 7 plaies d'Égypte. Il y a les grenouilles, les grèves et la maladie. Et on a eu les grèves et la maladie, pas les grenouilles, pas les sauterelles, donc ça va. Merci beaucoup HBLNEA. Je vais l'appeler, ok. Je sais pas comment ça se prononce. Merci beaucoup pour le sub, et merci à Dibou d'être de
merci
retour. Du coup, pour rappel, on avait débriefé ensemble l'épisode, je sais pas pourquoi je dis pour rappel alors que j'ai pas révisé, l'épisode 2, je crois.
Il me semble que c'était
l'épisode
2.
7 de The Last of Us. Et tu reviens pour l'épisode 9,
ouais,
car on s'était dit que c'était plutôt cool de parler du final ensemble.
Car
rappelons-le, je n'ai pas joué au jeu, tu as joué au jeu, ma deuxième invitée a joué au jeu, donc vous vous attendiez, vous étiez plus familier et familière avec ce qu'on a vu que moi. Mary.
Oui.
Welcome back.
Oui, oui.
Tu étais là il n'y a pas si longtemps.
Oui, exactement. La semaine dernière, donc on a débriefé l'épisode 9 ensemble.
L'épisode 8.
8, pardon.
Oui. Je ne sais pas pourquoi HBO a fait 9 épisodes de The Last of Us. Je crois que c'est parce qu'il y en a des plus longs et des plus courts. Et genre, à la fin, ça fait le même temps, mais moins d'épisodes. Parce qu'à la base, ils devaient couper le pilote en deux. Bref. Voilà.
Ah, ok. Et bah, c'était super. Donc voilà, j'ai bien hâte de revenir parler de ça ce soir. Voilà, en votre incroyable compagnie.
Et je suis ravie que tu reviennes. Qu'est-ce que tu fais sur les internets? Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te suivre
Alors, oui.
Il y a les petites commandes Mary et Adibou dans le chat, qui sont les mêmes que vous avez normalement déjà validées, donc ça va. Mais si jamais, pour les gens notamment qui nous écoutent en podcast, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Mary?
Bah, principalement sur ma chaîne Twitch en ce moment. On stream, alors, puisque c'est un peu le cycle de... Je l'appelle ça le cycle de la daronade, c'est-à-dire Pedro Pascal, la daronade dans The Last of Us, ainsi que Pedro Pascal, la daronade
dans Mandalorian.
Mandalorian, exactement.
Qui est apparemment vraiment genre... Pedro Pascal escorte un petit être sans défense à travers un monde hostile.
C'est son enfant, ça me fait crever, bref. Mais et du coup, je suis en train de découvrir la suite de God of War. Je sais pas si tu l'as fait. God of War Ragnarok.
Non, je ne l'ai pas fait.
Et voilà.
Ok. Merci beaucoup à vous deux d'être là. On va faire un petit rappel aux gens de qu'est-ce qui va se passer ce soir, si jamais c'est votre première fois ou si jamais vous avez oublié. Ces deux personnes ont non seulement joué à The Last of Us Part 1, donc le jeu dont on vient de voir l'intrigue en série télé, ça c'est pour le coup c'est bon, on peut plus rien spoiler du 1, c'est réglé, mais vous avez aussi joué tous les deux à The Last of Us Part 2, ouais, qui sera l'objet de la saison 2, mais pas que, de The Last of Us, puisque Neil Druckmann, donc créateur du jeu et co-créateur de la série, et Craig Mazin, co-créateur de la série et créateur avant de Tchernobyl, ont confirmé que oui, The Last of Us allait revenir pour une saison 2, mais que la saison 2 ne suffirait pas à raconter tout le plot du 2, donc on a au moins... Et aussi, ça a cartonné, ça aide. On a au moins deux saisons de The Last of Us qui arrivent ensuite, la saison 2 et la saison 3, pour résumer au moins le jeu numéro 2. Mais on ne va pas vous spoiler, bien évidemment, la suite de The Last of Us dans ce débrief, dans ce podcast, car ce n'est jamais ce qu'on fait. On est très sages.
Non, mais avec Mary, on était chaud pour tout déballer en 5 minutes chrono. C'est notre défi de raconter tout,
tout The Last of Us.
Plus d'infos en 5 minutes chrono, tu vois.
The Last of Us saison 2 en 5 minutes.
Il faudrait qu'on place des petits mots-clés.
Ouais, oh, des trucs bien
alors,
sales.
En vrai, sans dire vous allez spoiler, mais vous pouvez faire j'adore référence à des choses que les sachants et les sachantes savent. Comme on aurait pu dire toute la saison, oh là là, j'adore les girafes. Sans savoir. Et d'ailleurs, bah, Adibou est venu épisode 2 débriefer The Last of Us avec moi. Et je t'ai dit, je sais qu'il y a un moment avec un animal un peu atypique qui est pas censé être là, qui a un moment un peu fort, et t'étais là, quoi?
Ah ouais.
Hein? Et moi j'étais là, ok, bah, je l'ai vu dans une vidéo YouTube sur le jeu, mais peut-être c'est pas si important, genre, peut-être que c'est juste la personne qui a fait la vidéo qui avait bloqué sur les girafes et qui avait dit c'est un moment important. Et après, là, j'ai vu les girafes et j'ai fait, mais j'avais raison.
Si, t'avais raison. Moment sacrément iconique d'ailleurs.
Quand même, les girafes. On va parler des girafes, etc. Mais on va pas vous spoiler la suite de The Last of Us. On va débriefer ensemble à la fois ce dernier épisode et bah, toute la saison. Donc pour le coup, des fois, il y a des gens qui me disent « J'écoute ton podcast ou je lis tes récaps rigolos alors que je regarde pas la série et je suis là, quoi ?» Ou alors que je suis pas à jour. Genre, il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai pas pu voir le final, mais je vais suivre ton Twitch. » J'étais là, bah... J'aime les vues, mais n'hésite pas à ne pas. Enfin, c'est quand même dommage. Tu peux quand même le regarder et puis il te manque un épisode. Genre, c'est 45 minutes de ta vie, ça va le faire. Et la personne m'a dit, ah non, mais j'ai promis à mon mec que je l'attendrais. Et je lui dis, en vrai, moi, ma take, c'est, mens-lui. Dis-lui pas que tu l'as regardé et regarde-le. Et ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire de mal. Et surtout, ma vraie take, c'est, il faut arrêter de se promettre qu'on va s'attendre en couple pour regarder des trucs ensemble. Ou alors, il faut en avoir genre un par an. Tu peux pas, genre, toutes les bonnes séries te dire, ok, on les regarde ensemble parce qu'après, enfin, vraiment, pour peu qu'il y en ait un soir qui a une soirée et pas l'autre, t'es là, bah, en vrai, ça me retarde une semaine, les spoilers existent, il y a les lives de Mimi, etc. Je ne vous encourage pas à mentir à vos partenaires dans la vie, mais je vous encourage à ne pas vous engager à attendre vos partenaires pour les séries parce que ça va vous revenir dans la gueule. Donc, tout ça pour dire, en termes de spoiler alert, no spoil sur The Last of Us saison 2, etc. Mais on va parler de The Last of Us saison 1 dans son intégralité. Et si jamais vous vous demandez, mais alors, c'est le dernier débrief, c'est le dernier podcast, c'est le dernier récap rigolo. Qu'est-ce qui va se passer
débris,
après?
Podcast rigolo.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer après?
Merci à Dibou de poser cette question de façon si spontanée. On va continuer les récap rigolos, les débriefs et les podcasts de série puisque HBO, dans sa générosité totale, nous offre la 4e et dernière saison de ma série préférée, à savoir Succession, d'ici 10 jours. Donc vraiment, d'ici 2 mardis, c'est bon. On va débriefer Succession ensemble tous les mardis, parce que ça sort tous les lundis heure française sur HBO. Et si jamais vous n'avez pas suivi, on a enfin eu l'info de comment regarder les séries HBO légalement, puisque rappelons que The Last of Us était une exception. Jusqu'ici, les séries HBO étaient sur OCS en France. Récemment, OCS a perdu les séries HBO parce que HBO est censé sortir son propre service de streaming qui s'appelle HBO Max en France, mais ils ont pris du retard. Donc les séries sont sorties d'OCS comme prévu, mais il n'y a pas HBO Max pour les mettre dessus. Donc on était là, comment on fait pour regarder les séries HBO du coup? Genre, 2-3 trucs un peu connus, genre House of the Dragon et The Last of Us qu'on aurait un petit peu envie de regarder. Et du coup, pour The Last of Us, il y a eu un truc last minute avec Prime où il n'y avait pas besoin de payer de surcoût et on avait The Last of Us en 4K machin sur Prime à l'heure de diffusion américaine. Pour le reste des séries HBO qui arrivent, à savoir non seulement Succession saison 4, mais aussi à terme probablement House of the Dragon saison 2, The Last of Us saison 2, etc. Il faut payer le pass Warner. Okay.
Oui, 10 euros par mois, ça va être trop cool, j'hésite à le prendre.
9,99€ par mois en plus de l'abonnement Prime, mais ça contient non seulement les séries HBO, mais beaucoup d'autres choses comme Cartoon Network, Toonami, Adult Swim, notamment Rick et Morty. Vous pourrez retrouver aussi à la fois bien sûr les nouvelles saisons des séries HBO, mais les anciennes, donc si vous voulez revoir Game of Thrones, vous refaire The Last of Us saison 1, vous refaire House of the Dragon saison 1, vous refaire Succession, les 3 saisons en attendant la saison 4, tout ça va se passer sur le Pass Warner qui est additionnel au Prime, ok ? Vous l'avez chez vous, et si jamais vous aimez Succession, vous avez raison, et bonne nouvelle, on va parler de Succession ensemble tous les mardis à partir de la saison 4, et si vous n'aimez pas Succession, vous n'aimez pas encore Succession, il vous suffit de regarder Succession et ça va être super votre vie, donc regardez Succession sur le Pass Warner. Attendez, il y a mon chat qui fait chier. Momo, tu veux passer ? Oui.
Sans un personnage, Sophia.
Un gros bisou aux auditeurs et auditrices de podcast qui vivent ce moment en direct avec nous sans avoir le visuel. On les embrasse. Merci beaucoup d'écouter mes podcasts. Mettez 5 étoiles et un commentaire positif. Merci. Ok. Let's go. Ouais. On y arrive à le débrief de The Last of Us, saison 1, épisode 9, Look for the Light, le tout dernier épisode de cette saison 1, dont le titre est la suite directe du titre de l'épisode 1 de cette saison, qui était la devise des Fireflies, quand tu es perdu dans l'obscurité, cherche la lumière, when you're lost in the darkness, look for the light. Peut-être un avis un petit peu rapide, et après on va faire étape par étape cet épisode, et parler aussi de qu'est-ce qu'on attend de la suite, et de qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison en général. Adibou, qu'est-ce que t'as pensé de ce dernier épisode? Est-ce qu'il était à la hauteur de tes attentes? Et à la hauteur de la fin du jeu que toi tu as vécu en tant que gamer.
Alors j'essaie de pas trop développer, mais grosso modo, on s'était posé la question de est-ce qu'ils vont pas rush justement la fin de la saison. Et moi j'étais perdu en mode mais peut-être que en fait ils vont faire une saison 2 et ça sera pas quand même la fin du premier jeu. Et toi tu m'as dit c'est quand même peu probable. Et...
ils ont pas mal dit que la saison 1 voilà. Ce serait le jeu 1 quand même.
Du coup,
aussi ils l'ont fait sans savoir si ça serait renouvelé. Ouais. Donc quand même.
Donc tout était ça allait vite, un peu vite. Peut-être à mon goût, mais j'ai été agréablement surpris de voir que même en mettant tout au chausse-pied, ça rendait quand même plutôt pas mal et j'ai pas été déçu malgré le fait, je crois que c'est l'épisode le plus court de toute la saison. Il fait un truc genre 42 ou 43 minutes.
Il fait 46 minutes.
Ou 46 minutes,
générique de fin compris et générique de début compris. Et c'est un des plus courts. En gros, il fait la même durée que les épisodes normaux, entre guillemets, genre le précédent, il fait à peu près pareil.
C'est allé très vite, je vais pas dire trop vite, j'aurais voulu que au lieu les fameux 9 épisodes, peut-être en rajouter un ou deux ou histoire de développer plus, mais non, presque agréablement surpris de voir que même quand tu dois tout bombarder pour terminer le jeu, de voir les cohérences, de voir les certains ajouts qu'on avait jamais eu, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler par rapport à la maman d'Eli, etc. Donc non, franchement, j'ai pas été déçu. Bien au contraire, agréablement surpris, au global.
Alright. Mary.
Pour
rappeler, t'avais un rapport assez ambivalent à The Last of Us, le jeu, et notamment à cause de la violence émotionnelle, un petit peu, l'intrigue et de cette fin. T'étais là, en fait, je suis sortie du jeu et je savais pas si j'avais bien aimé ou pas. Et à la base, t'avais joué au jeu et t'étais là, en fait, j'ai pas hyper envie de continuer parce que c'est dur. Donc, voir cette fin qui a quand même eu un gros impact sur toi à l'écran, qu'est-ce que ça a donné?
J'ai bien aimé, je trouvais ça un peu court. Comme Adil le dit, c'est vrai que c'était un peu rocher. C'était un peu mis au chausse-pied, exactement. Mais c'est vrai que ça fonctionne. On en reparlera après, mais c'est vrai que moi j'ai été déçue de pas voir une scène dont j'avais vraiment beaucoup aimé l'intensité dans le jeu. Mais d'un autre côté,
ça m'intéresse. Pour le coup, j'ai vu pas mal d'avis de joueurs et joueuses du jeu. qui louait notamment, désolé, je recale la caméra en même temps parce que je me rends compte qu'on voit beaucoup de plafond, bref, qui louait pas mal le fait que le jeu soit, la série soit pas mal fidèle au jeu, mais j'ai pas vu beaucoup de à telle scène, elle me manque. C'était plutôt, non, tiens, ils ont rajouté ça et c'est cool, mais il y avait pas de à telle scène, elle m'a manqué, quoi.
Ouais, bah, et après, tu vois, il y a aussi le fait que j'ai trouvé ça court et rapide, mais j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique aussi de la fin de The Last of Us. C'est-à-dire que tu la trouves super rapide. Comme je le disais, c'est vrai que, comme je le disais la semaine dernière, il y avait ce côté où quand j'ai terminé le jeu, en fait, j'ai mis 6 mois à me dire, mais.
Ça, c'est fou quand même.
Ouais, vraiment, je me disais, mais j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, ça me laisse avec ça. J'avais 1 milliard de questions sur l'univers, sur l'histoire, sur tout, en fait. Et j'ai aussi accepté que j'aurais pas les réponses, ou du moins pas de suite, parce qu'à l'époque, il y avait pas The Last of Us 2 qui était annoncé.
Oui, il y a aussi ça, c'est que là, nous, on le vit comme une intrigue où on sait qu'elle a une suite qui est déjà écrite, parce qu'on sait qu'il y a un jeu partie 2. Ouais. La série a aussi été renouvelée pour une saison 2 pendant qu'elle a été diffusée. À la première occurrence de cette histoire, qui était le 1er juin 2013, tu finis le jeu là-dessus et t'es là. C'est tout. C'est-à-dire, c'est tout, quoi. C'est OK.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment le jeu, et du coup la série t'as pris le cœur, l'a piqué dans tous les sens, l'a brûlé, l'a torturé, l'a déchiré, là, et après il te le redonne
et te le rend après en mode tiens,
tu fais merci,
j'ai fait du tricot dessus, t'es là c'est d'accord,
j'ai ça senti,
m'a
ouais,
ouais ça... je sais, j'étais là, ça m'a piqué un petit peu, merci, je vais le mettre dans un tiroir probablement et ne plus m'en occuper pendant longtemps.
Donc voilà.
Moi, j'ai honnêtement... Alors, pour info, pour rappel, je n'ai pas joué à The Last of Us, mais avant de décider si ça valait le coup ou non d'en faire des récaps, je me suis dit que j'allais quand même m'intéresser un petit peu à l'histoire et à ce qu'il y allait avoir des raisons de débriefer à chaque épisode et est-ce que c'est une histoire aussi riche que ça. Du coup, j'ai regardé des vidéos YouTube qui me résumaient The Last of Us 1 en entier. Et j'ai décidé assez vite que oui, ça allait valoir le coup, mais aussi du coup j'ai su la fin assez vite. Donc, et je savais que cet épisode était court pour The Last of Us, c'est-à-dire 45 minutes. Tous les gens qui ont joué au jeu, à qui j'ai parlé dans ce podcast et ailleurs, m'ont dit clairement le jeu, enfin la série avance au même rythme que le jeu, donc clairement on va arriver à la fin. C'est bon, parce que moi vraiment à partir de l'épisode 4 ou 5, j'étais en mode il nous reste pas tant de temps, non, pour arriver. Enfin, on a passé un épisode entier sur Bill et Frank, c'était super. Entre-temps, on a eu un épisode où t'es venu en parler avec moi à Dibou sur Riley et Ellie, et on a parlé un petit peu du fait de... Ok, on passe quand même du temps sur des personnages qui sont des chocs émotionnels qui sont importants, mais qui font pas tant avancer l'intrigue. Et j'avoue que j'avais un peu du mal à voir comment on allait boucler, mais en sachant que, visiblement, c'est bon, ils vont boucler, et donc que la fin que j'avais vue sur YouTube, dont tout le monde parlait, ce fameux « ok », allait arriver, et du coup j'ai passé tout l'épisode à être là, je sais comment ça va finir, et je pense que c'est une fin, en fait je comprends sur le papier et dans les vidéos YouTube etc pourquoi elle a marqué les gens, mais j'avoue que je le ressens pas vraiment, genre je savais sur le papier c'est quoi la fin, je savais que ça avait bouleversé tout un public, et j'étais un peu en mode ouais d'accord, on va voir, mais c'est pas si, enfin je comprends les nuances et tout, mais c'est un truc qu'on a déjà vu etc. Et en vrai, je l'ai quand même bien pris en frontal. On va pas se mentir, j'étais en mode ah non, je suis à la fois. En fait, je suis évidemment touchée par ce qui se passe en termes d'intrigue, en termes d'enjeux, en termes de danger aussi pour les personnages. Mais je suis principalement touchée par l'enjeu émotionnel qui se joue et le choix. On va en parler, mais je trouve que c'est un choix assez courageux de faire mourir aucun des deux. Tu commences avec un duo, tu finis avec un duo, et du coup, t'as pas le pire risque qui se réalise, qui est que l'un des deux meurt et laisse l'autre tout seul, ce qui est visiblement leur grande peur. Mais tu finis quand même en te disant, ils sont un peu tout seuls. Et c'est malin d'arriver à faire ça, et d'arriver à faire ça en 9 épisodes, ou en un jeu vidéo, même si ça dure un peu plus longtemps un jeu vidéo. Du coup, je pense que sur The Last of Us, on est à quelques dizaines d'heures de jeu minimum pour le premier. Mais t'as cet impact émotionnel qui fonctionne. Donc moi, je le savais, et je l'ai vu venir... Et ça a fonctionné quand même. Donc bravo à l'équipe de la série. Après, on va en parler. Je vois sur le chat, on reste un peu sur sa fin, sur certains aspects de la série, sur certains aspects de l'intrigue, certains aspects du monde post-apo aussi. Et peut-être que justement ce fameux impact émotionnel de la fin aurait gagné à certains choix. Après, c'est toujours facile d'être en mode, il y avait qu'à faire différemment on est absolument pas créateur de séries télé et qu'on n'a jamais eu à gérer un budget HBO pour adapter un jeu vidéo culte en série télé. Mais par contre, on est critique. Finalement, on est critique professionnel de séries télé. C'est ça notre métier à tous et toutes là ce soir. Donc on va avoir des opinions et tout va bien se passer. On va prendre cet épisode de façon un petit peu chronologique parce que déjà, au final, il va très vite. Il n'y a pas tant de choses qui se passent. Et à part ce petit prologue et deux, trois occurrences de flashback, on est quand même dans une temporalité assez linéaire. Mais on a une grosse surprise, du coup, en ouverture de cet épisode, qui est qu'on a une scène qui, dites-moi si je me trompe, n'est pas dans le jeu, n'a jamais été dans le jeu, qui est une intrusion dans la naissance d'Ellie via sa mère, Anna. Joué par une personne dont vous allez pouvoir me parler, mais qui est assez chère au cœur des gamers et des gamers. Qu'est-ce qu'on dit de cette intro, Mary ? Qu'est-ce qui te vient quand tu découvres cette scène avec une femme enceinte qui court, dont la voix t'est peut-être familière, et en même temps sans préavis ? Genre, on a vraiment quitté sur un truc absolument horrible où Ellie a failli se faire mi-cannibaliser, mi-être victime de violences sexuelles. Joël l'a sauvée. On voit bien qu'elle va finir par être traumatisée, on sait pas à quel niveau. On finit là-dessus, et là on rouvre sur une go, on la connaît pas, elle court, c'est la Hesse. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite introduction ?
Alors, comme j'ai reconnu l'actrice, en effet, j'ai assez rapidement fait le lien. Je trouvais ça très cool. Moi, je suis très cliente, en fait, de tous les inserts qui sont faits des choses qui n'étaient pas dans le jeu. Et qui viennent un peu étoffer comme ça l'histoire avec un petit peu de biscuit qu'on n'avait pas à la base, et notamment cette scène là de la naissance. La seule chose que je te disais, je t'en parlais tout à l'heure, par pitié arrêtez d'oublier les placentas parce que après
ah oui, on va parler du réalisme de cet accouchement et notamment du réalisme des derniers accouchements qu'on a eu chez HBO qui étaient pas mal dans House of the Dragon, qui étaient plus réalistes mais aussi paradoxalement plus horribles. Alors qu'il y avait zéro infecté champignon qui se faisait planter dans le crâne, mais c'était quand même plus dur les accouchements dans House of the Dragon. Comme quoi, on n'est jamais prêt dans la vie.
Ouais. Mais non, j'ai beaucoup aimé cette petite scène d'intro parce que, comme je disais, je suis très cliente en fait des petits inserts des choses qui n'étaient pas du tout dans le jeu et qu'ils ont choisi de mettre dans la série. Et en plus, je pense Adibou en parlera mieux, mais Ashley Johnson, c'est vrai que c'était. C'est super cool de l'avoir, ça complétait un petit peu toutes les apparitions qu'on a eues jusqu'à maintenant, quoi.
Yes, parce que du coup, le contexte, au cas où vous ne l'aviez pas, c'est que Ashley Johnson, qui joue la mère d'Ellie dans cet épisode, c'est la comédienne qui double, l'actrice qui double Ellie dans le jeu vidéo. Et du coup, sa voix, ses bruits de respiration, ses bruits de elle qui lutte, qui galère dans la forêt, c'est tous les petits bruits que Ellie, elle fait dans le jeu. C'est vraiment la vraie personne qui joue Ellie. Et Coquelicorico notamment et Prélélé le disent dans le chat, ce qui est fascinant, c'est que l'actrice Ashley Johnson pourrait être la mère de Bella Ramsey. Genre, elle se ressemble vraiment physiquement. Après, ils les ont aussi coiffés pareil et tout, mais ça colle, quoi. Bah, on m'aurait dit, on a pris une actrice qui ressemble à la mère de Ellie, on a pris elle, j'aurais dit. Ok. Et en fait, non, c'est la vraie meuf qui a à la base doublé Ellie avant que Ellie ait ce visage et ce corps incarné par Bella Ramsey. Donc, ça continue la petite tradition très jolie, je trouve, de la série The Last of Us, de rendre hommage et de faire participer les comédiens et comédiennes de doublage du jeu vidéo, qui sont en fait très importants dans l'expérience des joueurs et des joueuses, mais moins respectés peut-être par tout un pan de l'industrie que les doubleurs et les doubleuses de cinéma d'animation, par exemple, qui sont déjà, pas au top, on va pas se mentir, mais c'est pas souvent reconnu comme c'est des acteurs et des actrices de qualité. Quelqu'un dans le chat note que Ashley Johnson est dans l'émission Critical Role, en effet, c'est un actual play, il me semble.
Tout à fait.
Le plus connu du monde.
Le plus gros actual play du monde, donc c'est un jeu de rôle en direct sur Twitch et rattrapable en YouTube, podcast, etc., dans lequel elle joue un rôle prépondérant, et c'est la Ellie originelle, en fait, c'est The OG. Ellie, t'en as pensé quoi, toi, à Dibou, quand t'as vu arriver ? Est-ce que tu l'as eu au son ? Est-ce que tu l'as eu au visuel ? Est-ce que t'as attendu
non,
de voir « Oh my God, c'était Ashley Johnson ?»
C'est le visuel, parce que le son, ça va assez vite. Et finalement, le visuel aussi, je me souviens pas. En fait, tout va trop vite dans cet épisode, parfois. Et là, c'est pareil, tu vois, elle court, t'entends à peine deux, trois trucs, tu te retournes, tu la vois, tu dis « Oui, mais c'est elle. » Et du coup, c'est très méta ou multiverse.
Parce que toi, tu connaissais son visage.
Ouais. Okay. Et du coup, je sais pas si c'est méta ou multiverse, mais en tout cas, c'était très cool, effectivement, le coup de chapeau. Et puis elle joue vachement bien aussi, genre c'est terrible, ils jouent tous juste quasiment les acteurs dans cette série, donc c'était cool pour le clin d'œil. Pareil pour le gars dont j'ai oublié le nom, mais que lui on a vu au 8e épisode, je crois,
à Troy Baker.
Troy Baker, je crois qu'on l'a vu hier, la semaine
qui joue
dernière,
Joël, et on l'a vu effectivement la semaine dernière. Il jouait le bras droit de David, l'évangéliste pédophile, n'est-ce pas, et cannibale, donc bof. Et Troy Baker est aussi l'animateur du podcast officiel The Last of Us, qui est diffusé par HBO après, où ils font un débrief de chaque épisode, mais avec Troy Baker alias The OG Joel et Neil Druckmann et Craig Mazin qui sont les créateurs de la série et parfois d'autres invités. Et bah, dans l'épisode final de, du official Last of Us podcast, c'est Ashley Johnson alias Ellie qui est l'invitée exceptionnelle et je pense qu'elle le mérite. Comme dit Sarah Amuche, le podcast officiel était super cool cette semaine. Bah oui, parce qu'en plus, je pense qu'il y a ce truc de libération de ok, en tout cas sur l'intrigue du 1, vas-y, on peut plus rien spoiler, les gens ils savent, on peut y aller, tu vois. On est soulagé et je pense on est, moi perso, je suis un peu plus détendu ce soir parce que je suis là, ok, genre je savais comment ça finissait, maintenant je peux plus rien vous gâcher parce que je ne sais rien de la suite. Donc moi je suis détente, vous deux peut-être moins.
Nous on va faire attention peut-être sur deux trois trucs, ouais.
Alors, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène d'intro sur la mère de Ellie, qui donc s'appelle Anna, qu'on découvre déjà enceinte jusqu'aux sourcils, clairement,
ouais,
en train de courir pour échapper à quelque chose. Au début, on ne sait pas si c'est désinfecté, des raiders, quelqu'un qui lui veut du mal en tout cas. Elle se réfugie dans une maison, elle se barricade, mais ça ne suffit pas. Et on sent qu'elle perd les os, on la voit perdre les os d'ailleurs. Oui. On sent que l'accouchement n'est pas loin, elle se barricade, la barricade ne suffit pas à empêcher une infectée d'arriver, de l'attaquer. La mère d'Ellie, donc Anna, plante l'infectée pendant qu'elle est en train de se faire attaquer, mais d'accoucher aussi. Une femme multitâche, bravo à elle. Et une fois que l'adrénaline
c'est
est ressentie,
tout ce qu'on peut faire sous adrénaline.
Comment ne plus avoir mal? Bah go se faire attaquer par un infecté en fait.
Arrête, mais aussi fais-toi attaquer par un zombie et n'hésite pas à coucher en même temps.
Rien à foutre de ton mal-être et ta dépression que t'es attaqué par un infecté.
Toutes les 10 minutes, tu vois, de la journée, c'est compliqué. Donc là, trois prises de conscience en même temps. Petit 1, je viens de tuer l'infecté, ça c'est réponse 1, elle est bonne. Petit 2, oh, j'ai accouché. Bon, le bébé a l'air d'aller bien, réponse 2, elle est bonne. Petit 3, oh non, je suis mordu par le cordyceps. Et là, c'est no, very not good. Et du coup, on voit cette jeune mère avec son bébé et la scène se finit juste avant le générique sur you fucking tell them Ellie, puisque le bébé se met à crier, à pleurer, et sa mère lui dit ouais tu vas leur dire à tous ces cons Ellie, et on se rend compte que du coup c'est la naissance de Ellie mais aussi une forme d'explication de pourquoi Ellie a cette immunité. Et donc c'est une scène qu'on a pas du tout dans le jeu, on a rien du tout sur la mère d'Ellie dans le jeu, puisque bah Ellie ne sait pas puisqu'elle était littéralement toute petite. Et personne d'autre n'a l'info, donc personne ne peut lui donner l'info.
Si, en vérité, quelqu'un d'autre a l'info quand même.
Bah, là, dans la série, Marlène a l'info partielle, parce
maintenant,
que...
Maintenant, on le sait.
On va en parler, mais la mère d'Ellie lui ment un petit peu sur le timing de certaines étapes cruciales quand même, de certaines parties de l'intrigue. Mais voilà, Marlène a l'info de qui était ta mère et de comment elle est morte, ça oui. Mais je sais pas si Ellie l'a dans le jeu. En fait, je sais pas si Ellie, elle sait comment elle est née, qu'est-ce qui est arrivé à ses parents. Dans la série, on la voit juste dire « je suis orpheline ». Et j'ai été confiée à Fedra. On comprend qu'elle connaît Marlène quand même depuis longtemps et que du coup elles ont dû avoir un rapport, mais je pense épisodique tout au long de sa vie, où Marlène a toujours été, elle gravitait autour d'elle quoi. Mais en tout cas, là, clairement, Marlène n'a pas eu un rôle de parent, de substitution pour Ellie. Elle l'a pas voulu. Donc je pense pas que Ellie, elle sait que sa mère elle est morte attaquée par un infecté en lui donnant le jour. Je pense que c'est un truc de t'es née et ta mère est morte. Bon, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Du coup, pour vous, est-ce que cette explication partielle de comment Ellie elle est infectée et immunisée à la fois, déjà est-ce que vous l'attendiez, est-ce que pour vous c'est quelque chose dont on avait besoin? Adibou, peut-être, je sais que c'est pas dans le jeu, on peut se dire bah du coup il y a pas besoin d'expliquer plus. Moi j'ai bien aimé, mais
après il y avait plein de théories quand tu regardes certains commentaires de vidéos YouTube, quand tu regardes les critiques etc, il y en avait plein qui disaient ouais mais ça on le savait déjà machin, en fait non, on le savait pas, c'était que des théories de théories.
Mais qui
de savait théories,
mais
de théories,
ça c'est les gens qui lisent les notes de bas de page en bas des manuels d'utilisation et qui en font des posts Reddit. C'est mon peuple hein. Je les adore, j'ai vraiment genre fait ma carrière sur Game of Thrones et les théories, mais on se sait quand on est un peu zinzin quoi, c'est pas.
Mais non, c'était un truc genre je crois que Neil Druckmann voulait peut-être intégrer justement l'histoire d'Anna à un DLC qui finalement n'a jamais vu le jour, mais moi il me semble vraiment que c'est que des spéculations et du coup bah grâce à ça on a une vraie histoire, on sait le pourquoi du comment, mais du coup pendant que tu racontais ça, j'étais en train de me dire mais à quel point c'est véridique et à quel point c'est canon, parce que finalement dans ce The Last of Us, il y a plein de trucs pas canon, ne serait-ce que le cordyceps et la farine, dans le jeu vidéo c'est pas ça, tu vois. Donc à quel point
après,
tu te dis OK,
pour moi, à partir
c'est
de...
dans le lore et c'est ça me va, tu
canon,
vois.
En gros, c'est à quel point c'est validé dans l'intrigue et
exactement.
À quel point c'est sûr que ça fait partie de l'intrigue et que c'est pas quelque chose que quelqu'un a rajouté. Pour moi, à partir du moment où Neil Druckmann, le créateur du jeu, est impliqué sur la série, ce qu'il ramène dans la série, c'est canon, tu vois.
Tous les trucs
dit dans
en
la
plus.
Série que ça vient de la farine, c'est que ça venait de la farine. Tant que ça, en plus aussi, ça, y a rien qui contredit, il me semble, directement le jeu, tu vois. C'est dans le jeu, on sait pas. Il profite de la série et il en a parlé, bah, notamment dans le fameux podcast HBO, entre autres. Mais il a parlé du fait que, bah, la série, c'est aussi une temporalité différente du jeu vidéo. Et oui. Tu peux aussi montrer des trucs que dans un jeu vidéo, c'est compliqué d'avoir, par exemple, ce flashback à Jakarta où t'apprends que ça vient de la farine parce que t'as pas de raison de l'avoir. Joël et Ellie, ils sont pas là-bas. T'as aucun personnage jouable qui est au courant de ça. Les communications ont été coupées avant, donc personne le sait. Dans une série, tu peux choisir de le montrer. Et je pense que ça joue aussi sur le fait que peut-être, en tant que spectateur et spectatrice de série, on est un peu plus chiant et chiante, mais je le dis, c'est encore une fois, c'est mon peuple, on a besoin d'explications, on a besoin de savoir à quel point c'est réaliste, on a besoin de faire des articles qui sont, on a interviewé un spécialiste des champignons pour savoir si le cordyceps c'est réel, tu vois, genre, peut-être on a besoin de s'ancrer dans un petit peu plus de réalisme, là où un jeu vidéo, t'es plus habitué à être propulsé dans un monde où t'es là, ok, tu vois, genre, ok. Il y a pas beaucoup de séries qui commencent avec je suis amnésique, je me réveille et ah non, Ganon a pris pris possession du royaume, parce que dans une série, tu serais là, bah c'est un peu paresseux de faire un héros amnésique qui doit tout enfin ça se fait, mais il faut bien le faire et c'est rare, tu vois. Dans les jeux vidéo, c'est genre une bonne partie des jeux vidéo, ça se commence à, oh non, je suis amnésique, je dois retrouver mes souvenirs et tout. Donc pour moi, c'est un truc de média vidéoludique d'être OK avec ne pas dire certaines choses. Dans une série, j'entends que peut-être on attend un peu plus de détails. Moi, ma take, c'est, je suis OK avec cette explication, entre guillemets, c'est une piste de pourquoi Ellie, elle est immunisée. C'est pas parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'elle est spéciale. Je trouve que c'est ça aussi que ça montre, c'est que, en fait, c'est un bête truc de timing, comme souvent l'est la médecine et la biologie, elle a eu un tout petit peu de cordyceps.
En fait, elle a été vaccinée, moment, tu sais.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est un vaccin. Elle a eu une dose tellement petite et en plus par un canal assez spécial qui est le cordon ombilical que, bah, comme dit Marlène, apparemment il a grandi en elle depuis le début et du coup c'est ce qui fait qu'elle est spéciale. Mais c'est pas qui est Ellie, c'est littéralement juste ta mère a une mort de merde et t'as une naissance de merde et par contre, ça a fait un truc en plus chez toi, quoi. Donc pourquoi pas, faut qu'on parle du placenta.
Allez.
Attends, au moins c'est quand elle a perdu les os, elle pouvait pas, ou elle avait du mal à ouvrir la poignée.
Ça, j'ai trop aimé. Ah, je suis contente que tu l'aies noté. Oui.
Donc bon. Quand, on va dire quand même
quand
une
Anna
gommette. Quand
Anna perd les os, déjà, j'aime bien parce qu'elle perd les os, et souvent dans les séries ou dans les films, c'est montré comme un genre de ballon d'eau chaude qui s'ouvre d'un coup. Poche. Apparemment, alors personnellement, je suis nulle part, je n'ai pas jamais vécu d'accouchement, mais apparemment, perdre les os, c'est plus justement, et d'ailleurs, des fois, tu t'es pas sûr de ce qui t'arrive, parce qu'en plus, quand t'es enceinte, surtout à ce niveau-là de grossesse, t'as, en vrai, ouais, en termes de fluide que ton corps il émet, ouais, mon gars, ouais. Il se passe trop de trucs, tu vois, t'es là, bon, il se passe des trucs, ok. Mais perdre les os, c'est pas un flouch d'un coup, c'est pas forcément un flouch d'un coup, c'est souvent, bah voilà, une sorte de longue perte blanche, de moments un peu, genre, t'es là, c'est abondant, c'est abondant et abondant. Un peu plus liquide, et je suis aussi enceinte de 8 mois et demi, ce qui peut être un indice. Maybe je vais m'en occuper, mais on n'est pas sûr. Et là, effectivement, Anna, la mère d'Ellie, perd les os, et elle essaye d'ouvrir une poignée qui tourne, et elle y arrive pas parce que ses mains, elles glissent, et elle est fâchée, et elle prend sa robe en mode, ah, oh, ça fait chier et tout, pour ouvrir la poignée, j'étais là. Oh, ça, en vrai, banger. Tout comme la coupe menstruelle dans The Last of Us, les tampons, ouais, dans The Last of Us, je suis là, ok, la biologie, des gens qui ont un utérus, c'est très bien de la représenter de façon un peu plus claire, mais, alors, on a cet accouchement qui slide. Est-ce que vous vous êtes dit, je crois au fait que sous l'adrénaline, la bagarre et tout, tu te rends pas compte que en même temps, t'es en train d'accoucher et en fait, la go, elle baisse les yeux, elle est là. Ah, t'es là, toi, vous, là. T'es sortie, t'as pas froid, ça va? Mais en gros, elle a accouché pendant, sans s'en rendre compte. Est-ce que déjà, sur cette partie accouchement, après, on parlera de la suite de l'accouchement, est-ce que vous y croyez? Est-ce que dans le chat, vous savez, c'est médicalement possible aussi?
Moi, je me dis que oui. C'est ça, hein.
Si elle a en vrai, non, elle est naturelle. Elle est pas tant accroupie, elle est vraiment assise.
Assise, ah ouais, tête, okay, le dos.
Elle est vraiment assise, genre posée sur ses fesses, quoi. Elle est pas, effectivement. Je sais qu'il y a des personnes qui accouchent à quatre pattes ou accroupies et que c'est même souvent plus naturel que être sur le dos avec les étriers, qui est plus simple pour le personnel soignant pour regarder, mais pas du tout instinctif en tant que personne qui doit sortir un corps assez massif, rappelons-le, de son utérus et de son vagin. Donc, si elle avait été accroupie, je dis pas. Là, la go, elle est vraiment assise par terre. Assise par terre, tu vois. Je suis là. Mais, note. Vous, ça vous allait? En termes d'accouchement d'Ellie, vous étiez là.
Mais ouais, moi, je, comme je disais tout à l'heure, de toute manière, j'ai un problème avec les récits d'accouchement. C'est vrai que en dehors de House of the Dragon, et tu le soulignais très bien, c'est vrai que pour le coup, il y a un peu plus de réalisme à ce niveau-là. C'est vrai que les récits d'accouchement dans les fictions, c'est pas ce qu'il y a le plus réaliste. Donc voilà, disons que ok, voilà, ok.
Bon, ta gueule, c'est magique, hein. Bon, je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. Moi, j'avoue, je suis pas...
Le fameux ta gueule, c'est magique.
Je suis pas un spécialiste, ni gynéco et un mec, donc encore moins de savoir là-dessus. Par rapport, tu sais, je pense que les séries et le cinéma apportent plein de choses, des raccourcis rapides, efficaces, et tellement ancré dans ta tête. Alors, littéralement, tu parlais de la perte des os. Bah, on pète un ballon. Oui. Voilà, c'est bon. Dans tout le monde pense que c'est ça et on passe à la suite. Donc le chat est en train de dire oui, mais en repoussant l'infecté, elle pousse le bébé, elle contracte très très fort et tout. Donc moi en vrai, ça me suffit. C'est peut-être pas très réel.
Avec l'adrénaline, ok.
Voilà. Ouais. Donc je suis pas choqué plus que ça. C'est peut-être pas très naturel, voire quasiment impossible. Mais de toute façon, Joël, il a survécu. Donc à partir de ce moment-là, Joël, oui, il aurait dû mourir trois fois. Ouais. Il a survécu. Hein.
Rappelons, moi, que c'est quand même ça. Un mec qui bosse dans le bâtiment, qui a un frère, une Subaru et une gamine morte et qui survit 20 ans à l'apocalypse, alors qu'il avait pas l'air d'avoir de skills spécifiques, à part, on va en reparler, pouvoir éteindre un petit interrupteur dans son cerveau au niveau de l'empathie, ouais, qui fait qu'il est là en mode « Let's fucking go !» Et après, il « Let's fucking go !» Mais sur le chat, on a un avis contradictoire, puisqu'on a à la fois quelqu'un qui dit « Ma femme qui travaille dans le business des bébés a levé les yeux au ciel comme Jaja », c'est Gesam Kunstwerk,
c'est fait allemand. Business des bébés, ça me fait business des bébés.
Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie de ta femme. J'espère un peu qu'elle est genre sage-femme, obstétricienne, gynécologue, tout ça.
Ouais, dans la revente.
Sinon, je sais pas, ouais, c'est quoi les business des bébés qui sont pas...
Pièces peut-être détachées, elle vend des... tout ça.
Ouais, voilà. Tiens-nous au courant, mais on espère que ça va bien. Et Opal qui dit une femme est allée chez une amie et a accouché en 5 minutes cette année, donc pourquoi pas. Et
c'est, ouais,
en
fait, ça arrive, hein.
Il y a toujours des cas particuliers, surtout dans des situations absolument extrêmes en termes de stress et tout, qui peuvent faire. Moi, j'ai cru à ok, le bébé il est sorti littéralement, elle l'a pas senti. Ça arrive à des gens qui, et je sais qu'il y a des gens qui disent j'ai perdu les os et genre 5 minutes après j'avais un bébé dans mes bras. Genre c'est pas toujours automatique, mais c'est pas toujours des heures en salle de travail et tout. Donc ça, j'y ai cru. Et après, j'étais là en mode. Et du coup, le placenta, quand même. Enfin, il y a une suite, en fait, après l'accouchement. On l'a quand même appris, notamment dans House of the Dragon, si on le savait pas. Donc, ça, j'étais un petit peu déçue. Pour une série qui, en plus, a mis en avant des problématiques, sinon féminines, en tout cas, de personnes qui ont un utérus, des menstruations qui sont fertiles, etc. D'avoir un accouchement qui est quand même un peu simpliste, dans le sens où je sais pas si une meuf qui accouche toute seule dans une pièce, en plus, aussi crado, et qui visiblement, il y a peu de sang, il n'y a pas de placenta qui sort. Donc pour rappel, le placenta, c'est un organe qui sert à nourrir notamment l'embryon et le fœtus qui est évacué après la naissance du bébé.
On peut manger apparemment.
Qu'on peut aussi manger, qu'on peut parfois planter, enfin qui est plein de nutriments. Après, vous en faites ce que vous en voulez. On a parlé cannibalisme l'épisode dernier. Ce n'est pas du cannibalisme de manger son placenta, mais c'est...
Unique,
intrigant néanmoins.
Original. Je vais essayer la distiller plus vous voulez.
Une,
ouais.
C'est une bonne conversation au dîner. C'est un bon sujet de conversation en soirée. Ah tiens, moi j'ai mangé mon placenta. Vraiment, tout le monde va vouloir en parler, mais je ne garantis pas le rapport des gens à ça. C'est spécifique.
L'accompagnement
mais...
du poulet, j'ai des frites de patates douces, un gratin, du placenta. Qui veut quoi? On peut voilà, mixer avec ouvert placenta.
Vous avez aimé l'apéro? Moi j'ai mangé mon placenta et les gens sont là. Ah non, c'était quoi sur les petites tartines rouges? Bref. Faites ce que vous voulez avec les parties de votre corps qui ont servi à créer la vie. Franchement, je l'ai pas fait. Je vais pas dire ce qu'il faut en faire. Ok, vous avez votre rapport, mais on n'a pas eu le placenta. C'était un petit peu décevant.
Mais c'est pas très grave. J'ai vraiment apprécié par contre voir Marlène.
Ah ouais. Et voir Marlène toute jeune. Moi, j'ai bien aimé.
Bah,
quand on l'a
vue
toute jeune, j'ai fait. Oh.
Tu vois, en fait, ça justifie qu'elle a. Enfin, tu vois, genre cette promesse qu'elle fait à Anna et tout. Ça donne plus d'intensité à la chute, en fait. Tu vois. Voilà.
Et aussi, elle lui dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont créé des liens très forts dans cet univers, mais qui se connaissent que depuis l'apocalypse, qui se connaissaient pas avant. On voit que Tess et Joël, typiquement, ils se connaissaient pas avant. Ouais. Marlène et Anna, Anna lui demande depuis combien de temps on se connaît, et Marlène lui dit depuis toute notre vie. Donc elles se connaissaient avant, elles ont survécu ensemble, pendant, du coup, calcul mental, 6 ans d'apocalypse avant que Ellie naisse. On sait pas c'est qui a fécondé, en tout cas, ce qui est devenu Ellie. On ne sait pas s'il y a potentiel père dans le paysage ou si lui-même a été perdu. Mais on sait qu'il y a un lien entre ces deux femmes et que, en fait, Marlène, elle commence... Enfin, tout à l'heure, on parlait, on va en reparler de... En fait, il y a plein de... Tu peux faire plein de séries de The Last of Us qui sont la même histoire, mais de points de vue différents. Mmh. Ce qui est un peu montré notamment à Kansas City, où Joël et Ellie, ils arrivent, ils se font attaquer et ils se mettent à tuer des gens. Et en fait, après, on voit la réaction des gens qui est « Mais c'est des maboules qui ont tué nos potes, en fait. Enfin, c'est des ennemis. Et en fait, on va se liguer contre eux. » Si c'était une série sur le peuple de Kansas City contre Joël et Ellie, bah, on serait un peu peut-être team le peuple de Kansas City. On le voit aussi avec... Alors, David étant un Maxi Crip, ça, c'est réel. Mais ce qu'il explique à Ellie, c'est... Nous, il y a un de nos gars qui est un père de famille, qui a une enfant qui fait son deuil et tout, qui a été tué il y a pas longtemps par un homme et une fille adolescente. Et je pense que c'est vous. Et il y a des conséquences à tout ça, quoi. Donc, il y a un truc de... Il y a des conséquences à tout ce qui se passe. Et voir que Marlène et Anna se connaissaient depuis aussi longtemps et qu'en fait, il y a une version de The Last of Us qui est l'histoire de Marlène. Qui est, j'ai vu mourir ma meilleure amie que je connaissais depuis avant cette fucking apocalypse, qui est morte alors qu'elle venait de donner naissance à sa fille, et on sait pas quel impact ça a, qu'elle ait une fille et tout, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Et qui l'a portée à terme dans ce monde trop éclaté, et Marlène, elle a dû à la fois récupérer la gamine, tout en sachant qu'elle allait pas s'en occuper à plein temps, parce qu'elle est aussi genre semi-chef de la rébellion, donc elle a autre chose à faire. Tuer sa meilleure amie ?
J'allais te demander, tu le ferais ou pas ? C'est qui ta meilleure amie ? C'est Marie, c'est ça ?
Non, alors ma meilleure amie, en vrai, c'est Soraya, et... En vrai, si elle me demande, je suis désolée. Ah, c'est chaud parce que je sais qu'elle va écouter. Mais je pense que c'est ce qu'elle voudrait que je dise. Soraya, si tu me demandes de te buter parce que tu vas te transformer en champi zombie, je pense que je te bute.
T'y arriverais.
Mais avec amour. Ah, je sais pas si j'y arrive. Ça, c'est autre chose. Est-ce que je le ferais? Est-ce que j'y arriverais? Bah.
C'est ce qui montre aussi dans la scène, hein, Marlène.
J'ai déjà du mal à m'enlever une écharde. Je peux pas te dire si j'y arriverais ou pas, tu vois. Mais après. Ouais.
Tu le ferais en tout cas.
C'est quand même plus facile avec un flingue qu'un couteau, ah, tu vois, genre il y a moins de corps à corps, quoi. Donc, en vrai, je pense, je le ferais. Okay. Mais chaud.
Et toi?
Dans l'idée, oui, ça, il faudrait faire le sale boulot, quoi. Mais c'est vrai qu'avec un gun, ça serait plus simple parce que le couteau, faire le geste, etc. Enfin, il y a un côté très impersonnel du pistolet. Qui fait que c'est plus simple, mais oui, enfin, je pense que je le ferai. Est-ce que j'y arriverai, je sais pas, mais à partir du moment où on te promet l'article de la mort de s'occuper de ton gamin et de te buter, bon bah tu, de toute façon,
bah c'est aussi que l'alternative, c'est elle va devenir une infectée. Ouais. Tu vois, c'est aussi. Pas genre, en fait, je sais pas, aussi. Je vais abréger ses souffrances et elle va mourir normal, ce qui est déjà dur. C'est en fait, elle va pas mourir, elle va devenir non seulement une version démoniaque. Comment dire ça, corrompu d'un être humain, mais en plus elle va devenir un danger pour les autres, tu vois, genre potentiellement on sait jamais, elle va finir par attaquer sa propre fille ou quoi. Donc je pense que si l'alternative c'est pas juste en fait je vais mourir de base mais dans 6 heures et tu peux abréger mes souffrances, auquel cas je serais peut-être un peu en mode et voilà, moi après tu vois j'ai 40 ans de vie et de psychothérapie à faire derrière, donc maybe je sais pas, non c'est pas vrai, Soraya je le ferais mais me mets pas dans cette position, s'il te plaît. En fait, tu sais ce qu'elle va devenir. Et il y a aussi un choix rationnel de plus il y a d'infectés. Enfin, dans tous les trucs de zombies, c'est plus il y a d'ennemis, moins il y a d'humains. Tu vois, c'est un jeu à somme. Il y a autant de personnes, d'humanoïdes vivants, enfin, d'humanoïdes en tout cas actifs. Et si tu perds un de ton camp aux zombies, eux ils gagnent quelqu'un. Oui. Tu vois, c'est pas juste toi qui as perdu, c'est eux ils gagnent quelqu'un. Donc, oui, je pense que c'est la meilleure décision et je comprends pourquoi elle le fait. Après, j'étais fâchée parce que Marlène, elle prend le tout petit bébé et on peut noter que c'est un tout petit bébé dans cette série. Souvent, c'est des bébés un peu plus grands qui prennent pour des raisons assez simples de faire tourner des, des nouveau-nés et etc. Mais là, pour le coup, ils ont réussi à avoir un tout petit bébé, un peu visqueux et tout. J'étais là, on dirait vraiment un tout petit bébé. Marlène le confie à son acolyte des Firefly parce que du coup, ils sont arrivés en retard pour rejoindre Anna et ça a suffi pour que le drame arrive. Et Marlène dit au gars, couvre ses oreilles au petit bébé parce que je vais potentiellement tirer sur ma meilleure amie. Et le gars, il le fait
Il le fait pas du tout.
Marlène, elle tire sur Anna, elle la tue et après, on a un plan sur Ellie qui est juste là comme ça dans son manteau et qui chouine
et
parce
qui n'est pas
que personne lui a...
toute attente.
Abuse de, déjà elle est résistante cette gamine. Attends. Oh, ça coule dans ses veines, mais aussi genre wesh. Le gars, on lui a dit texto fais ça, il a un bébé dans les bras, il est là. Non. Je ne pense pas pourquoi.
On s'était fait la remarque instantanément regardant l'épisode en mode mais wesh, pourquoi il a pas mis pourquoi il l'a pas fait?
Mais en plus, tu mets tout, tu vois, ouais, tu mets tes coudes, t'es là en mode, c'est un tout
peu
petit.
Sur elle, voilà, mais non, il a rien fait, ce con, il a laissé. Allez, on fait ça.
Abuseland. Et on a, du coup, on arrive au temps présent, on a ce beau, ce très joli cut entre...
Attends, je peux dire un truc par rapport à cette scène?
Oui.
J'ai regretté que l'échange entre Marlène et Anna soit pas un peu plus long. Parce okay. que j'aime les histoires d'amitié et du coup j'aurais voulu qu'il y ait un genre de mini drame d'amitié, je sais pas que qu'elle chiale, qu'elle ait le nez un peu qui coule, qu'elle lui dise mais je peux pas le faire ou je sais pas un truc, j'aurais aimé en tout cas voilà, qu'il y ait un peu un récit d'amitié dans, brisée comme ça, tu vois.
Et c'est peut-être un thème récurrent de ce débrief, on est dans une économie de temps dans ce final. Du coup tout arrive de façon assez complète dans le sens où voilà, on comprend ce qui se joue. On comprend que... Alors, quelqu'un dans le chat disait « Est-ce que le père de Ellie, c'est l'infecté qui suit Anna ?» Alors, il me semble que déjà, l'infecté qui suit Anna est a priori une femme, donc probablement non. Peut-être qu'on est sur une histoire doublement tragique de « Oui, Ellie avait un père et ou une mère, on sait pas, enfin en tout cas un parent d'eux, qui s'est transformé en infecté juste avant que sa mère elle accouche et qui a coursé sa mère. » Bon, je pense pas qu'on... Je pense que c'est juste pas de chance, déjà. Mais effectivement, il y a cette... En fait, on comprend l'impact émotionnel de ce qui se passe, mais on est obligé de le condenser dans quand même un temps très 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 court et de s'attacher en... Alors c'est aussi une prouesse de l'actrice et de la mise en scène, puisqu'on s'attache en quelques minutes à ce personnage qu'on n'a jamais vu, dont on ne sait rien, ni d'avant ni d'après, et on s'y attache pas que parce qu'elle donne vie à Ellie qu'on aime déjà, on s'y attache parce qu'elle a l'air combative, parce qu'elle est résistante, même si on comprend pas ce qu'elle fait là. Et effectivement, on a pour le coup une histoire d'amitié qui ne se développe pas, mais je trouve que The Last of Us, c'est une série qui est beaucoup dans les non-dits, qui est beaucoup dans les creux. On verra d'ailleurs dans cet épisode qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites alors qu'il y aurait le temps, mais où les personnages, les acteurs et actrices et les scénaristes ont choisi de laisser des blancs. Et je trouve que du coup, ce truc hyper urgent entre Anna et Marlène, il marche pour ça, et il marche aussi parce que, alors on ne sait pas depuis combien de temps... En fait, combien de temps se passe entre Anna, elle accouche de Ellie et elle coupe le cordon, mais elle sait qu'elle est infectée, et Marlène arrive. Ça peut être... En fait, on sait que le soleil s'est couché entre-temps, mais selon la saison, ça peut être, je sais pas, 40 minutes ou 4 heures. Ouais. Et en fait, elle sait pas à quel... Enfin, elle a... Quand Marlène arrive, Anna, elle a son couteau sur la gorge, parce qu'elle est vraiment en mode, au moment où je commence à me sentir chelou, je vais me planter, plutôt que de faire du mal à mon bébé. Et j'ose même pas l'allaiter alors qu'il a faim, parce que je vais lui transmettre le mal qui est en moi, quoi. Donc il y a ça aussi, c'est que Anna elle a pas le temps. En fait, elle dit à Marlène, je vais t'expliquer direct ce qui va se passer. Tu prends le bébé, tu l'éduques, tu fais ta vie, tu le donnes à des gens de confiance, tu me butes et c'est ciao. Et Marlène elle est là non, et Anna elle fait si, il y a pas de... En fait, c'est maintenant, parce que Anna ça fait un temps de quelques dizaines de minutes à quelques heures qu'elle est là. Ouais, n'hésitez pas à arriver avant que je bouffe mon propre bébé, parce que j'ai pas hyper envie de faire ça, c'est déjà un mardi de merde. Donc merci de ne pas l'aggraver, quoi. Mais j'entends ce que... En fait, je veux un spin-off sur Marlène. Tu vois, j'ai envie de savoir la backstory de ces gens qu'on voit si peu.
Mais ça prouve aussi qu'elle incarne un peu le dilemme du train. Chose que moi, j'avais pas forcément ressenti dans le jeu. Que Marlène, du coup, elle incarne vraiment ce dilemme de... est-ce que je tiens la promesse que j'ai faite à ma meilleure amie avant de lui mettre une balle dans la tête, ou bien est-ce que...
Mais c'est elle qui m'avait demandé, donc ça s'annule. Parce que sinon, si tu le formules comme ça, c'est genre, c'était peut-être pas ta meilleure amie alors. Oui, non, mais si elle avait demandé, ok.
Parce que c'était obligé. Donc entre cette promesse et le greater good qui est, oui, mais je pourrais sauver l'humanité, quoi.
C'est quoi le dilemme du train? C'est quoi le principe?
Le dilemme du train, c'est t'as un train avec un aiguillage. D'un côté, une personne qui est attachée au train, au rail, et de l'autre côté t'en as trois.
En gros, c'est une personne. En gros, donc le train il file à la base, c'est le trolley problème, donc c'est un problème de philosophie et d'éthique morale qui a notamment été popularisé par la série The Good Place, qui parle beaucoup d'éthique et de morale pour une série qui se passe dans l'au-delà après la mort, et qui est une série comique en petits épisodes de 20-30 minutes qui est dispo sur Netflix.
C'était sur Netflix, ouais.
Actuellement, qui est vachement cool. En vrai, The Good Place.
J'ai regardé les deux premières saisons, j'ai bien aimé.
Puisque donc il y a un perso qui est passionné d'éthique et de morale et qui est prof de ça. Et donc le trolley problème, c'est tu conduis un train ou un trolleybus et sur les rails sur lesquels tu es déjà, parce que c'est important, sur les rails sur lesquels tu es déjà, il y a un homme, quelqu'un qui est ficelé sur les rails. Tu peux effectivement changer d'aiguillage, donc activement faire dérailler le train pour l'emmener sur un autre aiguillage où tu as 3-4 travailleurs qui sont en train de bosser. Mais après, on s'en fout, ils pourraient être ficelés au rail aussi, c'est pas très important. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu laisses le train continuer tout droit, mais toi, tu sais, qu'il y a quelqu'un sur les rails, ou est-ce que tu fais l'action de le dévier pour tuer plusieurs personnes volontairement, entre guillemets, mais pour sauver une personne.
Cette personne, ouais, voilà.
Et là, tu pourrais dire, bah, la réponse un peu facile, c'est je fais rien, j'ai rien à voir avec les bails, et sorry pour le gars ficelé au rail, mais je l'ai pas mis là, c'est pas mon problème. Mais du coup, on peut switcher de, ok, le gars ficelé au rail, c'est le mec que t'aimes le plus dans ta vie. C'est ton frère, c'est ton père, c'est ton mec, c'est ton chat, c'est ce que tu veux. Les quatre travailleurs, c'est des gens qui te saluent et qui te disent bonjour pendant que tu leur fonces dessus. C'est, enfin, en fait, on peut changer tout le temps. Et c'est ça, la, okay. C'est une des questions que pose effectivement le final de The Last of Us, c'est à quel moment sacrifier une vie pour le plus grand nombre, pour le bien commun, ça ne s'annule pas finalement. Et à quel point on peut être sûr ? Pour moi, c'est ça aussi la question. En fait, le problème, entre guillemets, est simple, parce que tu peux le résoudre de façon mathématique. C'est bah, une personne contre cinq personnes. Quand bien même tu peux te dire, la personne qui conduit le train, elle va être trauma à vie d'avoir roulé sur une personne. Bon, ça fait, entre guillemets, deux personnes contre, on va dire, cinq ouvriers. Donc, en termes de ratio, t'es bon. Mais la vie, elle a pas un ratio bon, parce que là, on n'est pas sûr que le remède y marche, et on n'est pas sûr que Ellie, elle meurt pour quelque chose, et on n'est pas sûr de tout. Et du coup, la vie est rarement aussi simple que des problèmes insolubles de philosophie et de morale. Ok, on arrive dans le temps présent avec, du coup pour la première fois, après un quart de l'épisode, puisque ça fait déjà 10 minutes qu'on y est, puisqu'il y a eu le générique entre-temps, on a Ellie qui est de retour avec Joël sur une autoroute désaffectée, comme on les a vus de nombreuses fois, alors dans la série, mais encore plus dans le jeu, parce que je sais que c'est un des décors, on va dire, les plus courants du jeu, ces autoroutes très verdoyantes, avec beaucoup de fleurs et de feuilles qui poussent dans le béton. Et surtout, on voit pour la première fois Ellie après ce qu'elle a enduré et failli endurer à l'épisode précédent, après le trauma. Et elle est pas bien. Et Joël essaye au maximum, avec toute son énergie de daron qui ne sait pas gérer, de base, une adolescente qui est dans ses émotions, mais en plus, qui est dans ses émotions de type traumatique 4000, c'est pas genre, ah, son crush du lycée lui a mis un râteau, et aussi elle a eu 8 ans en DM de maths, c'est...
Ouais, non.
J'ai pas géré le cannibalisme dans mon manuel de parentalité positive, donc merci de m'aider. Et du coup, on est sur une vraie inversion des rôles, où c'est Ellie qui va être la plus taciturne, là où jusqu'ici c'était Joël, et Joël qui va faire de son mieux pour essayer d'ouvrir sa coquille, là où jusqu'ici, pendant 8 épisodes, c'était Ellie qui essayait d'ouvrir la coquille de Joël. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment, et de cette transition, et de ce... Ok, ils en sont où, Ellie et Joël, alors qu'on les a laissés quand même dans une posture assez... C'était chaud, quoi.
Vas-y.
Je commence, ouais. J'ai trouvé ça très touchant, encore une fois, Pedro Pascal... on le voit pas vraiment comme ça, dans ce rôle-là, dans cette façon de jouer-là. Et du coup, c'était hyper touchant de voir que bah, tu sens qu'il se fait vraiment du souci, tu sens qu'il s'est passé quelque chose et qu'ils ont franchi un cap et que lui, ça y est, il l'aime comme si c'était sa propre fille. Il va ensuite parler même de sa fille Sarah et Ellie en disant « Mais franchement, vous seriez super bien entendu quand même, toutes les deux. Hein, »
De toute façon, il a appelé Baby Girl à l'épisode précédent.
Ouais, c'est clair.
Sa fille, c'est bon.
C'est clair.
Il a dit « Baby Girl, I got you !»
Donc là, il s'occupe vraiment d'elle et j'ai trouvé ça vraiment top. Et le contraste avec Ellie, il est incroyable. Tu sens qu'elle est encore en train de revivre et de ressasser infiniment tout ce qu'elle a vécu et que même s'il fait des efforts... Bon, elle lui dit que ça va, mais en fait, tu sais très bien que ça va pas. Donc, il y a ce jeu qu'on a tous vécu de manière beaucoup plus légère, évidemment, qui se met en place et qui est juste parfait. Les blagues aussi qu'elle raconte, qui sont éclatées au sol, mais qui font quand même un peu sourire. Il lui montre un jeu de société. C'est quoi, c'est le Boggle.
Le Boggle, c'est ça.
Il lui montre ça. Il essaye vraiment par tous les moyens possibles imaginables de lui faire penser à autre chose, etc. Évidemment, ça marche pas vraiment. Mais non, j'ai adoré. En fait, c'est juste. Je trouve que on est sur une vraie justesse d'une relation entre un papa et une fille. Et du coup, bah, ça te met yambe, en fait. Tu vois, enfin, malgré le fait qu'elle ait mangé l'Oméga Max, bah, ce qui se passe là, c'est trop mignon,
qu'elle
en fait.
Elle ait mangé l'Oméga Max.
Ah ouais, elle a tout pris. Bah, c'est comme elle prend la Max 4000, j'aurais dû dire. Moi, je dis différemment, tu vois. Mais
respecte Ellie, putain, elle a été multi-traumatisée. Et toi, t'es là, ouais, elle a pris cher, elle a mangé l'Oméga Max.
Non, elle a pris l'Oméga Max. C'est-à-dire que elle a pris l'imbloquable frame 1, l'ulti XZ plus alpha, et elle est au sol, quoi. Et pourtant, il est là.
Je suis pas sûre d'avoir compris tout ce que tu viens de raconter, mais j'aime beaucoup.
Dis-toi que
je sens l'énergie, mais j'ai pas les détails de c'est quoi l'Oméga Max.
C'est très versus
Max
fighting,
au sol.
Tu vois.
Ouais.
C'est un vocabulaire de versus fighting, mais grosso modo, c'est, elle a pris ce que tu disais tout à l'heure, genre la dépression 4000 dans la gueule et
Elle a pris la pire chose.
Voilà.
Frontale. Et elle est encore en train de s'en remettre.
Tout à fait.
L'Omega Max 4000, c'est cannibalisme plus pédophilie, ok, vous l'avez. C'est la terminologie officielle. T'en as pensé quoi, toi, Mary?
Ben moi j'ai bien aimé parce que et ben ça conclut aussi, c'est une scène enfin que j'ai trouvé super forte parce qu'elle conclut le deuil de Joël. Tout simplement parce que c'est la première fois que depuis la mort de Sarah, il en parle. Il dit même bon moi j'avoue les histoires de Daruna déjà de base ça me touche. Parce que mon père il fait
tes
partie
clientes.
Des gens qui sont partis chercher des clopes et ils sont revenus.
Oh, je comprends.
Pas exactement comme ça mais voilà donc moi j'ai un peu ce fantasme de la relation père-fille, chaque fois que je me dis oh là là ça a l'air trop bien en fait. Et le fait que tu vois Joël soit là en train de lui dire oh là là vous seriez bien entendu et en fait il y a une espèce de passation qui se fait, tu vois, déjà il accepte de parler de sa fille avec Ellie et en plus de dire ouais
ça arrive plus tard. Là, il est pas encore en train de lui parler de Sarah. Il a pas prononcé le prénom Sarah. Non, là, il lui dit, en gros, en fait, il fait référence à des moments qu'il a vécu, Ellie et lui. Pas lui et Sarah.
Pardon.
Où là, en gros, il retrouve des raviolis en boîte que Ellie, elle avait bien aimé dans la forêt. Et il trouve un jeu de société, bon, qu'elle connaît pas pour le coup, le Boggle. Mais il lui dit, si tu veux me battre à un truc, tu peux me battre à ça. Donc, en plus, il lui donne en mode, tu te souviens de ce que t'aimais, genre, les raviolis et me battre à des trucs? Je te les donne, tu es heureuse maintenant? Et Ellie, elle est là. Oui. Je fais, je doute, mais d'accord, je n'ai pas de plan B, donc d'accord. Et c'est tellement daron d'une adolescente, mais en plus, enfin, encore une fois, c'est daron d'une adolescente, mais avec la surcouche, polytrauma et monde post-apo, ou la gamine, ouais, il va falloir un petit peu plus qu'une partie de Boggle et un petit Happy Meal pour qu'elle soit de retour, en fait, pour qu'elle redevienne elle-même, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un côté de, il y a un truc à casser. Dans qui elle est. Il y avait quelqu'un sur le chat qui disait, oui, Guépard Solide, qui dit, tu sens le daron pas à l'aise pour s'exprimer, tu sens le daron pas à l'aise pour exprimer ses émotions, mais qui cherche à la réconforter de cet épisode traumatisant.
Ouais.
Ok, donc, Ellie et Joël, donc, Ellie est très clairement traumatisée. Ça fait un petit moment que les événements de l'épisode précédent se sont passés, puisque Joël, je pense, a eu au moins plusieurs semaines pour se remettre à peu près sur pied. Après, alors je sais pas si c'est... Je pense que c'est fait exprès parce que c'est la HBO Money. Je l'ai trouvé assez aminci, Joël, assez amaigri par rapport à justement les quelques épisodes d'avant où pourtant ils sont quand même déjà bien en vadrouille avec Ellie. Mais là, je l'ai trouvé, c'est peut-être aussi parce qu'il a moins de volume sur lui, moins de grosses vestes et de fourrure. Mais je me suis dit, ok, on a... En fait, quand je me dis, je l'ai vu à l'épisode précédent, il venait vraiment de se faire suturer le bide bof bof et planter de la pénicilline bof bof et de buter des gars en tenant 100% sur l'adrénaline, je sais pas comment il tient des semaines et des mois après en visiblement continuant à traverser le pays et tout. Mais je l'ai trouvé un peu amaigri, j'ai trouvé qu'il était un peu plus grisonnant. Je me suis dit, ça se voit un peu qu'il est affaibli ou après ça... Ça reste Pedro Pascal, il est quand même.
Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est pas surtout toi qui poses un regard différent sur Pedro Pascal?
Alors déjà, calomnie, mensonge, racontard. Et aussi, non, au contraire, je me suis dit, peut-être Pedro... En fait, je pense que Pedro Pascal est, et je le dis avec tout l'amour que je lui porte, je pense qu'il est trop beau pour ce rôle, en vrai, un petit peu. Je pense que le Joël du jeu est beaucoup moins BG.
Quoi?
Et alors, désolé... Non, désolé.
Mais pas du tout, le Joël du jeu, il est très très beau aussi.
Je vais faire un sondage sur le chat et comme ça on va tous pouvoir expliquer à Dibou qu'il a tort. Mais il n'y a pas de souci, je vais pas vous biaiser. Dis-nous à quel point le Joël du jeu est aussi joli que Pedro Pascal, t'es sûr?
Bah, c'est un style un poil différent, mais il fait très bien le papa, la beubare, le gars un peu carré. En vrai, le mec est très très beau aussi. Le problème, c'est que là, Pedro Pascal, c'est une resta, vous le connaissez déjà, elle a fait plein de films, il y a eu le temps de le starifier, d'idolâtrer. Le gars du jeu.
Non, mais t'es en train de dire qu'on est là avec nos émotions,
genre,
au lieu de réfléchir de façon rationnelle.
Mais non, mais
le plus BG.
Les deux sont très beaux, mais en fait, tu peux pas dire.
Est-ce que Joël est très beau dans le jeu?
Oui,
je
mais si, mais si. Mais si, il est plus, enfin, je vais pas dire il est plus BG, mais il est aussi beau que Pedro Pascal, ça c'est sûr. Et je n'ai absolument pas trouvé qu'il était plus mince. Comme quoi, c'est toi qui l'as vu. C'est toi qui le regarde avec des yeux remplis d'amour, Mimi.
Alors déjà non, parce que plus mince, ça veut pas forcément dire mieux. Et sache que notamment, chez mes profils d'Adi, je ne suis jamais contre un petit peu de gras, un petit peu de poignée d'amour, un petit peu de choses auxquelles s'accrocher, contre lesquelles se réfugier déjà. Donc je te ferai dire que ce n'est pas parce que je l'ai trouvé plus mince que je l'ai trouvé plus beau. Je le trouve
beau.
Ah
non, j'ai pas dit ça.
Je l'ai trouvé plus mince aussi.
Je dis pas ça, je dis le
peut-être
fait que tu aies vu
dans ma tête.
Que tu remarquais qu'il était plus mince. Ça je ne l'ai pas remarqué. Parce que j'ai pas le même regard sur Pedro Pascal. C'est
peut-être
pas ça,
que
pas
tu,
le truc qu'il est
tu
mince.
Tu regardes moins la taille et les hanches de Pedro Pascal que moi, ça c'est.
Il est à une chance non, sur une que ce soit le cas.
Il y a des gens, ils disent. Joël, c'est Jamie Lannister en post-apo. Je suis désolée, mais
un petit peu, mais pareil, en mieux quand même, en mieux.
Joël dans le jeu, pour toi, il est mieux que Jamie Lannister ?
En mode post-apo, ouais. Ouais, totalement.
On invite des gens chez soi et on ne sait pas. Et voilà, et on croit les connaître, et pas du tout. Ok, on va parler.
En tout cas, c'est pas une majorité écrasante. Et si moi je pouvais voter, je voterais à Joël
du
jeu.
Voter.
Donc déjà, tu vois, on est à 8.
Tu peux 10. Voter sur,
je vais voter.
Sur l'hôtel de Mairie si tu veux. Alors, pour les auditeurs et auditrices du podcast, on est à 61% de vote. Ah, ça, ok. On est à environ une petite majorité pour la team Pedro Pascal, une petite minorité pour la team Joël dans le jeu. Donc on est à un genre 60-40, pour vous dire. Et ça se maintient à peu près là-dedans, et je pense qu'on va finir là-dessus. Mais avec 60 pour Pedrito Pascalito, et pas pour Joël du jeu. Je suis désolée, il a un peu... En fait, pour moi, il a la tête de tous les gars qui sont les héros de AAA. Tu vois, il a la tête de Nathan Drake, il a la tête de Alan Wake, il a la tête de tous les gars dont...
Désolé, il se ressemble un peu les couilles.
62% pour Pedrito. On note. On regarde cette petite coupe qui rebondit. Super. Let's go to... Les girafes.
Si tu veux.
La girafe et les girafes.
Allons-y.
Bah, c'est l'étape suivante. Du coup, on a Ellie qui est traumatisée, Joël qui essaye de la mettre à l'aise et aussi de lui promettre des... Enfin, en gros, il essaye de lui amener un futur où il lui dit « J'aimerais bien t'apprendre la guitare. Est-ce que tu voudrais... » Et en fait, il lui dit « J'ai cru voir une guitare. J'aimerais bien t'apprendre. » Ellie, elle réagit pas.
C'est super fort d'ailleurs comme moment parce que bah voilà. Toi, tu vois, mais cette promesse de la guitare et tout.
Ah, il y a un truc. Alors dans la série, on sait qu'il lui a dit.
Ouais.
En vrai, je voudrais pas être berger de moutons. Je voudrais être chanteur. et du coup, en vrai, quand il lui a dit « Je peux t'apprendre la guitare », j'ai eu un petit moment dans ma tête où j'étais là. Oh my god, genre il chante et elle joue. Ce serait incroyable ou pas? Genre, c'est le meilleur groupe, c'est genre sa fille adoptive et lui il chante et elle joue. Et j'étais là, je vais pleurer. Ce n'est pas arrivé. Peut-être dans la saison 2 ou 3, on ne sait pas. Probablement qu'on va avoir plein de bons sentiments et de comédie musicale. Assez peu. Donc oui, il y a ce moment de la guitare. Donc Joël, il lui promet quand même, il essaye quand même de lui montrer qu'il y a un après et qu'il y a un futur. Et Ellie, elle est là. Ok, j'imagine. Peut-être.
C'est vrai qu'ils sont dans une espèce de diphtongue où d'un côté Joël il est en train de penser un petit peu cette blessure qu'il a eue énorme de la perte de sa fille etc et en train de s'attacher énormément à Ellie et d'un autre côté et c'est un truc qu'on voit que j'ai eu l'impression en tout cas de plus retrouver dans le jeu que dans cet épisode final c'est qu'il se heurte en fait à une Ellie qui elle est super déter. D'être ce remède en fait c'est sa quête personnelle
oui.
Et ça vient
c'est
se
le sens de
ça,
sa vie
fait.
Et c'est qu'est-ce qu'elle à quoi elle est bonne pourquoi elle est là et à quoi elle sert bah en fait le sens qu'on lui a donné et alors on sait pas à quel point enfin moi de ce que j'ai compris dites-moi si ça dans le jeu ou si on le sait pas Ellie elle a pas genre toujours su qu'elle était immunisée et même après avoir été mordue par Riley. Enfin, quand elle est dans l'épisode 1, quand elle est kidnappée par les Fireflies et qu'elle est enchaînée au radiateur, elle a pas l'air de savoir pourquoi elle est là. Donc elle a pas fait le lien entre « Attends, j'ai été mordue et j'ai survécu bon, ». Pourtant, elle dit dans cet épisode qu'elle a dû tuer Riley, donc elle s'est bien rendue compte qu'elle non. Mais elle se dit pas « Ah bah peut-être que je suis là-dedans parce que je suis immunisée au virus auquel visiblement personne n'est immunisé ». Donc il y a tout un truc confus de « On sait pas depuis quand elle sait qu'elle est spéciale, mais à partir du moment où elle sait qu'elle est spéciale, elle est là, enfin, qu'elle peut peut-être sauver les gens, ça la drive, et surtout, plus il y a des gens qui meurent ou qui souffrent pour l'amener à son but, plus elle se sent redevable de bah en fait, il y a intérêt que je sauve le monde parce qu'il y a vraiment des gens que j'aime beaucoup qui sont morts pour ça, donc si c'est pour rien, ça va être compliqué.
Ouais, puis il y a ce côté aussi alors je sais pas, vous pour le coup, pareil pour le chat, mais quand on était gamin, on avait tous envie d'être spécial ou d'avoir tu sais un but ou une quête ou un machin et tout. Et puis en grandissant, soit bah t'as réussi ton rêve ou atteint ton objectif et c'est tant mieux. Mais c'est pas forcément le truc le plus commun et du coup bah ce qui est bien, c'est qu'on va avoir aussi plein de réponses. Enfin, Ellie va avoir peut-être quelques réponses ou pas sur sa propre quête et comment elle vit l'achievement ou non de cette quête qui a pop peut-être dans son cerveau. Bah finalement, avec le le DLC entre guillemets, tu vois, avec sa Perfect Rally.
J'ai bien fait d'inviter des gamers. Ça dit des trucs genre clean sa propre quête et moi j'aime bien. Parce que je comprends. Mais oui, en gros, c'est quoi le sens de la vie de Ellie dans la saison 2, une fois qu'elle a non seulement compris, cru, avalé tout ce qu'on veut, que en tout cas elle est pas ça va pas être elle la clé de la fin de l'apocalypse.
Elle est pas spéciale en fait.
Bah, alors Joël, il lui dit clairement, il y a plusieurs autres comme toi, alors que a priori, on sait que, en tout cas, des connaissances qu'on a, non, il y en a pas beaucoup d'autres, mais on en parlera sur la fin. Mais il lui dit pas, t'es pas spécial. Il lui dit, en gros, il y en a plein, et en fait,
oui, mais
juste,
dire qu'il y en a
être...
plein, c'est sous-entendu, t'es pas spécial
oui,
non plus, tu vois ce que je veux dire.
Mais t'es pas spécial, ça veut dire t'as le droit de vivre, tu vois. Ouais. C'est... Oh là là, c'est compliqué. Ok, la girafe. Girafe time. Donc on a Joël et Ellie qui arrivent dans cette ville. Ellie qui est toujours traumatisée. Ils arrivent du coup à Salt Lake City. On se souvient que une random carte dans une université où ils se sont fait aggro par des raiders disait « Maybe on va à Salt Lake City ». Et ils se sont dit « Moi j'y crois ». Et du coup ils y sont allés et qu'elle soit, ils avaient raison. Ils se retrouvent à Salt Lake City et c'est là où il y a cette Ellie. C'est, en fait c'est le moment où Joël il dit à Ellie, il reconnaît, il verbalise que Ellie elle est bizarre, qu'elle est taciturne, qu'elle va pas bien. Et il lui dit, parce qu'au moment où il dit « Ok, on est dans cet immeuble désaffecté, je peux, il y a une échelle qui est un gros truc apparemment du jeu en termes de gameplay. »
Ouais, tout à fait.
Il faut que tu fasses la courte échelle pour que tu arrives à cette hauteur, que tu me donnes l'échelle et tout. Là, pour le coup, bah Ellie, déjà de base, quand il lui dit ça, elle l'écoute pas. Elle est en train de regarder des papiers. Alors moi, au début, je me disais peut-être c'est des papiers un peu importants, enfin, qui montrent des trucs un peu importants. Pas du tout, ça a l'air d'être des plans d'architecte ou quoi que ce soit. Et en fait, Joël, il va la voir et c'est là où il dit ce qu'il pense depuis le début, qui est « Est-ce que ça va ?» Elle a « Quoi ?» Il fait « Ah, ça va pas quand même. » Et en fait, il lui dit « T'es assez silencieuse aujourd'hui. » Ce qui montre aussi que, en fait, il y a du temps qui a passé depuis cet épisode traumatisant qu'elle a vécu, qu'ils ont vécu tous les deux, mais qu'elle a vécu plus que lui, et que c'est pas tous les jours. Je pense qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où elle est plus Ellie qu'on connaît, qui met de la vie dans tout, qui dit « fuck », qui fait des jeux de mots éclatés et qui court partout. Et il y a des jours où elle est... Mais là, elle a l'air spécialement éteinte. Est-ce que vous avez un avis sur comment... Parce que c'est toujours compliqué de jouer un perso qui vit des traumas, et notamment un perso qui vit des traumas dont une partie, en tout cas, très heureusement, sont assez peu réalistes, dans le sens où on n'a pas peur du cannibalisme dans la vraie vie véritable de tous les jours. Il y a une autre partie des traumas de Ellie qui est beaucoup plus réelle. Quid du jeu de Bella Ramsey, de cette ado qui fait de son mieux et qui est quand même genre, elle est là, elle parle et tout, mais on sent qu'elle va pas bien. Est-ce que vous avez trouvé ça réaliste ?
Vas-y.
Ouais. Est-ce que j'ai trouvé ça réaliste ? Bah, en fait, je pense que Bella, elle est trop forte. Je pense que s'il y a encore des gens qui doutent de sa capacité à être Ellie, je sais pas, faut se remettre en question, les gars. Je pense vraiment.
Là, de toute façon, c'est la fin de la saison, donc c'est trop tard. Hein. C'est Ellie. Maintenant c'est bon.
Ouais, elle joue juste tout le temps et je sais plus qui disait que rien que dans ses... Bah, c'est toi qui disais ça en plus, qu'on s'était vu que dans ses yeux il y a tout, toutes les émotions passent dans ses yeux et en 5 secondes elle peut être triste et heureuse et la transition elle est parfaite et encore une fois de A à Z c'est nickel, donc ouais, enfin moi j'y crois dur comme fer. C'est alors après c'est le côté aussi post-apo et comme elle a déjà vécu plein de trucs compliqués. Encore une fois, ça va vite, t'as l'impression, parce que en vrai, quand ça t'arrive ça, il te faut des mois ou des années de thérapie où il faut parler à plein de spécialistes, parfois peut-être avoir même une aide médicamenteuse parce que bah, c'est compliqué de faire des transitions et de laisser les traumas de côté avant de les affronter réellement. Là, bon, bah, elle est juste en mode, bah ouais, comme tu dis, bah mon crush il me veut plus, j'ai eu 8 sur mon DM, bon, ça va. Mais en vrai, encore une fois, vu l'environnement horrible qui vivent jour après jour depuis des années, ou enfin des mois, des années, ben, ils ok. Enfin, honnêtement, moi, je trouve que c'est parfaitement interprété, parfaitement joué. Et le truc, c'est que tu ressens tout ça. Tu prends tout dans la gueule. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment tu peux dire « Je ne crois absolument pas, elle est nulle. » Mec, c'est... Mais qui on regarde pas le même truc en fait. Tu regardes un autre truc en fait. Tu es sur ton téléphone portable pendant que tu regardes la série. C'est pas possible d'être de mauvaise foi comme ça, tu vois.
En tout cas, tu ne fais pas d'effort.
Ouais.
Bella Ramsey, je la trouve incroyable. Dans la vie, j'aimerais que ce soit mon amie. Et
mais de fou.
Mais ouais, on est d'accord.
Mais de fou. Ouais. J'ai envie d'aller genre boire de l'ice tea avec elle et d'être là en mode girl. C'est chaud la vie, mais c'est cool avec toi.
Ouais. Non, mais elle, je trouve que en tant qu'interprète d'Ellie, de toute manière, elle a tellement cassé la baraque. Elle s'est tellement appropriée le personnage. que moi je sais pas comment dire, c'est quand tu la vois, et aussi parce que le personnage était très bien écrit, donc c'est vrai qu'on retrouve vraiment tous les traceurs de son caractère, etc. Mais ouais, elle interprète vraiment vraiment divinement bien, hein, du premier au dernier épisode. C'est assez fou. J'ai vu quelques critiques, enfin qu'il y avait eu en tout cas des critiques quant à son choix, et je les ai pas comprises honnêtement.
Bah, il me semble qu'on en avait parlé un petit peu. Les critiques de base venaient du fait qu'elle ressemble pas beaucoup physiquement à l'actrice, enfin la représentation de Ellie dans le jeu. Mais bon, encore une fois, et le sondage m'a donné raison, Pedro Pascal ressemble pas de fou à Joël non plus. C'est juste un grand mec brun barbu, et t'es là, ok. Bah du coup, une petite gamine blanche avec une queue de cheval, t'es là, ok. Et je pense, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà Bella Ramsey, c'est une personne non binaire qui l'assume, et c'est assez rare, ça reste assez rare de nos jours, et c'est la deuxième personne non binaire qui a un premier rôle d'ampleur dans une série HBO, puisque il y a eu Emma Darcy qui joue Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon. Donc je pense qu'il y avait un peu un backlash conservateur, des gens qui sont contre le fait qu'il y ait des identités au-delà de la cis-hétéronormativité. Et aussi le fait que peut-être Bella Ramsey est moins physiquement dans les canons de beauté d'une jeune fille ou d'une jeune femme que
s'en fiche.
Je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi, genre évidemment Ellie n'a pas à être ni jolie ni sexy ni désirable, en fait Ellie, l'important c'est qu'elle soit Ellie, et l'important d'une bonne adaptation c'est pas tant la ressemblance physique ou, et en plus enfin, si c'était important pour le personnage d'Ellie qu'elle soit un petit peu bégée et que ça rentrait dans comment elle se comporte par rapport au monde et qu'elle est là, en fait, je suis consciente que je suis dans les canons de beauté, etc. Mais non, c'est clairement son personnage. Elle est, bah, comme Joël dit dans cet épisode, je dis pas que t'es pas girly, mais, et elle dit, mais mon gars, je suis pas girly, tu vois. Genre, c'est littéralement elle qui lui dit, non, mon gars, je suis pas très féminine, on va pas se mentir. Et en fait, y a pas besoin que Ellie soit dans les canons de beauté, tout en assumant que je trouve que Bella Ramsey a un charisme de dingue et qu'elle a vraiment du charme à en revendre, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y avait un mix de « j'ai pas envie de voir une fille pas jolie dans la série, surtout si elle est moins jolie que le personnage du jeu, et en plus, c'est la personne derrière le personnage féminin, c'est une personne non-binaire, donc Bella Ramsey, qui, alors qu'on genre au féminin dans ce podcast parce qu'elle a dit qu'elle était ok avec ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes non-binaires, mais en tout cas qui est en parcours sur son genre, qui est très libre et public par rapport à ça. Et je pense que ça crée, comme toutes les évolutions sociétales, et surtout celles qui sont publiques et visibles, une rigidité chez certaines personnes. Et no offense to the gaming, I love video games, ok, vraiment j'adore les jeux vidéo. On sait qu'un certain public de gamers, de joueurs et joueuses de jeux vidéo n'est pas très ouvert à certaines évolutions sociétales et n'a pas toujours un esprit très ouvert, donc je pense que ça peut jouer dans... Mais tout comme House of the Dragon, il y a un perso qui dans le bouquin n'est pas noir, qui a été confié à un acteur noir qui a fait un travail formidable. Il y a eu autant de gens pour râler sur « Oh non, mais c'est pas canon, il devrait pas être noir, naninana », et t'es là « Mais peut-être on s'en bat la race, en fait, à la fin, ouais, le perso est super, quoi. » Ouais, oui, donc je pense qu'il y a des deux. En vrai, dans le rejet de qui joue Ellie, il y a de la misogynie, il y a de la cis-hétéronormativité, il y a de la LGBT-phobie, il y a plus que « Ah, peut-être c'est pas une bonne actrice », qui peut s'entendre de « Ok, bah Lago, on l'a pas vu dans beaucoup de choses depuis... » Enfin, elle est jeune, quoi, donc on l'a pas vu dans beaucoup de choses. Est-ce qu'elle va être à la hauteur ? C'est des questions légitimes à se poser. Mmh. Même dire « Bah, physiquement, pour l'instant, j'avoue, je le vois pas, mais j'attends de la voir en action, c'est ok. » À partir du moment où t'as vu 9 épisodes, j'ai cru comprendre que les gens qui, comme bon, je salue le... Enfin... le réalisme entre guillemets de son interprétation, en tout cas le fait que ça colle, ouais, au personnage qu'elle est censée incarner, comme par exemple dans la scène de la girafe. Alright, on a du coup un petit moment d'innocence volée dans cet épisode qui est très peu innocent, avec cette scène de la girafe dont du coup on avait parlé sans dire de quoi on parlait avec toi, Adibou, qui est apparemment une scène tout aussi impactante et importante dans le jeu, qui marque un vrai stop, en tout cas une vraie pause avant, voilà, ce moment où on arrive à un tunnel de fin qu'on devine un petit peu, je pense dans le jeu aussi, de ok, ça, bah on est à Salt Lake City, a priori les Fireflies sont là, donc peut-être on arrive tranquillement vers la fin. C'est d'ailleurs ce que Joël va amener à Ellie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène de la girafe? Déjà, est-ce que toi, Mary, c'est un truc qui t'était resté en tête? Est-ce que c'est un truc que t'attendais?
Ouais. Bien sûr.
Ouais. La girafe!
Je me souviens plus. Alors, tu vois, je me souvenais pas, on parlait avec Adibou tout à l'heure, mais je me souvenais pas qu'elle intervenait aussi tard, cette scène de la girafe. Donc, je sais pas s'ils l'ont relocalisé,
Ah oui, on a un doute. Alors, dites-nous dans le chat, est-ce que la scène de la girafe arrive aussi près de la fin dans le jeu? Ou est-ce qu'elle arrive plus tôt, mais ils l'ont gardée pour la fin dans la série parce que ça marche bien.
Mais je me souviens qu'elle arrive après un événement assez intense, un peu traumatisant, comme à peu près tous les niveaux du jeu. Mais ça arrive à ce moment-là. voilà.
Je me souviens, c'est après un moment intense et traumatisant. Oui. Quel chapitre du coup.
Exactement. Mais c'est un espèce de moment d'un espèce de petite parenthèse, de moment de flottement. Et je crois me souvenir également qu'à ce moment-là, tu peux choisir d'avoir une interaction ou pas avec Ellie. Donc, comme je le disais, ça va rien changer au jeu. Ça ne change rien au jeu. C'est-à-dire que ce sont vraiment que des dilemmes un petit peu moraux, quoi. Tu vois, de choisir d'échanger avec elle ou pas là-dessus. Moi, bien évidemment, je l'avais fait.
Mais en gros, tu peux juste voir Ellie, voir la girafe, parler à Ellie et continuer l'aventure et Ellie va te suivre et voilà. T'es pas obligé de vivre la cinématique, donc la scène.
Ah, Omelette nous dit qu'en fait, elle arrive exactement à ce moment-là, donc oui,
Ouais, apparemment, ça arrive, comme dit Omelette, et Gesamtkunstwerk. J'ai fait allemand. Elle arrive, effectivement, la girafe arrive à Salt Lake City avant les Fireflies, et on voit un petit peu aussi le rapport d'Ellie aux animaux dans le passage où il y a des singes et où elle est là. Oh my god! C'est des putains de singes! J'ai jamais vu des putains de singes de ma vie! Et que Joël est là, on va quand même. C'est quand même des putains de singes, ça fait un peu flipper quoi, quand même.
Mais c'est vrai que c'est un moment qui est doux, en fait, et c'est très rare dans le jeu et dans la série aussi. Donc, c'est des moments que t'apprécies d'autant plus parce que, ils viennent un peu dans une parenthèse qui est vraiment enclisée dans deux moments horribles, en fait.
Et alors, est-ce que dans le jeu, le moment, parce que dans la série, et il me semble que c'est pareil dans le jeu, donc Joël justement dit à Ellie, il y a un truc en hauteur, je te fais la courte échelle, tu me donnes l'échelle, je te rejoins. Et en fait, quand Ellie lui donne l'échelle, elle la lâche parce qu'elle voit la girafe. Elle fait et elle part en courant en mode et elle lâche limite elle lui lance sur la gueule en mode démerde-toi avec ton échelle. Il y a une girafe, je vais la voir. Mais elle dit pas à Joël. Et Joël, il est là. Peut-être historiquement. Surtout dans des bâtiments dans une ville, quand t'as crié fort, quand il y avait un truc surprenant, c'était plutôt genre horrible. Et en fait, il sait pas qu'elle court parce qu'il y a un truc cool. Donc il est là en mode, ça a pas l'air horrible 4000, mais ça a l'air potentiellement horrible au moins 2000. Donc il cavale et tout. Est-ce que dans le jeu, il y a un moment de, un peu où t'es là en mode, tu sais pas qu'il va y avoir une girafe? Genre, tu cours et t'es là, peut-être il y a un infecté. Genre, Ellie, elle part et toi, t'es là, elle m'a jeté l'échelle à la gueule et tout.
J'ai passé le micro du coup après, mais moi je me souviens qu'en fait, tu vois, j'ai le souvenir qu'ils sortent de cette porte et après t'as les girafes. Mais je me souviens plus ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que c'est juste une fin de niveau ou quelque chose comme ça.
Moi je me souviens pas du tout d'un moment stressant ou angoissant ou un truc comme ça. Même manette en main, en fait, tout est si apaisant et calme. Et pour une fois, t'avais la sensation que c'était vrai et que t'allais pas avoir une coquille dans l'omelette. Donc j'ai pas ce souvenir, Mimi, pour être honnête avec toi. Peut-être que le chat lui s'en souvient mieux, l'a fait récemment peut-être, mais comme Mary, j'ai l'impression que c'est plutôt tout doux bijou et que ça se passe bien quoi.
Le chat dit c'est pareil dans le jeu. Ellie part en courant devant et Joël lui court après. Blopou dit dans cette scène j'étais en full empathie pour Joël, ce pauvre vieux daron qui tente de rattraper son ado qui fait nimp sans prévenir. Je suis d'accord, mais c'est aussi la vie quand on a une ado, quoi. Ça fait partie du truc. Sunny Chou dit, moi, j'étais vraiment interloquée. Donc, pas forcément paniquée en mode, il y a un truc méchant.
Genre, qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'il y a un truc aussi où tu sens que, genre, j'ai vu, enfin, si t'as joué au jeu, t'en es à, je sais pas, quelques dizaines d'heures à ce moment-là, t'es là, bon, j'ai vu plein de fois, il y a un truc méchant qui arrive, et c'est pas là. C'est pas ça qui est en train de se passer. Il y a un truc qui arrive, mais c'est pas forcément un truc horrible, quoi. Donc, le regard de Papounet qui lui jette quand il la voit avec la girafe. Mais oui! Et Omelette Douce dit, oui, Ellie lâche l'échelle tout pareil sur la tronche de Joël. Du coup, il comprend pas ce qui se passe parce qu'elle était complètement amorphe juste avant ça et qu'il n'arrivait pas à la faire sourire, ce qui est du coup, reproduit dans la série aussi. Donc, on a ce moment avec la girafe où, Joël et Ellie lui donnent des petits buissons, etc. Et ensuite se retrouvent sur le toit de cet immeuble pour trouver leur chemin dans Salt Lake City. Chemin qui, je suis désolée, c'est pas hyper bossé leur plan parce que ils ont été à l'université où il y avait plus les Fireflies, il y avait une vieille random carte, ils ont dit maybe on va aller à Salt Lake City, ça a l'air d'être là où trois punaises pointent sur la carte, donc let's go. Et ils arrivent à Salt Lake City, et quand, au moment où ils prennent la bretelle pour rentrer dans la ville, Joël dit, il y a un hôpital par là, c'est peut-être celui qu'on cherche. Et je suis là, et peut-être pas, parce que Salt Lake City, c'est une très grande ville où il y a beaucoup d'hôpitaux, genre, what the fuck, bah, vous êtes vraiment en mode, on va se balader et trouver le bon hôpital. Je suis là, mais enfin. Et bon, en tout cas, ils sont en train de repérer leur route vers on ne sait pas où, en haut de cet immeuble, et ensuite ils redescendent après avoir... après avoir vu la girafe pour la suivre. Et c'est là où Joël propose à Ellie l'improposable. Et ça, pour le coup, je sais pas du tout si c'est vraiment dans le jeu. Alors, peut-être vous en souvenez. Sinon, dites-le nous dans le chat. Est-ce que cette scène où Joël propose à Ellie, si t'as pas envie, on n'y va pas. On s'arrête. On rentre. On rentre chez Tommy. On rentre à Jackson. Et on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé d'aller voir les Fireflies. On n'est pas obligé. En fait, on peut dire que t'es pas la sauveuse de l'humanité. Et on peut juste dire, pousse, on arrête. Et d'ailleurs, Ellie, elle lui dit, mais on ferait quoi? Et il est là, on rentre. On s'en va. On rentre. On fait notre vie. Est-ce que c'est dans le jeu, cette scène?
Moi, je m'en souviens pas, mais Mary dit oui. Le chat aussi, apparemment.
Je me souviens que, en fait, il y a vraiment la diphtongue dont je parlais tout à l'heure, qui est que, au fur et à mesure, plus le jeu avance, plus Joël, lui, a envie de revenir à une espèce de normalité de vie, maintenant qu'il a trouvé Ellie, etc. Et que donc, il y a cette Darona de retrouver, cette parentalité retrouvée. Et d'un autre côté, Ellie qui elle, justement, à sa propre quête, quoi. C'est ce qu'elle veut faire. Et oui, alors je sais plus exactement si tu vois ça se traduit comme ça dans le jeu, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment cette
il y a cette idée de ouais, vas-y, on dit qu'on y va pas.
Mais tu n'es pas obligé, en fait. Et elle, pour elle, il y a ce côté un peu inconcevable de mais tu te rends pas compte, je suis la seule personne immunisée, en fait. Donc si c'est pas moi, c'est qui?
Mais alors, tu vois, alors je sais pas comment c'est dans le jeu. Moi, dans la série, la réponse de Ellie, je l'ai pas entendue comme je suis immunisée, je peux sauver le monde. Ce qu'elle dit, c'est en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Tous ces gens que je connaissais, ils sont morts pour m'amener là. En fait, tout ce qu'on a vécu, y compris les traumas que elle a subis, c'était pour m'amener là dans l'espoir de peut-être on va pouvoir faire de moi la sauveuse de l'humanité. Moi, je l'ai pas lu comme mon gars, je suis Jésus, et du coup, on va pas m'empêcher de sauver le monde. C'est plus en fait, t'es en train de me dire que peut-être on a fait 90% du chemin. Tess, elle est morte. Riley, elle est morte. Marlène, elle le sait pas encore, mais ça va pas durer de fou. Henri, il est mort. Sam, il est mort. Enfin, tous les traumas, les David, les évangélistes, les cripes, les mon cul, qu'elle a, tout ce qu'elle a vécu. Joël peut lui dire, au pire, on rentre. Elle est là. Vraiment, si on rentre, tout ce qu'on a fait là, c'était pour rien. Et en fait, il y a des gens que j'aime qui sont morts pour rien. Sarah Mush dans le chat dit, c'est le trauma du survivor, le trauma du survivant. Et oui, c'est un peu ça. C'est un vrai truc qui arrive quand on survit à une catastrophe ou à une situation critique et pas d'autre. C'est qu'on a la culpabilité du survivant ou de la survivante. C'est qu'on se dit, pourquoi moi j'ai survécu? Peut-être parce que j'ai un truc spécial à faire. Ellie, elle a littéralement survécu à sa mère qui est morte pas en lui donnant vie, mais pas loin après. Un des premiers sons que bébé Ellie elle a entendu, c'est un coup de feu qui a tué sa mère, qui a été tiré par la meilleure amie de sa mère, tu vois, genre en termes de, elle est née dans la violence, on est quand même Al, et en fait sa vie n'a pas de sens si elle essaye pas au moins. Je pense pas que c'est, il faut que je sauve le monde, c'est mon gars, si tu me dis que tous ces traumas que j'ai vécu c'est pour rien, ils vont tous se tripler, se quadrupler, se faire des gamins, aller boire des coups, se faire des fêtes des voisins des traumas, et moi j'ai pas envie parce qu'ils habitent dans moi, tu vois, c'est chiant. C'est comme ça que je l'ai Luc, mais il y a Steel Marty sur le chat qui dit à part Tess, les autres ne sont pas morts pour elle. Sam aurait été mordu de toute façon dans cette invasion d'infectés. Ellie ou pas Ellie? Oui, mais si tu réfléchis, Sam et Henri, ils seraient jamais passés par là à ce moment-là s'il y avait pas eu Joël et Ellie pour les guider, et notamment Sam. Henri s'est laissé porter par Joël pour le. Enfin, il a dit à Joël, ok, tu vas sortir avec nous et tout machin. Enfin, oui, on est tous des grains de poussière et la vie aurait continué anyway, et il y aurait une invasion de zombies et il y aurait une pandémie et tout ça, mais elle a quand même eu en effet Ellie, enfin Tess, si elle rencontre jamais Ellie, elle est pas morte encore, ou alors elle est morte mais autrement, et en fait Ellie elle vit juste sa culpabilité de maybe tous les gens que j'aime bien ils meurent, comme je te l'ai dit Joël il y a pas si longtemps, donc merci de ne pas. Donc on a cette confession et c'est là où on comprend pourquoi on va y aller. genre, on va pas s'arrêter, on va pas rentrer, même si moi, depuis l'épisode 6, je suis là, mais restez chez les cocos. Ils ont des douches, ils ont le cinéma, c'est super. Restez là-bas. Eh bien non, ils ne vont pas y rester pour une bonne raison, qui est que Ellie a besoin d'une raison de vivre quand même un petit peu. Ok, j'entends. D'accord, c'est une bonne raison. Et on arrive à la deuxième grosse confession de cet épisode, qui est la confession de Joël sur d'où... Littéralement, il fait une joker en mode « Tu veux savoir comment j'ai eu cette cicatrice ?» Et il est là « C'est pas fun comme histoire. » Et effectivement, l'histoire n'est pas fun, puisque Joël confie à Ellie que le lendemain de la mort de Sarah, donc jour 2 de l'invasion, il a essayé de se donner la mort. Il n'a pas réussi, il ne sait toujours pas pourquoi, mais peut-être qu'il est en train de comprendre pourquoi. Et ça, on est d'accord, c'est tout nouveau. C'est pas dans le jeu.
Cette discussion,
le fait que Joël ait essayé de se suicider après la mort de Sarah, de ce que j'ai entendu et lu, ce n'est pas dans le jeu.
Ça me dit rien du tout. C'est encore une fois un papa qui s'ouvre. Enfin, est-ce que c'est même pas plus qu'un papa à ce niveau-là, tu vois, genre est-ce qu'il essaye pas d'envoyer une sorte de message à sa fille, à Ellie? Est-ce que c'est pas un peu, je sais pas, culpabilisant aussi quelque part, ou tu vois, j'hésite entre le fait qu'il essaie de la réconforter aussi de cette manière, en mode voilà, j'ai vécu des choses difficiles, j'ai voulu, j'ai pas réussi, mais finalement je sais pourquoi, c'est un peu grâce à toi finalement, et si j'étais plus là, ben je t'aurais pas rencontré, donc voilà, malgré tout je suis heureux. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de l'empêcher de se foutre en l'air, et tu vois ce que je veux dire, genre en étant
un peu coupable
dans le délire, ouais, tu vois, un peu de récupération, en mode c'est bien la communication, c'est bien d'être honnête avec tout le monde, mais peut-être qu'à un moment il y a le marionnettiste qui commence à arriver, qui commence légèrement à la manipuler, donc je sais pas trop en fait à quel point il est sincèrement sincère dans le bien d'Ellie, et à quel point il est sincère mais pour son propre bien à lui. Quitte à la manipuler,
c'est toute la
tu vois.
Question du final. Hein,
ouais, bien sûr.
Finalement. Mais
est-ce que ça démarre pas là, enfin, est-ce qu'il y a pas un truc là, tu vois.
Ouais, bah ouais. Pour moi, elle finalement. Commence aussitôt, c'est clair. T'en as pensé quoi, toi, Mary, de cette, confession inédite de Joël, qui est que effectivement, il a tenté de se donner la mort après la mort de Sarah, et il n'a pas réussi, et ça c'est tout nouveau. Et il dit quand même à Ellie. Enfin, Ellie lui dit. Du coup, j'imagine que ce que tu me dis, c'est que le temps guérit toutes les blessures. Et il lui dit, c'était pas le temps. J'étais là.
Pique.
Au pire, sacrifiez-moi sur mon canapé de bon matin, c'est pas grave. Je n'ai pas envie de vivre anyway.
C'était super intense. Hein. Bah, moi, j'ai trouvé ça fou. En fait, j'ai apprécié qu'il raconte cette histoire pour, au final, lui dire que c'est quelque chose qu'il ne regrette pas par la force des choses, etc. Et aussi, comme le dit Adibou, c'est un papa qui s'ouvre, c'est un père qui parle de ses émotions, de son vécu, et qui commence à partager des trucs avec elle. Donc déjà, on rentre vraiment dans la dernière phase de ce relationnel qu'il partage avec, qu'il entretient avec Ellie, où vraiment on est sur, du partage d'expériences personnelles, etc., des choses qui sont très intimes, comme le fait qu'il a essayé de se suicider, etc. Donc, il m'a fait crever ce passage, en fait. Pour moi, ça catalyse tout ce que je fantasme un peu de la relation père-fille, en me disant, oh, mais c'est si beau et pur, en fait.
Alors. Oui, je te le dis, j'ai un papa super, hein. Je l'adore, Bernard Hegel, j'en parle souvent sur ce live, il est top. Mes parents sont encore mariés, mon père est top, enfin tu vois, j'ai pas de... Pour le coup, franchement, je suis une féministe sans daddy issues, ça peut vous arriver, il est top, mais je dirais pas que c'est fucking Joël, tu vois, en termes d'intensité de la relation, je l'aime de fou, mon père, hein.
Ouais.
Mais bon, souvent, juste on regarde les amours au Ruquier et on fait des vannes, tu vois, genre c'est moins romantique aussi que à la télé, genre on n'est pas là à se dire je t'aime jusqu'à la mort, genre je pense que mon père il m'a dit je t'aime 3 fois dans ma vie, il y en avait 2, j'avais moins de 18 mois, tu vois, genre tranquille, il est là, c'est bien ma fille, je fais t'inquiète, j'ai compris, c'est ton max, c'est ton max, Bernard Hegel, c'est pas ta faute, t'es né en 58 et t'es un homme protestant, donc qu'est-ce que je te disais, mais c'est bien, un homme protestant alsacien qui me dit je suis fier de toi, je fais incroyable,
pote. Très bien. Non mais ouais, j'ai beaucoup aimé, moi je l'ai trouvé extrêmement touchant, ce passage, en plus voilà, en sachant qu'après on part vraiment dans cette espèce de rush final, c'était une parenthèse qui était hyper bienvenue, extrêmement touchante. Voilà, j'ai bien aimé Daddy Issues all along, mais c'est ok.
Ah bah, enfin, pas pour moi, hein. Issues,
pour les gens qui ont écrit cette histoire.
Bien sûr. Alors en vrai, j'adorerais, et il y en a peut-être, mais j'aimerais beaucoup lire beaucoup d'interviews de Neil Druckmann, le créateur de The Last of Us, sur son propre daron. Ouais. Parce que je suis là, en fait, là, t'écris l'histoire d'un daron qui perd sa fille et qui retrouve une fille, et d'une fille qui retrouve un daron qu'elle a pour le coup jamais eu. Pour le coup, Ellie, elle est pas en mode... Mon père me manque parce que non, bah, elle a jamais eu de figure paternelle, ouais. Ni de père direct, ni de. En fait, elle a pas eu l'air d'avoir de figure parentale. Bah ça, elle a vraiment grandi dans cet orphelinat, ouais, Fedra. Donc, mais même dans cet orphelinat, elle a pas l'air d'avoir, tu vois, un ou une adulte de référence, un peu en mode
ouais,
le prof qui m'a tout changé ou quoi. Elle est là.
Ouais, elle a pas de mentor, quoi.
Non, elle est solo. Elle drift, enfin, elle dérive un petit peu jusqu'à Joël qui ancre beaucoup de choses. Et je pense, et j'en parlais, c'était avec toi ou avec Yannick. Je pense que c'était Yannick pour l'épisode 3, la mort de Tess. Je sais plus si elle meurt dans l'épisode 2 ou 3. Mais j'exprimais que j'étais hyper, en fait, dans l'épisode où Tess meurt, donc à Boston. Je crois que c'est le 2.
On était ensemble.
J'avais exprimé que, en fait, j'étais grave triste parce que il y a tout un lien, pas mère-fille, mais femme adulte, jeune femme, entre Tess et Ellie, où elle, déjà, quand Tess, elle lui fait des compliments, tu sens qu'Ellie, elle est un peu en mode, ouais, je suis badass, bien sûr, et tout, je suis hyper courageuse. Et aussi, tu sens qu'il pourrait y avoir ce truc de, on t'apprend à gérer tes menstrues, on t'apprend à gérer plein de trucs, tu vois, dans la vie et tout. Et, et du coup, j'étais trop contente pour Ellie qu'elle ait un modèle féminin fort, et après, bam, Tess, elle se fait éclater. Donc, j'étais là, oh non, je suis extrêmement triste. Et on voit qu'elle a pas eu de figure parentale dans sa vie. En fait, je trouve ça intéressant ce que le chat dit, je suis assez d'accord, c'est, voilà, la pression qu'il lui met de Joël, en fait, quand il lui dit, c'est pas le temps qui m'a guéri, ouais. C'est pas le temps qui m'a redonné une raison de vivre, c'est toi. Et en fait, ça se voit que comme ils sont déjà, je trouve, à ce point de leur relation où il y a une cassure entre deux, qui est à la fois une cassure en Ellie, parce qu'elle a été traumatisée, tout comme il y a une cassure en Joël qui l'a empêchée pendant hyper longtemps de s'ouvrir à elle. Et en fait, c'est une histoire tragique de, les bateaux sont ratés, quoi. Ils sont pas ouverts en même temps. Toute la première partie de la saison, jusqu'à au moins l'épisode 6, Ellie, elle est grave en mode « Si tu veux t'ouvrir, je suis là. N'hésite pas. Mmh. Si tu veux parler, tu m'appelles. Je suis dispo. Je suis sur standardiste. Y a pas, je suis toujours dispo. » Et Joël, il est là. La règle, c'est qu'on ne parle pas de l'intégralité de nos vies. Et Ellie, elle fait « C'est une règle nulle, mais d'accord. » Et au moment où Joël, il dit « Peut-être on peut parler de nos vies. » Ellie, elle est là. « En fait, ma vie, c'est devenu trop de la merde. Donc, j'ai pas hyper envie. » Et c'est tragique de se dire qu'ils se sont ratés à pas grand chose. Mais ce petit moment de, en fait, Joël, il s'ouvre et il lui dit, en fait, il lui dit quoi? Il lui dit, j'ai une nouvelle raison de vivre et c'est toi. Littéralement, j'ai essayé de mourir parce que j'avais plus de raison de vivre. Et maintenant, j'ai une raison de vivre. Et Ellie, elle fait, ah oui, le temps qui passe. Et il est là, non. Et Ellie, elle fait, à la fois extrêmement émue. Et en même temps, waouh!
Ouais, sous pression aussi. Hein.
Petite pression quand même qui se passe, quoi. Et j'ai trouvé ça, on parlait tout à l'heure de. C'est une série qui dit beaucoup en disant rien. Et beaucoup des personnages de The Last of Us ne sont pas très bons orateurs et ne savent pas bien parler. Notamment le duo de tête, Joël et Ellie, ne sont pas très forts pour exprimer, verbaliser leurs émotions, leurs vulnérabilités. C'est pas pour ça qu'on les aime, quoi. C'est pas leur forte. Et en fait. J'ai trouvé ça hyper courageux et intelligent à la fois que, en gros, Joël, il lui raconte qu'il a essayé de se suicider et lui dit, en fait, enfin, il lui dit, c'était moi, le mec qui a tiré et qui a raté, c'était moi. Et du coup, Ellie, elle comprend parce qu'elle est pas con, elle est là, ok, on va avoir un. C'est le moment où on s'assoit sur un petit muret, ouais, on a le petit talk. Ça. Et en fait, le premier truc que Joël lui dit, c'est, non, mais il n'y a pas d'histoire. Genre, je vais pas te raconter, il n'y a pas d'histoire, en fait, c'est banal, c'est ma raison de vivre qui était ma fille est morte et je voyais pas pourquoi continuer à vivre et j'ai essayé de me tuer et j'ai raté, ok. Mais ce qu'il lui dit, c'est beaucoup plus que ça, c'est qu'il s'ouvre à elle et il essaye de lui dire, il y a, peu importe ce que tu traverses maintenant a l'air insurmontable et ça a l'air d'être la pire peine que tu peux avoir dans ta vie et crois-moi, je connais la pire peine que tu peux avoir dans ta vie. Pas en mode concours et tout, genre j'ai vécu pire, mais je sais ce que c'est que de voir tout son monde s'effondrer et je sais aussi, et crois-moi, j'y croyais pas qu'il y a un après. Tout ça, il lui dit en je te raconte pourquoi, enfin, je te raconte que j'ai essayé de me suicider et à un moment, et du coup, il finit de lui raconter les faits et lui dit enfin, je te raconte tout ça parce que, et Ellie, elle le coupe et elle lui dit je sais pourquoi tu me racontes tout ça. Et t'es là, ah, c'est bien. Moi, j'étais contente parce que j'aime bien les séries et les fictions qui font confiance à l'intelligence de leur audimat et de leur public. et qui du coup ne sont pas obligés de tout raconter verbalement, mais qui en fait les deux personnages se disent pas le truc, mais je pense qu'on sait le truc. Moi, mon interprétation, c'est juste, en fait, oui, il lui dit ça pour lui dire là, comme il est pas capable de lui dire, on va parler de pourquoi tu te sens très mal, parce que visiblement c'est pas son truc de parler des traumas. Il est là, sache que tu te sens très mal et un jour je me sentais très mal, mais maintenant ça va mieux. Et elle est là, oui, ça je sais. Et il est là, peut-être ça allait mieux à cause de toi. C'était ça le truc, allez, on y va.
C'est l'amour qui fait tout, c'est l'amour qui guérit avec le temps, évidemment. Évidemment, en lui suggérant tranquillement de pas se foutre en l'air aussi, hein. Donc voilà.
Il y a Poupinette qui dit j'aimerais tellement qu'ils aillent chez le psy pour qu'ils gèrent mieux, mais de fou. Non mais attends, mais la thérapie familiale Joël et Ellie, déjà j'en veux une sitcom Disney Plus avec 18 épisodes par saison. Et aussi, j'ai envie de payer très cher le ou la psy qui doit se taper les deux, parce que les deux, ils ont des niveaux de trauma assez vénères. Ok, on a fini les grosses confessions de l'épisode. Sauf si on a autre chose à rajouter. On arrive à... Ok, les Fireflies. Donc, prise en embuscade par les Fireflies qui leur lancent une grenade assourdissante. Ellie est emmenée semi-consciente, semi-étourdie. Joël se fait
un giga coup bang, de crosse là,
un
dans
bon
la nuque,
gros coup de crosse. Ouais, je suis là en mode peut-être peur quand même. Enfin, les gens sont très nonchalants avec ça dans les films et les séries, mais ça fait partie des codes de c'est très facile d'assommer quelqu'un parce que c'est scénaristiquement très pratique pour que les gens se réveillent dans un endroit inconnu et soient là ah quoi. Et en fait, Joël se réveille chez les Fireflies avec Marlène et se rend compte de l'horrible vérité, à savoir Ellie va très bien, mais aussi Ellie va pas aller très bien très longtemps puisque je sais pas comment la version de Marlène, je sais pas comment dire ça parce que je suis là en mode je pense pas que c'est vraiment la vérité médicale, mais la version de Marlène c'est notre docteur a fait des tests etc, ce qu'il pense c'est que Ellie a un cordyceps depuis la naissance qui grandit en elle, ce cordyceps, j'ai trouvé ça intéressant, ce cordyceps fait croire au cordyceps classico que Ellie elle est déjà infectée, du coup l'infection la laisse tranquille. Et fun fact, c'est exactement comme ça que marche une bonne partie des moyens de contraception hormonaux. Ils font croire à ton corps que t'es déjà enceinte. Et du coup, ton corps, il sécrète pas... Enfin, il est là en mode, ok, bah on bloque tout ce qui est production d'ovules et tout, parce qu'il croit que t'es déjà enceinte. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un petit twist où j'étais là, ok. Je sais pas si c'est comme ça dans le jeu, l'explication de... Bah non, parce que je pense que dans le jeu, on n'a pas d'explication de pourquoi Ellie, elle est immunisée. Mais j'étais là, c'est un peu intéressant ce côté vaccin contraceptif, bref. Et du coup, Joël, qui est pas le dernier en bac de SVT, dit, attends. Quand vous dites lui retirer le cordyceps,
c'est-à-dire
c'est celui qui pousse dans le cerveau, non? Et Marlène fait
20 points pour Gryffondor.
Oui.
Voilà ce qu'il a pris.
20 points pour Gryffondor et moins de 100 pour Ellie qui va acter. Et surtout, Joël demande où elle est, où elle est, où elle est. Et Marlène lui dit, on la prépare pour la chirurgie, pour l'opération. Et tu dis, une opération de type routine? Petite dent de sagesse, petit
cake.
Non, 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 ablation du cerveau immédiate, donc fin immédiate. À quoi elle ressemble cette scène dans le jeu? Et est-ce qu'on a comme ça un cut to black de on se réveille à l'hôpital? On a Marlène qui nous parle, qui nous raconte des trucs. Du coup, est-ce qu'on est censé, en tant que joueur ou joueuse, déduire quand Marlène, elle nous dit on va devoir enlever le cordyceps qu'il y a dans Ellie, nous déduire, attends, il est dans son cerveau donc on peut pas l'enlever et elle est vivante? Ou est-ce que le perso, peut-être, il dit le cordyceps a pris possession de Ellie, il faut tout lui enlever? Enfin, en gros, dit clairement, on va devoir la buter. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène de Pedro Pascal en Joël qui découvre petit à petit le destin funeste qui attend sa, pas sa fille, mais un peu quand même sa fille.
Alors, précisément, je ne me souviens pas de tout, puisque je vais le rappeler, j'y ai joué quand il est sorti il y a 10 ans, donc excusez-moi de ma mémoire qui peut,
on l'excuse, ok,
qui peut me troubler. Mais il me semble que c'est, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, parce qu'il y a des scènes qui ont été coupées, qui n'ont pas été rajoutées, notamment une noyade. Parce que le coup des grenades, en fait, ça c'est dans la série, c'est pas du tout dans le jeu vidéo, par exemple, le coup de la grenade.
Donc à la place des grenades qui assomment là, Prélélé et toi Adibou, vous dites il y a une scène où Ellie se noie dans le jeu vidéo,
yes,
et Joël a pas le temps de lui faire du bouche à bouche, puis blackout, assommé,
voilà.
Et là on se réveille
la
du coup, à l'hôpital.
Donc je me souviens plus précisément si c'est exactement les mêmes termes, ouais, etc. Toi par contre, Mary, tu t'en souviens un petit peu plus que moi, grosso modo. Non, c'est pareil, ça date aussi il y a un petit moment. Mais le chat, j'ai vu, je crois, apparaître un peu au-dessus. Genre, c'est tout pareil, à partir du moment où il se réveille, Et de toute façon, oui, quand il se réveille, c'est sûr, Ellie, elle est pas avec Joël. Ça, c'est une certitude, ah bah, je me souviens clair, ouais. parfaitement. Mais je ne sais plus
donc
si...
Donc c'est la scène de... Je pense que c'est la scène de, entre guillemets, bah, peut-être pas kidnapping, d'enlèvement, mais de, en tout cas de la scène où les Fireflies les saisissent, ouais. qui est différente.
Exactement, tout à fait.
Il y a une phase de gameplay avec une noyade, etc., où tout tu dis fait. Tu vas peut-être sauver Ellie, et en fait, non. Et là, tu te réveilles, et t'es chez les Fireflies, et tu sais pas si Ellie est encore vivante,
Exactement.
Comme Joël
tout
qui
fait,
se réveille et qui est là. Merci de m'update ASAP, car sachez-le, quand je ne sais pas comment va Ellie, je fais des
je
grosses bêtises. Je deviens fou assez vite. Et tu vois que Marlène, elle le sait. Hein. Marlène, elle est là. Oh, et oh, j'ai jumper là. J'ai deux gars avec des gros fusils. On va tous immédiatement se détendre. Et du coup, Marlène explique le destin funeste de Ellie. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça déjà sur grand écran, en tout cas sur en série télé 4K, et aussi joué par... Alors, on est d'accord que l'actrice qui joue Marlène, c'est Marlène dans le jeu. Oui. Pour le coup, c'est la seule qui joue le même personnage que dans le jeu, puisqu'on a eu pour rappel donc l'actrice qui double Marlène dans le jeu joue Marlène dans la série, l'actrice qui double Ellie dans le jeu joue la mère de Ellie dans la série qu'on vient de voir au début de cet épisode, l'acteur qui joue Joël dans le jeu jouait le bras droit de David, le cannibale pédophile qui se prend un hachoir dans le cou à l'épisode précédent,
ah ouais.
et l'acteur qui double Tommy dans le jeu, donc le frère de Joël, jouait le bras droit de Kathleen à Kansas City, ce mec avec les cheveux grisonnants et une bonne grosse barbe, très milicien mercenaire qui se fait arracher la tête en deux par le gros gros zombie là, qu'on aimait pas trop, qu'on a jamais revu parce que peut-être on s'en bat les couilles des zombies dans cette série, on va en parler. Donc, quid de cette prise de conscience, comment toi Mary, tu as vu cette adaptation d'un, quand même du moment clé où en tant que joueur et joueuse et spectateur et spectatrice, tu dois comprendre en même temps que Joël, ils sont en train de me dire qu'ils vont la buter,
ouais.
mais ils disent jamais on va la buter,
c'est
parce qu'ils te font toujours passer ça comme...
Oui, c'est le remède, on te dit toujours voilà, Ellie c'est la clé, c'est le remède, etc., elle va aider à machin, mais en fait on te, tout au long de ce périple, etc., et en plus... C'est toi, en tant que joueur, enfin, quand t'incarnes Joël, tu suis vraiment Ellie qui est dans ce truc de, mais je veux le faire, tu vois, c'est important pour elle, en fait. Et donc, tu te dis bon, ok, mais à aucun moment, tu sens que les deux, en fait, ne réalisent que ça peut se solder par sa mort à elle.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et
oui, mais alors il y a quelqu'un dans le chat, qui, l'ardent trop cuit, incroyable, qui dit, je ne sais pas si c'est un faux souvenir, mais il me semblait qu'Ellie connaissait l'issue de l'opération et qu'elle avait donné son accord. Non.
Non, ça il me semble pas justement.
Non, c'est, comme c'est dit Ise, c'est peut-être qu'elles vont lui faire passer des examens, ce qui est attendu, ok, mais pas en mode on t'endort et on.
Non, mais
et tu te réveilles pas
fin,
quoi.
Aucun sens, c'est la fin.
Oui.
Carré, ouais.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand Joël se réveille et donc a cette réalisation qu'en fait l'opération va être complètement létale pour celle qui est maintenant son enfant, il vrille. Et je trouvais ça hyper intense dans le jeu aussi. D'ailleurs, il se réveille et c'est non, en fait, ça va pas m'arriver une deuxième fois. C'est mort en fait, ça c'est pas possible. Et
c'est ça.
Il rentre dans une espèce de.
Je peux pas revivre ça.
Ah ouais, non mais c'est ça. Pour lui, c'est juste pas possible. Et même toi, tu sais, t'es arrivé au bout de 10-20 heures de jeu et t'es à peu près dans le même état que lui. Tu te dis non, en fait.
J'étais là pour le prologue avec Sarah. Je le refais pas la vie, ok. J'ai pas refait tout ça pour perdre la gamine. C'est non.
Ouais, c'est ça, exactement. Et ouais, et donc c'est vrai que il rentre dans une espèce de furie dans laquelle j'ai trouvé en tant que joueuse, je suis rentrée aussi en fait. Tu vois, par la force des choses.
Mmh.
Et c'était super intéressant comme moment et super puissant. Attends, je te passe le micro, Adi, et après j'avais parlé de la scène de fin. Enfin, tu sais, de l'après.
On va arriver à la fin tranquillement.
Enfin, la fin de la scène de l'hôpital, je veux dire.
Oui, oui, on va arriver dans la tuerie et tout. Là, ouais. On est à... Ok, la révélation. Il y a Valentin sur le chat qui dit, dans le jeu, est-ce qu'on joue Joël pendant sa folie meurtrière? Oui. Clairement, oui, on ne joue pas...
On joue à Call of Duty Modern Warfare, clairement.
Ouais, voilà. C'est pas une cinématique qui se déroule sans que le joueur ou la joueuse fasse rien. C'est pas une... C'est pas Ellie qui est endormie, c'est... Il va falloir buter tous les gens dans l'hôpital avant d'arriver à Ellie qui est... On ne sait où, dans un état qu'on ne connaît pas encore, mais qui est en tout cas en danger. Donc oui, oui, on la joue. Avant ça, est-ce que au moment où vous jouiez, cette révélation de les Fireflies, oui, était sincère dans on veut créer un remède à base de Ellie, mais soit le savaient, ne l'ont pas dit à l'époque, soit l'ont découvert entre temps, peut-être que ce remède va passer par prélever son cerveau et désolé, on en a carrément quand c'est compliqué de vivre sans. Est-ce que c'est, enfin, ça fait quoi en tant que gamer qui a, enfin, de joueur ou de joueuse qui a passé des dizaines d'heures sur ce jeu à emmener fucking Ellie jusqu'à ces gens? C'est quand même le but, quoi. Et c'est non seulement le but qui est censé être sûr pour elle, mais sûr pour, enfin, sûr dans le sens safe, sécuritaire pour elle, mais pour l'intégralité du monde, et de se rendre compte qu'ils sont là. Sorry, on va la buter, quoi.
Bah, tu refuses, de toute façon,
c'est là en mode. Dead.
Bah, non, mais. Tu sais, je t'avais dit la première fois que je suis venu, quand je regarde une série, un film ou quand je joue, j'éteins mon cerveau et je me pose pas des questions genre mais qu'est-ce qui va se passer après, tu vois. Moi, je regardais, je crois que c'est Captain Popcorn qui justement faisait aussi son débrief à la fraîche et qui disait bon bah écoute, moi je m'attendais à ça, plus ou moins. Et j'étais en mode mais frère, moi je m'attendais jamais à ça parce que je me laisse porter par le délire, tu vois. Donc quand t'as la manette et que tu la prends, en fait tu la prends comme Joël et tu te dis ben en fait non, j'ai pas payé un jeu 60 balles pour que Ellie elle se
mais
fasse
décapiter. Mais toi t'es trop pragmatique, t'es là excusez-moi c'est trop cher pour cette fin, donc on va faire l'autre fin.
On va pas faire ça. Et le truc qui est assez cool, c'est que à ce, enfin pas ce moment-là, mais c'est vrai que quand tu joues et à The Last of Us en l'occurrence, tu sais qu'à un moment il va y avoir de la bagarre de toute façon. Tu te dis c'est pas possible, mais c'est juste que tu sais pas quand. Et c'était...
Regarde, j'ai une ligne sur mes notes qui dit Joël bagarre.
Bah voilà, Joël bagarre. Tu vois,
c'est... Joël se confie, Fireflies, Joël bagarre. Bagarre.
C'est exactement ce qu'il y a écrit. Donc tu sais qu'à un moment, ça va partir en vrille, mais tu sais pas quand. Et c'est ce que j'ai kiffé aussi en regardant l'épisode, c'était de me dire, ok, attends, oui, ok, là c'est vrai. Il le sait. Comment il va faire? Parce que là, il peut pas. Il bouge, il se fait fumer.
Mais là,
à
vraiment,
aucun
ouais.
moment.
Il y a deux gars avec un fusil.
C'est impossible.
Il y a Marlène, il est là en mode.
Il va se faire éclater.
Ok.
Et déjà, il est chaud. Et Marlène lui dit, écoute. Je sais que t'es chaud, donc calme-toi tout de suite. Il se calme tout de suite et il réfléchit. Et après, il trouve un bon timing qui est ce qu'il est. On y croit, on n'y croit pas. Mais c'est vraiment grave, grave cool. Moi, j'ai adoré le Joël avec encore plus de sang-froid que d'habitude, qui a laissé sa colère sur le côté. Et pendant qu'il a parlé, je suis sûr, il a rien bité. Il a pas écouté une seule seconde ce que Marie disait. Alors, puis lui parler en javanais, c'était la même. Et lui, il est en mode, comment je vais faire?
Ok, c'est intéressant. Pour toi, à partir du moment où il comprend que Ellie, faire un vaccin, ça va vouloir dire la tuer.
Il est en mode,
il est là, tu sais quoi, ça m'intéresse.
C'est ça, je suis déjà en train d'échafauder mon plan, tu vois.
Regardez, c'est où les portes, c'est où les fenêtres.
C'est ce qu'il fait quand il s'arrête,
non mais oui, quand il est escorté avec les gars, j'entends. Pour moi, quand il parle avec Marlene, il essaye quand même, parce que, et on en revient, il y a peut-être un problème de rythme et de rapidité dans cette saison et dans ce final spécifiquement où ça va très vite, c'est qu'en fait vraiment il y a genre 4 lignes de dialogue où Marlene lui dit, et en plus elle lui dit pas de base, genre elle lui dit ok c'est moi, et bah c'est Guépard Solide dans le chat qui dit c'est Omelette Douce qui dit dans le jeu, Marlene est une présence rassurante au début. Joël reste un peu allongé sur son lit quand il la voit. Il pense que le voyage est fini. En fait, c'est ça son objectif, c'est d'amener Ellie au Firefly. Il a fini sa quête principale, le gars. Il avait déjà fini sa quête secondaire qui était Tommy. Là, il a fini sa quête principale. Et Omelette Douce dit, et on comprend en même temps que lui, au fil de la conversation, que les Fireflies sont prêtes à buter une enfant pour sauver l'humanité. En tout cas, selon leurs idées, on n'est pas sûr de la certitude de sauver l'humanité. Mais peut-être que, moi j'ai trouvé que ça allait un peu vite, ce truc de Joël se réveille, donc en tant que spectateur ou spectatrice, c'est déjà en mode, ok alors attends. Déjà on vient de se taper 10 minutes d'une, once again, une femme enceinte qu'on connaissait pas, mais en fait c'est la mère de Ellie, ok. Ensuite on a eu 10, 15 minutes, peut-être 20, de Ellie et Joël qui font des trucs, et Ellie elle est traumatisée, et Joël il est genre pas comme d'habitude, et ok on suit et tout. On est en train d'arriver à la finalité de l'épisode et de la quête principale de Ellie, de Joël, de machin, et on arrive, bang bang, ça se fait assommer, Joël il se réveille, c'est merci d'être là, il est là, ouais Ellie, merci Joël, c'est vraiment très gentil, ouais Ellie, alors Ellie ça va super, ouais Ellie, elle va vraiment grave nous aider à faire un remède. Peut-être, on n'est pas sûr, mais on sait. Il y a un docteur qui a dit que peut-être il faudrait. En fait, il faudrait genre lui enlever la partie de son corps qu'a le cordyceps. Et après, ça irait super. Il est là. Le cordyceps, c'est vraiment genre le cerveau, quoi. Et Marlène, elle fait ouais, j'avoue. Sorry. Et c'est la fin de cette discussion. Je suis là, mais tu débats pas. T'es pas là en mode maybe c'est une décision de con. Maybe c'est qui votre médecin. Enfin. Il a vraiment Ellie depuis genre 4 heures maximum. Quand bien même on peut dire qu'ils lui ont pris du sang quand elle était chez les Firefly, ok, épisode 1, je suis là. En fait, si c'est la seule personne immunisée que votre partie du monde connaît, c'est-à-dire il n'y en a pas d'autre, peut-être la butez pas. Maybe la butez pas tout de suite, tu vois. Donc je suis là, j'avoue, je ne crois pas trop au projet des. Peut-être les Firefly, c'est des tocards. Désolé, la gauche. I love la gauche. Mais baby, les Firefly, c'est des tocards. I don't know. Genre, comment on est censé croire à ce truc? Et Joël, il est là. Bah ouais. Ouais, on va. Ouais, je vais vous suivre. Y a pas de. On va faire ça, quoi. Ouais, ouais.
C'est vrai qu'il y a un espèce de moment de basculement parce que à la fois c'est un moment. Alors du coup c'est qui disait ça, Omelette, par rapport à la présence de Marlène? Je suis vraiment à
1000%
d'accord.
Oui, c'est Omelette qui disait ça.
Bah ouais.
Mais moi j'adore Marlène.
Non mais Marlène est
grave.
Ouais. Non mais ouais. En plus et puis tu vois ouais c'est ça. Quand il se réveille, tu as ce truc de dire ah ça y est on y est, on reconnaît une figure familière donc ok c'est bon. Donc t'as ce sentiment de d'accomplissement. T'es là genre waouh j'ai mis tu sais 10-20 heures à arriver là où je voulais arriver et donc t'as un peu ce truc du devoir accompli jusqu'au moment où en fait t'as cette espèce d'ultime retournement de situation de ouais mais en fait on vous a pas vraiment expliqué ce que c'était la procédure exactement. Et alors pour le coup moi ça m'a
dit pas mis au courant des dépassements d'honoraires quand même là la mutuelle elle couvre pas hein. C'est chaud.
Et puis alors il y a de l'autre côté je sais pas si c'est évident ou pas dans la série mais dans le jeu je crois me souvenir que malgré tous les tests qu'ils font, tout ce qu'ils font, etc., vraiment les mecs en sont à des années et des années et des années et des années de recherche. Et donc d'un côté eux ils ont vraiment tout mis en œuvre, enfin ils mettent vraiment tout en œuvre, ils sont vraiment
hyper
sérieux.
Mais ça pour le coup, en fait dans la série on l'a pas. Genre, je sais, en fait, je me doute qu'il y a toutes les personnes qui survivent dans des conditions un peu correctes et qui ont des connaissances médicales essayent au maximum de, évidemment, soigner les gens et de trouver un remède. Mais là, on n'a pas cette idée. Ils ont fait plein de tests sur Ellie. On a vraiment, on sait pas depuis combien de temps ils sont là, mais Ellie s'est fait assommer après une grenade assourdissante. C'est pas, tu vois, c'est pas 6 mois de coma, quoi. Et ils ont une gamine qui est potentiellement, alors, en fait, Joël, il lui dit, t'es pas la seule immunisée, et je suis là, c'est une bonne excuse parce que ça se tient. Genre, probablement que t'es pas la seule, t'es pas spéciale, tu vois. Genre, statistiquement, il y en a toujours 1%, tu vois, du monde. Mais 1% du monde entier, ça fait pas grand monde, mais c'est quand même réel. Donc, peut-être qu'ils font des tests et des machins pendant des heures et des jours et tout, mais comme là, on les voit pas, et qu'en termes de temporalité, on nous dit pas que ça fait 3 semaines, je suis là, bah. Marlène, ça a quand même l'air d'être assez expéditif comme décision de vie, quoi.
Pour moi, ils savent très bien ce qu'ils font, en fait. Ils savent très bien la chirurgie qu'ils vont performer. Ils s'attendent, tu vois, ils s'attendent déjà aux résultats. Pour moi, en fait, c'est des choses qu'ils ont déjà expérimentées, pas.
Oui, mais ils savent pas si ça va marcher, puisque on sait bien qu'ils ont pas de remède.
Ils ont la théorie, en tout cas. Ouais.
Ah oui. Mais le truc, c'est que si la théorie elle rate sur la seule go immunisée, en fait, si limite, je pense que s'ils nous révélaient qu'en fait, pour de vrai, les Fireflies, ils ont. Attends, mais ce serait hyper dark. Qu'en vrai, les Fireflies, ils kidnappent, tu vois, des gens immunisés pour faire des tests sur eux. Et qu'en fait, Ellie, elle fait que rejoindre, parce que quand Joël, il lui dit, il y a plein de gens comme toi, je suis là, bah, peut-être. Et c'est à la fois triste et cool. Tu vois, c'est cool parce que c'est grave un espoir pour l'humanité. Et c'est triste parce que t'es pas spécial, gamine. Genre, t'es juste génétiquement différente, c'est ok. Mais ce serait horrible si les Fireflies, ils avaient genre des cellules pleines de gens immunisés sur lesquels ils font des tests. Mais là, c'est vraiment, on a que Ellie. Aussi, je la connais depuis qu'elle est née, littéralement. J'étais meilleure amie avec sa mère. Et aussi, on l'a depuis 15 minutes et on a fait genre 2 prises de sang et on n'a pas l'électricité pour un IRM. C'est un peu chiant, du coup. Je pense qu'on va lui découper le cerveau et voir ce qu'on en fait. Et je suis là, bah, désolée, mais le.
Ouais, c'est un peu extrême.
Le dilemme moral du choix final est un petit peu compliqué pour moi. Quid de la bagarre de Joël qui décide de vivre un vrai moment jeu vidéo en laminant un hôpital à lui-même. Est-ce que vous avez trouvé ça cool et est-ce que vous avez trouvé ça crédible? C'est peut-être la la question qui va de façon un petit peu évidente avec ce passage.
Moi, j'aime beaucoup ce passage et celui, la suite, du coup. Et j'aime beaucoup ce passage parce que, bah, déjà, c'était un très bel hommage au jeu, hein, comme, comme pas mal de séquences de gameplay un peu, je dirais pas iconique, mais en tout cas, voilà, avec du...
Bah, c'est la dernière grosse séquence d'action, du coup, ouais. Vu et, que ça finit pareil, le jeu.
Et il y a vraiment cette, cet environnement dans l'hôpital... J'ai pas fait de jeu depuis une décennie, mais vraiment, il m'a semblé revoir quasiment exactement le même décor, quoi. C'est assez fou, et je revois vraiment l'après-scène, enfin, tu vois, vraiment le début du niveau où tu te retrouves en bas, etc. Et donc, ouais, il y a quelques...
Tu dois monter tous les étages, du coup, jusqu'à retrouver Ellie, c'est ça?
Ouais, je me souviens juste de ce moment où il est dans le hall. Et je suis là, genre, putain, mais c'est le même hall, en fait. Je me souviens, je vais un peu galérer.
En vrai, ils ont fait beaucoup de boulot pour recréer des détails un peu débiles, des fois, de certaines scènes. Enfin, un peu... Ouais. Ouais. Précis et inutile, mais juste qui marche. Donc, à mon avis, ils ont bien taffé sur recréer le hall.
Ouais, non, c'était assez fou. Et ouais, bah pareil, voilà, quand il va pour tuer les mecs comme ça, qui passent vraiment. Donc il y a vraiment un petit hommage à ce gameplay furtif là dans l'hôpital pour se débarrasser de tous les mecs sur notre passage. Lui est en mode vraiment berserker, c'est-à-dire que bah là c'est le cerveau reptilien qui a pris le dessus, le mec il va en fait. On voit qu'il marche totalement à l'adrénaline, il est tu vois quand les mecs le poussent hors du complexe, tu vois qu'il vraiment il réfléchit à tout, il regarde tout et il analyse tout, il s'arrête des fois en se disant peut-être que.
Bah il s'arrête et il regarde tout autour de lui, notamment les panneaux et tout, en mode si je grappille 2 secondes pour regarder c'est à quel étage on fait des trucs, ça va peut-être faire la diff, et au final il est possible que ça fasse une vraie diff.
Carrément.
T'en as pensé quoi, toi? Bah, vas-y, non.
Non, et donc voilà, ouais, c'était une belle séquence, encore une belle séquence hommage au gameplay, ce qui est trop rare, encore une fois, dans les adaptations de jeux vidéo, et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Mais là, pour le coup, c'était très cool.
Ouais, super hommage dans l'ensemble, très cool. Ça me fait penser aussi en termes de détails qui se rapprochent. Bah, l'ouverture de ce dernier épisode m'a fait aussi penser beaucoup à une maison que tu découvriras et que pas mal de personnes découvriront dans The Last of Us 2. Voilà, mais apparemment c'est plus un clin d'œil qu'une vérité, mais en tout cas le clin d'œil quand j'ai vu, je fais mais comment ça on est sur The Last of Us 2 là, c'est quoi ce délire?
Attendez.
Voilà, donc enfin donc cool, bel hommage, ok. Par contre niveau crédibilité sur 20, ouais là par contre j'ai un peu eu du mal, je t'avoue que le mec qui fait du il a tué combien de mecs?
L'incrédulité fort. Alors ouais. J'ai pas compté, mais je pense que dans 10, l'hôpital mecs, on est
plus
à voir mourir. En vrai je pense qu'on est à moins de 10 parce qu'en soi, et je le sais parce que du coup j'ai dans mon récap rigolo disponible sur mon Patreon, j'ai juste fait des captures d'écran de Joël qui fait piou 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 parce que je suis hilarante et que je me fais rire, et où j'ai juste pris des captures d'écran de Joël avec son flingue et j'ai écrit piou. Et en vrai il n'y en avait pas tant parce que je pense que il tue une petite dizaine de personnes, ce qui est beaucoup pour mais il y a aussi un truc de bah les gens étaient pas forcément préparés, ils sont dans un hôpital et puis
à un moment t'entends quand même quelqu'un qui dit il y a des coups de feu.
Oui, malheureusement,
tu vois, au moment où il y a un mec qui crie dans l'hôpital, il y a des coups de feu, normalement tout l'hôpital est censé être au taquet. Après ils savent pas tenir une arme, c'est une chose, mais j'ai quand même du mal. Surtout de 1v1 tu peux surprendre, mais il y a des moments où c'est lui qui se fait surprendre et qui reste en vie et qui gagne ses duels en 1v1 et qui gagne ses duels en 2v1. En termes de, enfin, tu vois, c'est un peu
le
plus 2v1, chaud, quoi.
Genre, il y a un moment où il est en, donc c'est une série de séquences assez disparates où, en gros, c'est des cuts assez brutaux sur différents moments où il tue des gens. Et il y a un moment où vraiment il y a deux gars face à lui dans un couloir d'hôpital, donc assez étroit. Et Joël qui leur tire dessus et les deux gars qui lui tirent dessus et Joël il gagne et je suis là. Mais gaffe, t'as au moins pris une balle dans l'épaule, enfin.
Ouais, t'as au moins pris un truc, quoi. Bah ouais, t'as au moins pris un truc.
T'es arrivé à un truc.
T'es au moins diminué quelque part, tu vois.
Et en fait, c'est marrant parce qu'en regardant cette séquence, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est, ah ouais, c'est un jeu vidéo. Et après, j'étais là, bah ouais. Peut-être ça se tient. Mais en fait, je sais pas comment tu représentes cette scène qui est intrinsèque au jeu vidéo de, il faut battre plein d'ennemis avant le boss de fin, un petit peu. Sauf que là, le boss de fin, c'est pas un ennemi à battre, c'est tes émotions personnelles. mais en gros, il te faut une séquence d'action un peu finale, ça arrive dans beaucoup de jeux de ce type. Comment tu la retranscris en série télé, en évitant le côté, il ratiboise 150 gars d'un coup et c'est pas réaliste, et sans non plus être dans, bon, bah, il faut pas qu'il y ait...
Ouais.
Non, mais c'est pour ça, peut-être que le nombre deux agents d'entretien dans un coin, faut quand même qu'il y ait un peu d'enjeu.
C'est pour ça que c'est ok, mais, peut-être, en termes de nombre.
je trouve que c'est mal. Je sais pas comment c'est tourné dans le jeu vidéo. Genre, je sais pas à quel point il y a un enjeu de peut-être je vais perdre, peut-être je vais mourir, peut-être je vais devoir recommencer. Je sais pas, c'est une scène qui est très dure. Mais en tout cas, moi, dans la série, j'ai eu aucun doute sur le fait que, en fait, il y a aucun moment où la série, elle te dit, ah, peut-être Joël, il est en danger ou quoi, parce que, clairement, il est en maîtrise et il est passé en mode Dark Joël, il connaît, il comprend. Mais ce que la série, elle te dit via, et ça en parle beaucoup dans le chat, notamment les effets sonores, les effets visuels, où, en gros, tout ce qui est sonorité se baisse, sauf certains. Donc, on a une forme d'acouphène qui court. Et alors, quelqu'un rappelait dans le chat plutôt que, probablement que Joël est sourd de l'oreille droite parce qu'il s'est tiré dans la tempe droite en essayant de se suicider. Donc, c'est aussi une réalité. Ça, en fait, ça recolore des parties de la série, des parties de l'intrigue avec un nouveau vernis de, ah non, c'est encore plus triste. Merci, HBO. Et là, du coup, on a un Joël qui est, attendez, où j'en étais? Oh, je me suis perdue à chaque fois que je raconte des trucs d'hiver.
Tu parlais de, du nombre de... l'audition. Tu étais resté sur l'audition, l'acouphène,
oui,
les,
non,
les
du sons, coup, il y a... oui, pardon.
L'environnement sonore, pour moi, la musique triste, etc., etc.
Merci, I got it. Je pense l'intérêt de cette scène, c'est pas l'action et le risque pour le personnage, parce qu'on se doute qu'en plus aussi près du final, a priori, Joël, il va pas mourir mitraillé par des randoms dans un hôpital qu'on connaît pas. Il va y avoir au moins un moment de, d'intensité émotionnelle, donc c'est pas là qu'il va mourir. Par contre, ce qui est important dans cette scène, c'est Joël, il est en train de mitrailler son âme, j'ai envie de dire, en même temps qu'il mitraille des gens, je pense. Il est en train de céder à ses pires travers, ceux auxquels il a parlé. On a vu avec Tommy que ça le travaillait, que il avait pas fait la paix avec ça. On a vu, en fait, il a tout ce côté genre je suis pas un good guy, je suis un bad guy et j'ai pas de raison de vivre et juste je fais ce qu'il faut pour protéger les trucs qu'on m'a dit de protéger et c'est tout. Et là on voit la pire version de Joël qui se libère pour protéger la meilleure version de Joël.
Ah, d'ouf.
Et je trouve que c'est en fait c'est hyper triste et hyper combatif à la fois parce que en tant que spectateur ou spectatrice et je pense encore plus en tant que joueur ou joueuse qui active Joël du coup, t'as envie qu'il réussisse. T'as pas de choix non plus. Il y a pas de choix où Joël y perd et t'as une intrigue de Joël est mort. Du coup, ils ont fait un vaccin avec Ellie. Tout le monde s'est bien porté et on leur a fait une statue. Non, il y a pas ça. Donc t'es obligé de tuer tout le monde en tant que Joël. Et je pense qu'il se sent obligé de tuer tout le monde. Je pense que vraiment le gars, il est là en mode. Et voilà, j'avais dit peut-être j'ai une vie normale et vous avez dit je vais tuer la gamine et maintenant je suis obligé de tous vous buter et j'ai pas le choix. Je pense que dans sa tête, il a pas le choix. Et après, il arrive dans cette salle d'opération clignotante, peu stérile, peu réconfortante. J'avoue que moi aussi, j'aurais eu un petit doute si la fille que j'aime comme ma fille était là-dedans. J'aurais fait « maybe not ». Qu'est-ce qu'on a pensé de cette dernière partie d'intrigue avant d'arriver à l'épilogue?
Alors juste aussi par rapport au fight, après tout de suite on repart sur la salle d'opération.
Ah oui,
il y a pas mal de plans très très cool, uniquement par exemple des plans très serrés sur les pieds, des plans très serrés sur les mains aussi, quand il sort son couteau et il hésite pas à terminer le taf, qui
alors,
te met très très bien dans
l'ambiance.
C'est le couteau
de Ellie,
c'est pas le sien. C'est pas le, ouais, en plus.
C'est chaud.
Donc, non, en vrai c'est très 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 touchant et très poignant. Et quand tu vois arriver, bah après là pour le coup, autant il y a des trucs je m'en souviens moyen, autant il y a des trucs je m'en souviens parfaitement, donc là-dessus autant j'arrive à aussi mettre mon cerveau en off. Oh là, autant là, bon bah tu arrives, tu sais plus ou moins ce qui va se passer et c'est juste que bah il a pas le temps. Je sais plus si c'est toi qui me disais ou si c'est le chat qui disait oui mais il avait quand même un scalpel donc un couteau, il pouvait être dangereux le médecin, mais le médecin zéro moment il est dangereux ce mec là. Il veut.
T'as Joël en face avec un flingue
c'est
et le gars il est comme ça, il tremblote, il a un scalpel. Bon, tu peux discuter un peu,
bien
toi
sûr.
T'es pas obligé d'y aller direct quoi.
Mais là il a de toute façon, on l'a dit, il a pas le temps. Et là, il a pas le temps, il y a quelqu'un qui lui parle, il dit oui, c'est non, une balle, il passe à autre chose. Là, le pauvre chirurgien, il a à peine eu le temps de dire
mais
la phrase,
Joël,
c'était pas la
dit.
Bonne phrase et let's go.
Le premier garde qui tue, donc quand il est escorté dans l'escalier, il lui tire. En fait, il a deux gardes avec lui. Il tue le deuxième immédiatement,
ouais,
en mode comme ça c'est fait. Qui est un peu en hauteur, et le premier, il va pour lui tirer dans la tête, et après il lui tire dans le genou, il change d'avis, et il lui dit, elle est où Ellie? Ouais. Parce qu'il se dit, attends, il doit savoir, je lui ai demandé l'info, le garde il fait fuck you,
voilà.
Et je lui dis,
direct.
J'ai pas ce temps,
grave.
Et il le bute dans la tête, il est là,
pas le temps.
Ciao, j'ai pas ton temps en fait, je vais y aller, j'ai switché, j'ai éteint le reste, I am Joël on a mission.
Et du coup, malheureusement, le chirurgien n'a pas le temps aussi de discuter avec lui, donc il se prend une bastos. Derrière les infirmières, elles peuvent rien faire, de toute façon. C'est les seules personnes qui va pas tuer, finalement, dans cet hôpital-là, c'est les deux infirmières. Et bah, il va récupérer Ellie avec une arme de poing, parce qu'il a switché aussi, ça c'était très cool. Parce que parfois, quand on joue aux jeux vidéo, quand on regarde des films, on se dit, mais pourquoi il a toujours cette même arme avec munitions infinies? Là, oui. Tu vois, il prend une M16, il n'a plus de munitions, hop, il prend une arme de poing.
Oui,
arme
il change. Et d'ailleurs, quand
ça, c'est grave cool, pour le coup.
Histoire de ne pas dire que Joël est inutilement cruel, quand il finit un gars avec le couteau de Ellie, c'est parce qu'il n'a plus de munitions voilà. Sur lui.
Et après, il loot.
Et après, il loot parce qu'il est smart. Et aussi, genre... En fait, il y a plein de gars qui l'auraient, il y a plein de gens qui l'auraient pu ne pas buter. Il y a plein de Firefly qui l'auraient pu ne pas tuer. Et on voit littéralement à un moment un mec alors, certes, il a essayé de tirer sur Joël et certes, il a perdu. Et du coup, il a peur et il a perdu. Mais en fait, il met son arme par terre, il la fait glisser vers Joël et il lève les mains, ce qui est le symbole universel de,
drapeau
blanc, la paix. Et on a juste un plan sur Joël, même pas sur l'arme, mais juste sur Joël qui le regarde et qui lui tire dessus. Et t'es là. Daddy,
on en est là, ouais.
Not in a good mood. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mary, de cette fin niveau action de l'épisode avant de passer à la période de plus discussion de cet épilogue.
J'ai bien aimé. Alors il y a un petit caméo, mais donc d'une autre actrice connue de l'univers de la sauvée qui s'appelle Laura Bailey.
Tout à fait.
Qui incarne une des infirmières. Alors Laura Bailey n'a pas de rôle à proprement parler dans The Last of Us Part 1. Je crois qu'elle a un rôle dans The Last of Us Part 2, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouvais ça un petit peu dommage qu'on la voit. J'ai trouvé ça un peu dommage d'avoir Laura Bailey sur un tournage et de lui donner un si petit rôle. Mais
alors si je peux te rassurer, littéralement,
j'adore Laura Bailey, donc voilà, c'est pour ça.
Personne ne le sait si tu le sais pas. En fait, si on te le dit pas. Elle est vraiment avec une charlotte d'infirmière jusqu'aux sourcils, avec un masque.
Moi, je
me
suis rendu compte
parce
que j'ai vu son nom dans le générique. Je fais quoi? Il y avait Laura Bailey. C'est quoi cette histoire?
Bah, j'avoue, moi, j'étais déjà émotionnellement compliquée pour le générique.
Ouais,
et aussi, je regarde pas trop les noms et des fois, je les oublie. Mais pour moi, c'est un petit genre. Et après, je suis là. Heureusement que c'est renouvelé pour une saison 2. Ça va dire des choses.
Mais c'est vrai que j'ai bien aimé. Alors, pour moi, il y a un truc qui manque à cette scène. Je peux parler de ce qui se passe après qu'il bute le chirurgien?
Oui, tu peux.
En fait, un truc qui ne se passe pas et que j'ai trouvé super.
Et d'autant plus si c'est un truc dans le jeu qui est pas dans la série, parce que.
Alors
c'est
en fait, je sais pas si c'est dans le. Moi, j'ai ce souvenir, mais peut-être qu'il est, tu vois, complètement erroné. Mais je me souviens de son extrêmement fort et très. Très puissant et très intense. Oui, je sais, tout est très fort, très puissant et très intense. C'est The Last of Us, donc
c'est
normal.
Pour ça qu'on est là, ok?
Où, en fait, Joël tient Ellie dans ses bras, mais il continue de se faire poursuivre. En fait, tu vois plein de mecs arriver, et donc, voilà, ça a plus son sens, des mecs qui ont été alertés par tout ce qui se passe, etc. Oui. Et donc, il a plus vraiment d'armes, quoi, et surtout, il a Ellie dans les bras. Et je me souviens de cette séquence où, en fait, tu t'enfuis de l'hôpital avec Ellie dans les bras, et les mecs te tirent dessus, et il y a cette musique, c'est super intense parce que tu peux pas vraiment leur tirer dessus ou quoi, tu es juste là avec ton enfant dans les bras et en fait tu cours pour ta vie sans trop tourner, etc. Et je me souviens de cette séquence avec ce long couloir là où il faut vraiment éviter tout le monde qui essaie de te tomber dessus pour t'arrêter en fait tout simplement. Et j'avais trouvé ça très fort et je m'attendais exactement à revoir cette scène et limite qu'elle soit encore plus spectaculaire et tout, et elle n'y est pas du tout. Voilà, et je trouvais ça un petit peu dommage, je me suis dit ah ouais, c'est dommage parce que je l'ai trouvée très puissante. Voilà, le fait vraiment qu'il arrive à, enfin qui voilà, qu'ils sont en train de courir avec sa fille dans les bras et tout. Bon voilà.
Bah, c'est qu'il y a le symbole de la dernière fois qu'il a eu sa fille à lui dans les bras, elle est morte littéralement dans ses bras, tuée par encore une fois pas un infecté ou un zombie, mais une figure d'autorité, une figure normalement qui protège les gens, qui était un soldat quoi, un militaire, qui lui a tiré dessus alors même qu'il lui a dit on n'est pas infecté. Enfin il a porté une jeune fille dans les bras pour Joël, c'est 18 séances de psy immédiatement.
C'est clair. Mais voilà, comme le dit Omelette Douce, il y a une sirène d'alarme, les lumières deviennent rouges. Ouais, je me souviens que il s'intensifie vraiment. Il y a vraiment une espèce de fin à ce niveau de l'hôpital qui n'existe pas du tout dans la série. Et
après, moi,
dommage.
Je trouve ça intéressant justement que dans la série sur le départ, alors du coup, on va parler aussi de la scène dans le sous-sol avec le parking souterrain avec Marlene, que le départ de l'hôpital soit pas une cavale effrénée, ce qui, je trouve, est un petit peu facile entre guillemets. Où en fait, pour moi, tout cet épisode final, il se passe quand même beaucoup dans l'urgence. En tout cas, à partir de la révélation de Ellie pour faire le vaccin, il va falloir qu'on lui prenne son cerveau et du coup qu'on la tue. Joël, il est en mode urgence totale et ça se comprend parce qu'en plus, on comprend qu'il arrive relativement in extremis, elle est déjà la gamine, elle est déjà sédatée, elle est avec les chirurgiens, les infirmières et tout. Donc, j'aime bien que, après toute cette urgence, en fait, Joël, il arrive avec Ellie dans ses bras dans le parking souterrain et il a un petit moment de... Et en fait, il y a Marlene qui lui parle et il a un peu un truc de... Oh, vas-y. Tu sais, il a un peu un truc de hey, « c'est pas fini encore, genre, il y a encore toi. » Et en fait, il continue, je pense, à être, même si c'est Marlene et c'est pas exactement une des centaines de PNJ qu'on peut tuer sans conséquences et sans émotion, bah, il est un peu en mode hey, « je veux juste sortir de là avec la gamine et en fait, vous pouvez mettre un milliard de Marlene si vous voulez sur ma route. Ça va juste être une nuisance qui me ralentit un peu et pas beaucoup plus. » Et alors, dans le chat, plusieurs personnes demandent pourquoi est-ce qu'il tue les infirmières et pas le chirurgien au moment où... Est-ce que c'est parce que c'est des femmes qui les laissent mourir? Perso, je pense pas.
Pourquoi est-ce qu'il tue le chirurgien et pas les infirmières, c'est ça?
Pourquoi il tue pas les infirmières, surtout? Parce qu'il a tué tout le monde jusqu'ici. Notamment, tu vois, il y a un gars qui jette son arme, qui lui dit « je fais la paix », il le tue. Il y a un gars qui mitraille, il va quand même le tuer avec son couteau. Bon, alors certes, il est armé, mais il aurait pu juste lui prendre son arme.
Je pense qu'elles sont pas là pour défendre. Elles sont pas non plus là pour performer la chirurgie. Les infirmières, elles sont vraiment en soutien, en support. Techniquement, elles sont pas menaçantes, quoi.
En soutien, en support d'une chirurgie qui tue quelqu'un, c'est quand même...
Ouais, mais c'est pas elles qui vont le performer, au final, si le chirurgien est mort.
Quoique. Oui. Mais en fait, enfin, si tu...
Moi, c'est pour ça.
Je vais pas faire un fucking point Godwin, tu vois. Mais des fois, tu participes à des trucs et t'es pas toi-même acteur du truc, mais tu participes quand même à un truc qui est hyper craignos, tu vois. Genre, tu peux te dire, je participe à une opération pour... Ouais. Genre, oui, je... En fait, elle monitore. Si tu pars du principe qu'il y a le serment d'Hippocrate, que à la base, le personnel soignant, les gens qui ont fait de la médecine leur vocation ne doivent pas causer le mal, eh bah... ben... Elles sont pas censées assister à l'opération d'une ado qui va mourir. Après, on peut dire peut-être elles savent pas, mais bon, ouais. Si elles sont bonnes dans leur job, elles savent.
Et
que...
puis surtout, ils tuent ceux qui entravent sa route. Et c'est oui. Pour ça, hein, le
ah mais lui, il a pas de problème.
Il dit au mec, poussez-vous. Non, tu veux pas te pousser. Boum, poussez-vous. Oui, d'accord, on se pousse. Ben dans ce cas, il prend une ligne, il s'en va quoi.
Oui, oui. Il y a Lolo Kuhn qui dit sur le chat, Joël n'aurait pas tué le chirurgien sans doute s'il ne l'avait pas menacé et qu'il lui avait obéi. Je suis complètement d'accord.
Ouais.
Le gars, c'est la première personne qui a dit.
Qu'est-ce qu'il aurait dû ?
Non. Et Joël a dit, la bonne réponse est oui. Un indice chez vous. La personne qui a dit non est décédée. Quelle est la bonne réponse? C'est oui? Super! On y va avec tonton Joël. Donc ouais, il est pas un tueur fou et, je pense qu'aussi il y a un truc de, alors, je pense pas que c'est misogyne parce que c'est des femmes. Je pense que c'est des femmes pour plein de raisons, notamment, déjà la réalité de la vie, et du patriarcat et aussi peut-être des trucs à voir en saison 2. Mais, je pense pas qu'il les épargne parce que c'est des femmes. Et Joël, il a jamais eu ce côté de « Ah, les femmes, c'est intouchable, les femmes, c'est miraculeux et tout. » Au contraire, même avec sa propre fille, quand elle était vivante, on a vu qu'il la chambrait quand même bien, bien sérieusement. Donc je pense que c'est un vrai truc de... Tous les gens que j'ai tués jusqu'ici, ils étaient quand même à minima... Peut-être pas armés à l'instant T, mais soldats, quoi. Ils avaient un peu des trucs de soldats, ils avaient des trucs d'armes, là, visiblement, vous êtes... Et puis peut-être il est fatigué, tu vois, il est là. Et maintenant, j'ai atteint la gamine. Plus rien peut m'empêcher d'avoir la gamine, juste. Donnez-moi les gamines, let's go. Qu'est-ce que t'as pensé de toute cette bagarre, toute cette mort, tout ce sauvetage de Ellie, mais à what cost? À quel coup?
Ah bah, Marlene qui disait on a perdu la moitié des lucioles, bon bah là on a perdu l'autre moitié, hein. Littéralement il est venu à lui tout seul décimer tout le monde, hein, quasiment.
Et bah elle a quand même dit à Joël, en effet, on l'a pas noté, elle dit à Joël quand il se réveille, j'ai perdu la moitié des Firefly en traversant tout le pays pour venir ici. J'avais 5 gars qui étaient juste à ma protection personnelle et ils sont tous morts. Et vous étiez 2, comment vous avez fait? Et Joël, elle, il dit, ouais, c'est Ellie. Elle est là, non mais... écoute pas quand même, elle a vraiment 14 ans, donc probablement c'est toi.
Non, non, mais c'est... Bon, voilà, à part la scène que j'ai trouvé un poil too much, j'ai trouvé ça... encore une fois, même si tout est précipité parce que l'épisode, il est court, parce qu'il faut aller vite. Et c'est peut-être aussi... peut-être le meilleur épisode pour ça, finalement. Nous, on est là en mode, on a voulu plus, on a voulu, mais en fait, le fait que ça soit vraiment dans le rush en termes de minutage, de découpage d'épisodes fait que, on le ressent encore plus quand on regarde la série. Et c'est vrai que, toi, t'as peut-être pas kiffé, Mary, le fait qu'il y ait pas de ce côté de fuite qui était très prenant dans le jeu. Mais en vrai, je suis content parce que ça m'aurait encore sorti de la série en mode, frère, il y a encore 10 mecs qui lui tirent dessus, il survit. C'est autant dans le jeu, tu prends une basto, son écran il est un peu sombre, puis à la première fois, il est un peu sombre, mais tu continues à avancer. Là, s'il te prend une basto, c'est qu'il reste en vie. Ouais, vas-y, je vais regarder.
Ah, de fou.
Je vais regarder Dingo et Max, tu vois.
Encore 10 minutes de course poursuite, shooting dans les souterrains, j'aurais dit, bon, c'est peut-être pas le meilleur. Façon de passer 10 minutes supplémentaires sur une saison qui est déjà tight.
Exactement. Donc, pour le coup, globalement, je suis ravi de cette fin. Et puis, quand on voit Marlene dans le parking, là, pour le coup, on s'approche vraiment du jeu vidéo. Et
du coup,
le classico-classico.
Arrivons-y. Est-ce que dans le jeu vidéo, c'est pareil? Marlene trouve Joël dans le parking, lui dit... En fait, frère, tu peux la sauver là maintenant si tu veux, mais sa vie, c'est quand même de la merde parce que il y a une pandémie avec des zombies, je sais pas si t'as remarqué, et c'est la seule personne qui peut l'empêcher, donc tu lui sauves la vie, mais en même temps, non. Donc peut-être on peut faire la paix.
De mémoire, il y a cette discussion, justement, elle lui explique, mais c'est une discussion qui coupe assez court parce que je crois que Joël, pareil, genre, il prend le temps de dire un ou deux mots, puis après, en fait, et c'est très rigolo parce que tu le vois, entre guillemets, pas venir, sauf ceux qui le voient venir, mais, en fait, oui, le gun est caché sous, on va dire, la
robe.
Ah,
dans le jeu aussi.
Moi, je me souvenais pas qu'en fait, il y avait ça et le mec qui tire. Enfin, du coup, c'est toi
il est resté armé sous la chemise d'hôpital de Ellie. Exactement,
que tu vois pas dans
la
série.
Marlène ne savait pas, du coup.
Dans la série, tu te dis, il la prend à deux mains et du coup, il n'y a pas. Mais en fait, il n'y a aucun plan qui te montre.
Mais parce qu'il a appris de Sarah.
Parce que c'est un craquito, Joël, en fait, tout simplement.
Il a porté Sarah, il avait pas de gun. Et Sarah, elle est morte. Maintenant, il porte sa fille, il a un gun.
Voilà, avec non pas une M16, mais une arme de poing. Comme ça, il est tranquille, il peut bien cacher ça en dessous. Et c'est vrai que pour le coup, c'est trop bien. Enfin, c'est si intense, mais la conversation, elle dure pas des plombes. Hein. Genre, elle lui dit, il répond, question, réponse, question, réponse. Bon, allez, c'est bon, j'ai compris avec toi, on peut pas parler. Une bastos, on rentre. Donc, non, pareil, ce moment-là, je m'en souvenais aussi. Et c'est ouf, hein, la brutalité, même en termes d'image, quand tu vois qu'elle se prend la... Enfin, c'est très très marquant et ça a été parfaitement retranscrit, je pense.
Ouais, c'est vrai qu'elle est assez folle. Et justement, je trouve que tu vois ce qu'on voit de Marlene en intro de cet épisode, du coup ça vient vachement soutenir cette scène là
De fou.
Ouais. Et c'est pour ça que, et je crois que, enfin waouh, là en plus la performance de l'actrice et tout, bref, c'était vraiment trop bien. Mais il y a vraiment ce truc de se dire, ouais, en fait, Marlene, elle a fait cette promesse et en même temps, est-ce que on fait tout ça pour le bien commun ou pas, au détriment de la fille de sa meilleure pote, etc. Et puis en plus, le pire c'est qu'elle, elle dit à Joël, c'est même là, c'est pas grave, même après tout ce que t'as fait, c'est pas grave, tu peux là, vas-y, juste rends là et on s'arrête là, quoi. Donc elle est vraiment décidée. Elle, son combat, c'est d'arriver à venir à bout de cette pandémie parce que
c'est le sens de sa vie.
Ouais,
parce que c'est comme
ça quête à elle, quoi.
Que elle va rationaliser tout le mal qu'elle a fait. Mmh. Alors que Joël, pas sauver Ellie, c'est dérationaliser tout le mal qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'ils s'opposent frontalement. C'est que tous les deux, ils aiment Ellie, je pense. Je pense que Marlene, elle l'aime sincèrement. Mais qu'ils ont une vision totalement différente de qu'est-ce que ça veut dire l'aimer et qu'est-ce que ça veut dire la protéger. Et Marlene, elle a aussi une vision peut-être un peu plus macro. Elle dit à Joël, en fait, oui, tu vas la sauver là maintenant, et elle va vieillir, et elle va partir loin, enfin, elle va grandir, elle va plus être avec toi, parce que c'est la vie, et elle va mourir probablement infectée ou éclatée par des raiders, et elle va mourir parce qu'elle vit dans un monde cassé que t'aurais pu sauver.
Ouais.
Je suis là, oh.
C'est le dilemme du train, quoi.
Non, mais en vrai, elle y va à la jugulaire quand même si. Les méthodes médicales des Firefly sont peut-être perfectibles. Son raisonnement, il se tient. C'est, en fait, enfin, mon gars, tu bosses sur du court terme. C'est pas possible de bosser sur du court terme et moi, je tiens à cette personne. Tout le monde tient à des gens à court terme. Et aussi, la vie, c'est macro au long terme, quoi.
Ouais. Comme le dit Marty dans le chat, ça se conclut sur le fait qu'il vraiment il lui met une balle dans la tête en lui disant que s'il la laisse en vie, ils arrêteront pas de la poursuivre. C'est hyper radical, c'est dur, c'est vraiment c'est d'une violence sans pareil. Et en même temps, j'aimerais avoir l'avis, si c'est possible, des parents sur le chat.
Ah oui, si vous êtes parents ou parentes.
J'aimerais avoir l'avis des parents sur le chat. Est-ce que, on imagine que vous êtes Joël et en fait votre enfant, et on va performer une chirurgie sur lui, mais vraiment dans la même situation, cet enfant n'est pas au courant.
Mais c'est très important ça, parce que Marlene dit à Joël à l'hôpital, Ellie ne sait pas, elle n'aura pas peur,
elle
dort,
mal, etc.
Elle n'aura pas mal. Ouais. Mais du coup, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle n'a pas le choix. On lui a pas dit.
Bah non,
on lui a jamais dit.
Et je pense que c'est ça le plus gros truc. C'est-à-dire que si à partir du moment où Ellie sait qu'elle meurt, et qu'elle choisit quand même d'y aller, en fait, bah, il y a pas de question à se poser. C'est son choix, point, tu vois.
Il y en aurait, en vrai. Non, mais on va en parler. Mais...
si on respectait le son consentement à elle, purement, tu vois, il y en aurait pas, oui. En fait. Si c'est ce qu'elle choisit de faire, dans ce cas-là, ok. Mais là, le fait de savoir que, ben, en fait,
mais personne lui a laissé le choix. Marlene lui a pas laissé le choix, ouais, parce qu'elle lui a pas dit, sûr, ouais, tu vas devoir mourir.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et Joël lui a pas laissé le choix parce qu'il a tué tous les Fireflies, ouais, y compris peut-être les gens qui pouvaient faire le sérum.
Ouais.
Et il lui a jamais dit, peut-être que t'as un truc en toi qui peut aider l'humanité, mais c'était pas la bonne façon de faire et peut-être qu'on peut trouver d'autres gens qui savent faire. Il lui a dit, tu sais quoi, les docteurs, ils ont arrêté forever de chercher un vaccin. Comme ça, on a plus besoin de toi, on peut juste aller élever des moutons, super. Et elle est là. Bien sûr, évidemment, c'est exactement ce qui a dû se passer, dit l'homme avec du sang partout sur lui, oui, je pense. Mais pour moi, Marlene, elle représente au-delà de... En fait, c'est vraiment une philosophie. C'est vraiment, ils ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion, quoi. C'est qu'ils sont là, Ellie, c'est la solution. Et tous les deux, ils sont en mode, oui, mais ils ont pas la même solution. Donc, en fait, ils... problème, ouais, bien sûr. C'est pas le même problème. Joël, Ellie, elle a guéri lui, ouais, et le fait qu'il voulait plus vivre. Et Marlene, elle se dit... Ellie, elle peut guérir tout. Tout, mais c'est aussi égoïste. C'est aussi Marlene qui se dit, bah, non, c'est ça, mon
cas,
rôle.
C'est pas Ellie qui choisit, c'est un problème.
Et littéralement, je peux sacrifier une adolescente sans lui demander et sans la laisser consentir à ça. Parce qu'effectivement, même si à 15 ans, tu te demandes, est-ce que tu veux mourir pour l'humanité et que tu dis, oui, je veux bien, c'est un peu genre, attends, on devrait réfléchir quand même une semaine ou deux, non, parce que là, la gamine, elle a dit oui hyper vite, mais
ouais, après,
elle a quand même 15 ans et tout, c'est chaud. Mais tu vois, bon, on peut en parler, on peut commencer à avoir une discussion. Et alors, j'ai, dans un des podcasts que j'écoute, sur The Last of Us, The Prestige TV Podcast, dont je vous ai déjà parlé, qui est animé par ma critique de série préférée, elle dit que pour elle, quand la fameuse scène où Joël dit, après les girafes, où Joël dit à Ellie, tu sais, on peut rentrer, on n'est pas obligé d'y aller, on peut rentrer chez Tommy, ouais, et où Ellie dit à Joël, en fait, on finit ce qu'on a commencé, et tout ça, c'est pas arrivé pour rien, pour l'animatrice du podcast, c'est, en fait, elle est là, la réponse de Ellie, si on lui demandait,
Elle dirait oui.
Mais en même temps, je suis là. Oh, mais quand elle dit ça, elle sait pas qu'elle va mourir.
Non, parce qu'elle elle dit, on le fait, et après, on fait notre vie. Donc elle, bah déjà, oui, elle part pas. Elle pense pas qu'elle va mourir. C'est
là,
ça,
c'est un
truc
peu facile de dire qu'elle consent.
Non, elle consent
à crever
pas
ou pas.
Ça, non. Non, bien sûr, c'est pas l'idée qu'elle s'en fait. Et puis même, tu vois, je veux dire, elle met son sang sur le sang de Sam. Enfin, on voit que de toute manière,
elle
n'a
pas
qu'une connaissance approximative, oui, de tout ça, parce qu'elle a que 14 ans, parce qu'elle vit dans ce monde post-apo, etc. Et donc, en effet, bah ouais, il y a ce truc où pour elle, elle va venir, on va lui prendre, tu vois, un petit peu de sang,
ouais,
et elle va repartir.
Et quand bien même elle a demandé à Joël, du coup, comment ça marchait la médecine, les vaccins et tout, machin, bah je pense que le gars, il lui raconte pas. On trouve une meuf immunisée, on lui découpe le cerveau et Inch'Allah, ça passe, tu vois. Je pense qu'il lui dit, bah voilà, on prend ton sang, on fait. Alors dans le chat, je vous vois les Didier Raoult du dimanche en mode, oui, mais attends, on attend ses 18 ans pour qu'elle décide. On envoie des fioles de sang aux scientifiques. Bien sûr, les gars, ils ont genre un télégramme, mais on envoie des fioles de sang aux scientifiques, c'est pas grave. Moi, je suis dans ta team, y a pas de problème. On peut, tu vois, on lui prend des tissus, on essaye de les faire grandir dans des boîtes de pétri parce qu'ils disent que c'est un peu ça le projet en plus à terme. Moi, j'étais là, mais attends, c'est aussi une personne qui a un utérus a priori et qui est a priori, autant qu'on sache, peut-être fertile. Maybe elle, c'est la génération 1 qui est immunisée, mais peut-être elle va faire des bébés qui sont non seulement, si jamais un jour elle fait des bébés, qui sont non seulement immunisés, mais en plus, genre, je sais pas, qui guérissent le cordyceps, qui l'annulent ou quoi, on sait hop. Il y a aussi une option qui est tragique, on va pas se dire, mais toutes les options sont tragiques, de, bah, en fait, si on a un bout d'hypothèse de maybe si une personne qui est en train d'accoucher, ok, on lui file le cordyceps au bon moment, ok, et qu'après, on la tue, ok, parce qu'elle, elle va avoir le cordyceps, la personne qui accouche, l'adulte, là, c'est dead. Mais, pour le bébé, on coupe, ok, en montant. Après, ça fait un bébé immunisé. Maybe, je suis là, bon. Scientifiquement, éthiquement, c'est très compliqué. Mais en vrai, on a genre des gens qui sont cannibales, en termes de, genre, au niveau de leur communauté entière, on a, enfin, si tu veux faire des expériences cheloues sur des gens, I don't know, maybe tu peux. Enfin, je suis là. Hey, vous avez plein de pistes sur qu'est-ce qui pourrait faire le vaccin ultime de l'humanité. Et vous avez une seule go immunisée, vous êtes là.
On va la disséquer.
Je pense qu'on va en faire un kebab.
Ouais,
hein,
mais
c'est dans
l'urgence,
gars,
après, hein, malgré tout.
Mais dans quelle urgence? En vrai, je suis aussi ça en mode. C'est quoi votre urgence, les Fireflies? Genre, je sais que c'est des ennemis de Fedra et qu'il y a une guerre politique en cours et que peut-être. Là, du coup, ils vont avoir. On sait pas, peut-être ils vont avoir une attaque sur Salt Lake City, par exemple, qui arrive vite. Mais je suis là, et donc, non, vous c'est... décidez de faire l'opération genre là, quoi, tout de suite? Enfin, Ils sont vraiment en mode, est-ce qu'on va avoir assez d'électricité pour l'opération? Et je suis en mode, mais c'est la seule meuf immunisée que vous avez. Vous voulez pas quand même faire ça bien? Mais pourquoi ils sont dans l'urgence? Pourquoi non,
pour
si
moi,
c'est pas pour Fedra?
Pour moi, ils sont dans l'urgence de trouver un truc. Parce que si je comprends bien, ils ont une équipe... Enfin, overtime, tu vois, il y a une équipe de scientifiques, mais qui se réduit, en fait, et toutes les
personnes... Kaleya dit, ils ont pas inventé l'eau chaude, les scientifiques des Fireflies.
Alors, bah ouais, hein, on l'a dit, oui, c'est sûr.
Un peu, quoi.
C'est certain, c'est certain. Mais pour moi, oui, il y a cette espèce de truc de, non, mais en fait, il n'y a plus de temps à perdre parce qu'on veut enrayer cette épidémie et tu vois, cette
espèce de... Et parce que si on n'y arrive pas, on est
les moyens.
Oui.
Pour moi, il y a ça. Il y a tant pis ce qu'on va faire, etc. Tant pis, on va essayer. Et si après, les mecs ont déterminé que c'était ça le meilleur truc à faire, bon...
Et aussi, alors, on ne sait pas si le mec est vraiment neurochirurgien ou juste... Peut-être il était médecin orthopédiste et il était là, oh là, tous les autres médecins sont morts, ça tombe sur
mais
moi, c'est super.
Quand même.
Je dirais qu'on pourrait lui découper le cerveau en semelles et voir ce que ça donne derrière. Peut-être qu'il fallait pas l'écouter, mais en tout cas, il décède alors qu'il avait l'air d'être quand même, en fait, du bon côté de l'histoire à la fin. Si ça avait réussi, ça aurait été incre. Mais on ne...
Je vais rajouter un petit truc, du coup.
Ah oui.
Par rapport à l'urgence. En fait, effectivement, on navigue entre nous ce qu'on pense et ce qu'il faudrait faire et la théorie et une pratique que, je l'espère, on n'aura jamais à vivre, vous et moi. Mais imagine, t'es dans ce cas-là, tu veux pas vivre une seconde de plus dans ce monde-là. Genre pas une seconde de plus. Donc, quitte à faire des bêtises, le côté très marrant de « mais non, attendons une semaine ». Oui. Mais quand ça fait des mois que t'as perdu tout le monde au fur et à mesure, que la moitié de Fireflies est mort, que... Mec, t'as pas envie de vivre une seconde de plus là-dedans, donc ça paraît con.
Mais Ellie, c'est... aussi, elle vit là-dedans, wesh.
Ouais, mais...
Ellie, elle a des secondes à vivre, tu vois.
Ouais,
genre,
mais
oui,
eux,
y a des gens qui sont là.
À partir du moment, oui, mais regarde,
je souffre.
T'as perdu
Ellie
tout le monde.
Aussi,
t'as perdu tout le monde. Il y a une random, elle peut sauver le monde, ok?
Mais
toi, t'as perdu ton chéri, ton machin de bidule. Mmh. Voilà, alors, tu vois la meuf, tu sais quoi son prénom? C'est pas grave, son prénom.
Non.
Elle, on va lui retirer son cerveau et ça va aller mieux. Et toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire oui.
Non, je suis désolée.
Tu vas
dire
oui.
Je me prends plus au sérieux que je le suis. Mais je vais dire prouvez-le moi. Déjà, en fait, si on me montre une gamine de 14 ans et qu'on me dit celle-là, son cerveau, on en fait une tête de veau sauce gribiche, mais après, on a guéri le Covid des cordyceps, je suis là-bas.
Après avoir vécu.
Quelle est la source scientifique peut-être de cette affirmation?
Après avoir vécu l'oméga S, peut-être que ton avis changera, Mimi. Peut-être. Je dis ça, je sais pas.
J'en veux plus de toi.
Peut-être.
Mais okay. C'est vrai que comme le dit Omelette, il y a cette idée que les Fireflies ils sont décimés. Mais après voilà, on en a parlé un petit peu, on a perdu la moitié de nos troupes, etc. Et en fait, il y a de moins en moins de personnes qui sont justement très pointues dans leur domaine, etc. Mais
c'est intéressant cette idée d'urgence que t'amènes, qui est pas l'urgence de sauver le monde, mais l'urgence de sauver les Fireflies. Donc, en fait, il faut qu'on ait un but.
De faire quelque chose avant qu'ils n'existent plus, en fait.
Oui,
parce que c'est un peu
et même peut-être
le
de faire le truc qui va leur permettre de continuer à exister. Tu vois, attends mon gars, si on arrive à faire le vaccin. Eh, c'est bon, on va retrouver des gens dans la résistance et tout, parce que, effectivement, ils sont décimés. Et en fait, comme on a une très faible idée du monde global, déjà, on sait pas ce que c'est les États-Unis en large, en termes de population, de politique, de machin. Alors, le monde entier, encore moins.
Ouais.
Peut-être qu'il y a, dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, des cellules, évidemment, résistantes, des cellules plus militarisantes, et des gens qui essayent de trouver un vaccin au même moment. Et que en fait, mais c'est aussi, moi j'aime bien dans les films, surtout dans les films un peu apocalyptiques et tout, il y a un truc de, on est en huis clos sur des gens qui sont en panique, et à un moment, genre souvent à la fin, on dézoome et on est là, mon gars, le reste du monde, il était en train de régler le problème, ils arrivaient dans 10 minutes, mais t'as pas attendu. Et je suis là, The Mist, les vrais savent, de Stephen King, très bon film, complicado. Speaking of complicado, nous avons donc. Ellie se réveille dans la voiture avec Joël qui décide de lui raconter exactement ce qui s'est passé à l'hôpital de Salt Lake City avec les Fireflies, genre journalistique, hein, le mec est là en mode il bafouille et c'est confus. Qu'est-ce qu'on en pense?
Moi j'avais, alors pareil, scène qui est à peu près je suis ah, c'est sûr qu'elle est copier-coller du jeu, hein, cette scène où il se réveille dans la voiture, après il marche dans la colline, là. Mais alors moi, je me souviens que j'avais été très... j'avais pas aimé cette fin, parce que j'étais pas d'accord avec le fait que Joël lui mente.
Parce que. Eh ben, écoute, il y a Kaleya qui dit, je comprends pas pourquoi elle lui dit pas la vérité.
Voilà. Il y a ce, mais si, bien sûr. Parce que c'est égoïste de la part de Joël. Parce qu'il veut la protéger. Parce qu'il veut qu'elle reste avec lui. Parce qu'il veut qu'elle soit pas tuée. Parce qu'il veut que.
Parce Donc, qu'il lui a pas laissé le choix.
Parce qu'il lui a pas laissé le choix non plus.
Et que parce qu'il veut pas lui laisser le choix.
Peut-être que, en lui disant, elle pourra dire, ouais, ben, en fait, moi, je m'en fous, donc j'y retourne.
C'est ça.
Et
il
donc,
peut pas lui laisser le choix.
Voilà.
Marlène pouvait pas lui laisser le choix parce qu'elle aurait peut-être dit non, je veux pas le faire. Et Joël peut pas lui laisser le choix parce qu'elle va peut-être dire oui,
exactement,
je vais le faire.
Exactement, exactement.
Et ils sont tous les deux en mode, on va soit la chloroformer, soit lui mentir. J'ai pas de plan B, j'ai pas de plan C.
Ouais, c'est ça. Les deux naviguent entre le non-dit, le mensonge, etc. Et franchement, c'est criant à la fin. Voilà, dans cette petite séquence de fin, ce petit épilogue, comme tu disais. Bah ouais, en fait, Joël décide de. Voilà, est-ce que c'est par pur égoïsme, est-ce que c'est peut-être pour la préserver aussi, parce que malgré tout elle a que 14 ans, elle a vécu des trucs horribles, est-ce que c'est pour la préserver et essayer de développer une espèce de normalité avec elle, il choisit de lui mentir. Moi je me souviens j'avais hurlé vraiment à l'époque, mais pourquoi tu lui dis pas, en fait c'est ta fille ou c'est pas ta fille, en fait vous avez une relation de confiance, vous avez pas une relation de confiance. Mais maintenant, avec l'âge, etc., et tel que je le revois, pour moi c'est une décision qui est vraiment motivée par l'envie qu'a Joël de reformer une famille, en fait, de vivre dans ce monde tel qu'il est. En ce sens, ça m'a rappelé, je sais pas si vous avez vu ce film Interstellar.
Évidemment.
C'est exactement Plaisir. Ça. C'est exactement ça l'idée, en fait. C'est est-ce que finalement tu, c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est de vivre tes derniers moments avec ta famille, ou est-ce que c'est de sauver le monde ?
Est-ce que c'est ouais.
Et c'est vraiment ouais. Ça le dilemme. Et c'est encore une réécriture du dilemme du train, tu vois. Mais moi j'aime bien. Déjà,
oui, parce
que je sens, voilà, on est d'accord. Mais il y a ce truc où finalement tout ce qu'il y a autour c'est pas si important parce que en fait le cœur du propos il l'a. Et pour le coup, Joël, il fait son choix, quoi, tout simplement. Voilà.
Qu'est-ce que t'en as dit à Dibou? Et micro parenthèse merci. Pour dire un grand merci à Dr Zizmore pour le subprime. Merci beaucoup merci d'encourager. Docteur. Le sub goal qui arrive tranquillement plus près des live cuisine. Je pense que je vais vous faire une blanquette pour mon premier live cuisine parce que je fais une très bonne voilà. Blanquette de veau. Et aussi, ça mijote longtemps, donc on pourra parler pendant ce temps-là.
Quand j'ai lu ton sub goal, j'étais en mode, les stream cuisine.
Pardon, je vais le faire avec mode... le ton. Les stream cuisine. Parce tu vois, comme à la cantine quand on a faim.
Moi, j'ai lu les stream cuisine. Et cuisine quoi? Les stream cuisine. J'étais en mode.
Ah, en
pas,
mode, c'est accordé, genre c'est
ouais,
un verbe.
Voilà.
Les
Même
streams
si c'est
qui
pas,
cuisinent, des streams voilà. Cuisine.
Du coup,
ça
je comprenais pas,
sens.
Tu vois. Bon, après, il n'y a pas le cuisiner.
Les streams voilà. Cuisine. Mais je mettrais des petits émojis,
ouais.
C'est bien.
Ouais, et des
c'est
points d'exclamation, une... comme
ouais,
ça,
ouais.
Je capte direct.
Très bien.
Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, de toute façon, Joël, il s'est pas communiqué, ça date pas d'hier, donc.
Je sais pas de quoi tu parles.
Je veux dire, à mon sens, de plus ou de moins, il est pas ça après. Mais tu sens qu'il est paniqué, débordé, qu'il sait pas quoi faire, qu'il sait pas quoi dire. Et nous, quand on sait pas quoi faire et pas quoi dire, globalement, on peut dire aussi de la merde, ça nous est déjà arrivé. Aujourd'hui, nous sommes les meilleures versions de nous-mêmes, donc on ne ment plus, on communique parfaitement, la vie est belle, etc. Non, c'est faux. Malheureusement, des fois, on peut mentir par omission, des fois, on peut mentir réellement. Et là, il est clairement genre pris au dépourvu quand la bise fut venue. Il dit de la merde parce que...
Il n'est pas pris au dépourvu, il a répété de fou. Il a extrêmement répété ce qu'il va lui dire.
Tu
il
penses
sait... Ah oui, je
tu
pense
que parfaitement,
alors,
il sait ce qu'il veut dire.
Dites-moi dans le chat, et dites-moi vous aussi, pour moi... Tout le moment où Joël y conduit en attendant que Ellie se réveille, il se répète.
Je pense qu'il se
répète
le scénario dans sa tête.
Comment elle va le croire? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Comment elle va le croire?
Okay.
Ça se tient pas. Putain, attends, je vais lui dire ça, mais ça se tient pas et tout, machin. Et en plus, il sait qu'elle est intelligente, tu vois, qu'elle va lui poser des questions chiantes et tout. Et qu'elle va douter parce qu'elle est là. Mais attends, mais c'était genre toute la quête de, tu t'étais censé m'amener là-bas et genre. Et jusqu'ici, genre, ok, on est arrivé à des endroits où il y avait censé être les Fireflies et ils étaient pas là, ou ils étaient partis, ou donc on a continué. Et là, tu me dis, on continue même pas, on rentre. C'est ça, c'est qu'il doit à la fois dire, voilà pourquoi on n'est pas chez les Fireflies, et à la fois dire, voilà pourquoi on va arrêter de chercher. Et ce qu'il lui raconte, ça a aucun sens. Tu vois. C'est en vrai, ça a aucun sens. Ce qui est là,
c'est peu crédible.
Du coup, alors ils ont fait des tests sur toi, de fou. Mais ils ont aussi plein de gens comme toi, de fou. Et aussi, il y a tellement de gens comme toi. Mais ça veut tellement rien dire que les docteurs, même pas, ils cherchent un remède. Ils
non,
ont arrêté, mon gars, de chercher un remède.
Ce qu'ils disent, c'est vrai que ça pue un peu.
T'inquiète,
la merde.
Même pas, ils ont arrêté de chercher, je suis là.
Ils ont arrêté de chercher, etc. Oui, non, c'est sûr.
Frère, ça okay. Fait 20 ans à peine l'apocalypse, ils ont arrêté de chercher, genre, ok. Et Ellie, elle est là, d'accord. Et après, elle fait... Pourquoi j'ai plus mes vêtements? Et là, je pense qu'il y a un micro-panique dans la tête de Joël de... Ah, putain.
Les raideurs. Il y avait des raideurs, on a dû venir
en
vite.
Et là, bah, en fait, dans un contexte à peau, tu peux. Il y a des imprévus. On peut pas se mentir, il y a des imprévus. On les a vus arriver, ça arrive. Mais ce qu'il raconte, ça se tient pas. En fait, il a pas réussi à tisser une histoire qui se tient et qui répond aux besoins et aux questions de Ellie, mais parce que lui-même, moi, je pense, il a pas forcément merdé par rapport à l'humanité en entier dans ce qu'il a fait, mais il a full merdé par rapport à Ellie, ou juste il tue plein de gens, dont certaines personnes, au moins Marlène qu'elle aime, et il lui dit pas. Et il lui dit pas, en fait, t'es pas spécial.
Ouais,
ou quoi.
Mais est-ce que c'est pas plus dur la réaction des. En fait, il doit flipper de fou de, comme d'hab, quand tu mens à quelqu'un, tu lui mens parce que tu veux pas savoir sa réaction quand tu diras la vérité. Donc voilà, il préfère mentir que dire la vérité. Et on est tous d'accord ici pour dire que c'est de la merde. Mais c'est le caractère de Joël qui n'a pas le temps de faire une thérapie sur lui et d'aller mieux, tu vois.
C'est quoi l'alternative?
Quelle est l'alternative? Bah, est-ce qu'il y a une alternative à ça?
Comment c'est la grande question.
Comment tu veux c'est quoi l'alternative? En fait, moi j'ai l'impression que c'est binaire, c'est
ce fait,
tu dis la vérité
seule.
ou tu mens, tu vois. T'as pas
oui,
de juste
mais
milieu.
Si tu dis la vérité.
Bah, il a une chance qu'elle se casse en fait, qu'elle dise que c'est un connard, qu'en fait elle voulait le faire, que il a pas décidé pour elle, que c'est pas son père. Dire mais t'es pas mon père, tu vois. Ouais. Je
mais
sais
lui,
pas pour,
il
moi,
risque...
pour prendre mes propres décisions, tu vois.
S'il lui dit la vérité, il risque qu'elle parte, qu'elle le quitte elle.
Tout à fait.
Donc lui, pour lui, c'est le risque qui est insurmontable puisqu'il vient de se rendre compte, ça lui a pris quand même 8 épisodes sur 9, mais bravo à toi Pedro Pascal d'y être arrivé, que en fait, bah, c'est sa raison de vivre et que c'est autant sa raison de vivre que sa fille, que feu sa fille l'était. Pour Ellie, le risque, c'est je vais être toute seule. Elle a plus que Joël et elle a dit sa plus grande peur, c'est d'être toute seule. Et si elle dit à Joël, tu me mens, et que Joël lui dit oui, elle sera obligée de lui dire bah du coup, c'est ciao, parce que non seulement tu me mens, mais aussi t'as buté des gens qui, pour le coup, on peut débattre sur l'innocence et tout, mais il y en avait quand même une bonne partie qui était là pour non seulement pas faire de mal, et aussi pour espérer trouver quand même le remède à la pandémie de l'humanité. Encore une fois, si on regarde The Last of Us par d'autres prismes, c'est vraiment... Joël, c'est vraiment le méchant, quoi. C'est le croque-mitaine de cet univers qui arrive et qui tue tout sur son passage. Et du coup, s'il lui disait la vérité, elle serait là, ok. Même sans savoir si elle aurait dit ok ou pas, parce que c'est une question hyper importante, hyper compliquée, même... Et encore plus à 14-15 ans, de est-ce que tu te sacrifierais pour peut-être, parce qu'aussi c'est pas une certitude, peut-être qu'on puisse, avec un bout de ton cerveau, peut-être créer un truc qui puisse peut-être servir d'hypothétique base potentielle à peut-être un vaccin. T'es là, bon. Fais chier quand même un peu, parce que moi j'ai une certitude qui est je vais vivre, et vous me donnez une bof certitude qui est peut-être, hypothétiquement tout ça, ok? En fait, on sait pas ce qu'elle aurait choisi. Mais peu importe ce qu'elle a choisi, l'important c'est pas ce qu'elle aurait choisi, c'est que personne lui a laissé le choix et que Joël lui a menti. Et qu'une fois qu'il lui a menti, c'est ciao. Elle a, enfin, tu peux pas, ils peuvent, en fait, ils peuvent jamais revenir de cette cassure. À partir du moment.
Ah, tu crois?
Alors, moi, j'ai pas à jouer aux deux, mais pour moi.
Ils ont un tel attachement l'un envers l'autre que pour moi, en fait, à la fin, même si lui.
Pour moi, il y a pas
vérité,
d'après.
Elle pourrait comprendre.
Alors, je pense pas parce que déjà, je pense que il y a un thème de la fascination d'Ellie pour la violence dans la série,
ouais,
qui est là dès le début, puisque de ses premières interactions avec Joël, c'est Joël qui tue le soldat, qui lui rappelle le soldat qui a tué sa fille, et Ellie, elle est un peu en mode « Ok, c'est lui qui va m'accompagner, super, je le prends !» T'es là « Waouh, t'es un petit peu excité par un mec qui tue un homme à main nue, mais d'accord. » Parce qu'il y a toute la fascination d'Ellie avec les flingues, avec toute la violence que Joël peut exercer. Et je pense que cette violence, c'est quelque chose que Joël veut pas transmettre à Ellie, mais sur laquelle il se retrouve. Et qu'en fait, je pense pas qu'il y a un monde où Ellie peut être 100% ok avec Joël à exercer cette violence sur des gens qui, encore une fois, il y en avait une partie qui voulait qui était littéralement partie pour la tuer, mais pour des fins, entre guillemets, thérapeutiques. Et qu'on a vu que quand Ellie était dans la ville de Jackson, où habitent Tommy, Marcia et tout, Marcia, donc la femme de Tommy, a essayé de prévenir Ellie et lui a dit, tu sais, Joël, c'est un mec violent, ouais, c'est un mec, faut s'en méfier, c'est un mec qui peut aussi t'amener à faire des trucs que tu veux pas faire. Et Ellie a été là, non, non, c'est Joël, c'est mon gars, y a pas de problème, c'est mon gars sûr, tout va bien. Et elle a dit, il tue plus des gens. Non, elle a dit, il fait plus ce qu'il faisait avant. Et la femme de Tommy a dit, ah bon, il tue plus des gens? Et Ellie a dit, plus les innocents. Et là, en vrai,
ouais, c'est une question de point de vue, quoi.
On peut débattre, mais je sais pas si le docteur, il était pas un peu innocent, par exemple, tu vois. Je sais pas s'il a tué grand monde. Et je pense que si Joël, il se montre comme ça envers Ellie, c'est une cassure. Si Joël, il dit à Ellie, en plus qu'il a tué Marlene, qui est, bah, du coup, on le sait maintenant, la personne que Ellie connaît, peut-être qu'elle sait pas, mais en tout cas, depuis le plus longtemps, littéralement, depuis qu'elle est née, c'est une cassure. Et surtout, la cassure, c'est que Joël, il lui a pas laissé le choix. Mais autant que Marlene, personne lui laisse le choix. Et si Joël lui dit, j'ai choisi pour toi. Et pour moi, le plus grand mensonge qu'il lui dit, c'est pas sur les Fireflies, c'est sur, il y a plus besoin de chercher un vaccin.
Ouais, bien sûr.
On n'a pas besoin de toi. Parce que du coup, elle est en mode.
En fait, je pense qu'il veut la libérer de ce fardeau qu'il pense qu'elle n'a pas apporté. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il veut la libérer du fait que elle pense que la Terre en fait attend ça d'elle, alors que lui, il veut pour elle juste une vie.
Oui. Et mais la vie normale qu'il veut pour elle, elle est déjà tellement dure, quoi.
Ouais, bien sûr, mais bon, ça pourra pas être plus difficile que maintenant où les mecs, tu vois, font des trucs radio, tu vois. Enfin,
font des trucs là. Non, on n'aime pas.
D'un côté, moi, je peux comprendre Joël. Le seul truc que je regrette, c'est vraiment, en fait, ouais, voilà, qu'il assume pas de lui dire, en fait, je suis désolée, je t'aime, tu es tout pour moi, tu m'as redonné l'envie de vivre et je ne veux pas que tu meurs, en fait, je ne peux pas te laisser mourir. Par égoïsme. En fait, j'aurais préféré que vraiment il lui sorte un discours comme ça, quoi, parce que c'est exactement ça, tu vois.
Oui, je suis d'accord avec ta lecture.
Et il y a ce truc à la fin de. Ouais, de. Tu sais, où tu serres un peu le poing, tu fais mais. Oh, tu lui dis. Oh, mais bon.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adibou, de ce début d'ultime conversation? Donc, on arrive à l'épilogue, n'est-ce pas? Où il lui raconte ce qui est arrivé selon lui aux Fireflies. Mmh. Ensuite, on a cette petite scène où il lui parle de Sarah. On n'a pas encore trop parlé, mais il lui parle de Sarah, de sa fille. Et il lui dit, voilà, vous étiez similaires là-dessus, vous étiez différentes là-dessus, vous serez bien entendues. Et on sent qu'Ellie est là. Ok. Genre, elle est pas hyper ravie d'être comparée à Sarah, ce qui est intéressant aussi parce que peut-être elle sent que, en fait, je suis devenue ta raison de vie, mais moi, c'est pas ma vie, gars. Enfin, du coup, si tu me gardes en vie pour me garder avec toi, c'est genre, je suis pas un proxy de la fille que t'as perdue, je suis une personne différente. Et en même temps, je trouve que Joël, il le navigue un petit peu. Ou justement, quand il lui dit, tu me fais penser un peu à ma fille, genre, un des premiers trucs qu'il lui dit après, c'est, je dis pas que vous êtes pareil, hein. Vous êtes deux gamines complètement différentes, mais vous avez des points communs. Et je suis là, ok, lui-même, il est en mode, vas-y, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Qu'est-ce que t'as pensé de cette conclusion?
Pour le coup, par rapport à Joël, je peux comprendre qu'il ait fait ça. C'est pas top. Je suis pas. J'aurais probablement fait ça.
C'est pas top. La vie d'Adibou.
Comment dire?
C'est pas top.
Non, mais ce que j'essaie de mettre à sa place, tu vois. Donc, si j'arrive à ce degré de folie, un mensonge de plus ou de moins, finalement, c'est pas si grave. Le problème, c'est ce qui se passe par la suite. Comment tu vis avec ce mensonge? Et tu vois bien la gueule d'Ellie. Elle y croit à moitié, dans la voiture, elle se retourne quand il lui raconte ce qui s'est passé. Donc tu sens qu'elle se retourne
quand elle lui demande est-ce que Marlene va bien et qu'il répond pas. Il répond, il laisse passer une pause qui dure environ le temps de la saison 1 toute entière. Et après il dit, je nous ramène à la maison. Je suis là, bah, ok.
Ouais, non, c'est sûr. Mais tu vois, genre, il est. Enfin, je peux comprendre vraiment ce qu'il fait. Je suis pas fan et j'aurais probablement essayé d'éviter ce genre de truc, mais une fois que t'y es, donc un mensonge de plus ou de moins, mais encore une fois, c'est comment tu vis avec, comment tu vois Ellie t'as peut-être cassé un truc avec elle, c'est plus la même, déjà le trauma l'a vraiment fait évoluer, et là c'est encore un trauma supplémentaire, c'est un truc d'ouf, donc à ce moment-là, je sais pas comment il aurait fallu botter en touche pour gagner du temps et essayer de trouver un truc malin, intelligent pour te dire, écoute, là je peux pas dire ce qui s'est passé. Laisse-moi 1, 2, 3 jours et on en reparle vraiment. Mais parce que t'imagines, tu dis le truc à chaud, mais c'est dead, c'est impossible, tu vois. Donc Joël, il a fait ce qu'il a pu avec les armes qu'il a et ben c'était malheureusement peut-être le pire bail. Même si dans le chat, il y en a peu qui sont pas d'accord avec ça. Il y a certains qui pensent que Joël a très bien fait. Vous êtes pas nombreux, mais il y a quand même la team Joël.
J'ai envie de dire qu'il y a Joël a bien fait entre guillemets de sauver Ellie et de pas la laisser mourir aux mains des Firefly. Et il y a Joël a bien géré la révélation à Ellie, qui sont deux choses différentes. Je pense personnellement qu'il a bien fait de pas la laisser mourir aux mains des Firefly, qui, je suis désolée, c'est des tocards depuis le début. Le plan médical, il a pas l'air tight du tout. Le gars, il arrive en service de chirurgie pédiatrique. Genre, déjà, pourquoi il la met en chirurgie pédiatrique? Mais d'accord. Et il entend une des infirmières dire, est-ce qu'on aura assez d'électricité pour finir l'opération? Moi, je suis là, attendez. vous allez tuer une gamine et lui extirper le cerveau alors que c'est la seule gamine immunisée. Donc déjà, j'ai pas hyper envie qu'elle meure parce que perso, je l'aime bien. Et aussi, genre, vous avez même pas assez d'électricité pour finir ouais, l'opération.
Ça, c'est dumb de fou, par contre.
Venez avec nous chez les fucking communistes où ils ont de l'électricité, du shampoing et des salles de cinéma et on fera une opération qui est probablement bien plus stérile que chez vous. Donc je suis là, en vrai, je suis pas forcément partisane de Joël tous les Fireflies, mais qu'il enlève Ellie de cette merde, je vous le dis, je suis pour. Voilà, ouais, je suis peut-être totalement fichier S, mais je suis pour. Par contre, en fait, il réfléchit pas assez à l'impact que ça va avoir sur
bien
Ellie,
sûr.
Qu'elle se rende compte, mais effectivement, de à la fois plein de gens sont morts, entre guillemets, pour rien, parce qu'elle a pas sauvé le monde, et aussi de elle va pas sauver le monde. Alors que peut-être. Joël, c'est le seul pour l'instant à savoir que peut-être elle pourrait.
Après, c'est normal aussi de vivre au jour le jour. C'est des gens qui vivent au jour le jour, seconde après seconde, tu vois. Donc, ça se trouve,
ils
rêvent d'une vie qui va durer longtemps chez les communistes, mais alors qu'en fait, ils y croient pas vraiment parce que tu peux pas te permettre de croire en ça, tu vois.
Mais pour moi, c'est tout le message de The Last of Us. Enfin, ça fait partie des messages de The Last of Us et du post-apo en général. C'est que justement, survivre, ça suffit pas. Il faut vivre, tu vois. Genre, vivre au jour le jour, tu peux le faire. Tu peux survivre d'un jour sur l'autre. Mais il faut que t'aies des trucs pérennes. Et on voit que, par exemple, dans cet épisode, bah, on en parlait, il propose à Ellie de lui apprendre à jouer de la guitare. Et en fait, jusqu'ici, il lui a appris des trucs pratiques. Il lui a appris à survivre, il lui a appris à chasser, il lui a appris à se méfier des infectés. Même bah, là, quand ils arrivent dans la ville, il lui dit « voilà ce que je te propose ». Et en fait, elle lui dit eh « bah, j'imagine qu'on va traverser cet endroit, faire le tour de ce bâtiment, trouver un gratte-ciel, repérer par où on peut passer, on va faire ça parce qu'elle a l'habitude, parce qu'il lui a appris à faire ça et qu'aussi c'est un truc de gameplay assez simple. Jusqu'ici, tout ce qu'il lui a appris, c'est des trucs de survie. Et là, il lui dit, j'ai envie de t'apprendre à jouer de la guitare. C'est un truc qui sert zéro à survivre, la musique. C'est genre, il y a aucun besoin vital qui est lié à la musique. Mais en fait, la musique, c'est un besoin vital quand même parce que c'est de l'art et que c'est comme ça qu'en tant qu'humain, on connecte et que, du coup, il se voit à ce moment-là dans une pérennité avec Ellie, qu'il a envie de continuer parce que juste, comme t'as dit, il a perdu sa fille une fois, il peut pas le refaire. Genre, pour lui, c'est genre, mon monde, c'est elle. Et alors, dans un des podcasts que j'écoute, le Prestige TV Podcast, où il y a ma critique série préférée qui s'appelle Joanna Robinson, un des trucs qu'elle essaye de garder note depuis le début de The Last of Us, auquel, comme moi, elle a pas du tout joué au jeu et tout, donc elle est vraiment novice dans l'intrigue, c'est The Last of Us, donc les derniers des nôtres, entre guillemets, les derniers de nous, c'est qui nous ? C'est qui us dans The Last of Us pour les différentes personnes. Et du coup, à chaque épisode, elle essaie d'analyser, ok, pour Joël, us, c'est ça. Et pendant longtemps, Ellie, elle est pas dedans. Justement, à un moment, elle lui dit, on continue à avancer pour la famille. Et elle lui dit, moi, je suis pas de la famille. Il lui dit, non, t'es cargo, donc t'es quelque chose que je transporte. Voilà, t'es de la marchandise que je transporte. À ce moment-là, j'avoue, en tant que spectatrice, j'étais là, bof, un mytho, tu l'aimes bien, la gamine, elle fait des jeux de mots éclatés, et elle est un petit peu sassy, tu l'aimes bien. Mais en tout cas, il lui dit, voilà, tu ne fais pas partie de nous. Et la théorie, du coup, de Joanna Robinson, c'est que Joël, son nous, est tout petit. C'est vraiment très peu de monde. Et jusqu'ici, c'était lui, Tommy, pendant un moment, c'était lui, Tommy, Sarah. Ensuite, c'est lui, Tommy. Ensuite, lui, Tommy et Tess. Mais il y a eu très peu de monde dedans. Et en fait, pour lui, sauver le monde entier, ça l'intéresse pas. Parce que le monde, c'est pas us. Le monde, c'est ok, c'est ce truc qui s'est cassé la gueule. Ce truc qu'il a potentiellement maltraité aussi, parce que voilà, c'est un ouvrier du bâtiment au Texas dans les années 2010. C'est pas une existence qui est père célibataire, en tout cas, soit séparé, soit veuf. On sait pas dans la série pourquoi la mère de. Où elle est la mère de Sarah, mais en tout cas, elle est pas là. Donc bon, je pense qu'il a pas une vie dans un monde qu'il a très bien traité. Et alors, sans être au point de Bill, qui quand même dans sa lettre dans l'épisode 3, Bill il commence en lui disant avant je détestais le monde et j'étais content quand le monde s'est effondré et quand tout le monde est mort et ensuite je me suis rendu compte que j'avais tort parce qu'il y avait au moins une personne qui mérite que je la sauve et c'est ça le but, c'est de trouver qui il faut sauver, tout comme Tess elle avait dit à Joël protège qui tu peux protéger, ça suffit, protège juste qui tu peux protéger, ça suffit. Et du coup, Joël, il est en train de retrouver un sens à sa vie tout en étant dans un contexte de violence fou. Et le sens de sa vie, ça veut dire garder Ellie dans cette violence. Ça veut dire garder Ellie dans ce monde-là. Et c'est, mais genre... Il n'y a pas vraiment de bonne raison. Ok. Adibou, t'aurais fait quoi ?
Qu'est-ce que j'aurais fait ?
À la place de Joël.
À la place de Joël, à partir de quand ?
Quand tu veux. Quand tu veux. À quel moment tu fais pas ce que Joël fait ? C'est peut-être ça la meilleure question. À quel moment tu fais pas ce que Joël fait ? En partant du principe que t'es très bon en tir.
Ouais, ce que j'allais dire.
Assez détaché sur le fait de tuer des gens.
Parce que là, c'est pas le cas.
En partant du principe que tu peux traverser l'hôpital sans te prendre une balle dans le genou.
Ah non, mais si c'est la, oui, bah tu fais la même chose en fait. Tu fais la même chose. Après, tu sais pas à quel point. En fait, je sais pas à quel point chaque expérience de mort imminente te fait changer d'avis, parce qu'en fait, ils vivent que ça.
Ouais.
Et peut-être que justement cette dernière expérience sur Ellie, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vraiment le fait déconnecter de fou, tu vois, parce que un coup c'est Ellie, un coup c'est lui, et là c'est à nouveau Ellie, mais sauf que c'est plus palpable avec des gens qu'il connaît dans un endroit. Enfin, je sais pas. Écoute, grosso modo, je dirais que je ferais plus ou moins la même chose, mais est-ce que j'essaierais pas parler un petit peu, mais en même temps, tu t'es tellement dans un truc qu'en fait, les gens veulent pas te parler avec toi.
Parlez-vous, wesh.
Ouais, mais en fait, ouais, ça, c'est juste pas Joël doit parler, c'est Marlene doit parler à Joël qui doit parler à Ellie.
Oui,
qui doit, tu vois, c'est vraiment tout le monde doit parler entre eux.
Parce que vraiment, Marlene, elle est en mode Lago, elle est déjà en chirurgie, tu vois, c'est ciao. Et Joël, il a pas.
Mais
on prend un café, non? On parle de la fin de vie, enfin, je sais pas, on signe des papiers, tu vois. Marlene, elle est là, non, c'est ciao, c'est déjà en cours.
Ouais, genre, si tout le monde pouvait communiquer, mais comme tout le monde prend la max, comme tout le monde voit tout le monde mourir, comme tout le monde a plus le temps, comme tout le monde peut-être y croit plus. Donc, quand il y a un petit rayon d'espoir et de soleil qui apparaît, ben, en fait, tu te dis, mais il y a plus besoin de dialogue. On a trop parlé, genre, pseudo, tu vois. On a trop parlé avant. Maintenant, c'est le temps de l'action.
Il faut faire.
C'est tout. Il y a des scientifiques qui disent que, eh ben, on leur fait confiance.
Bah,
moi,
nous,
je suis pas scientifique. Il a dit que dans son cerveau, on peut sauver l'humanité. Ramène n'importe quel gamin et on va le disséquer, tu vois.
Ramène un autre gamin, c'est pas grave.
Ramène n'importe quel. Genre, ça se trouve, ils sont si matrixés que ça, tu vois. Donc,
j'avoue.
Mais sinon, oui, en l'occurrence, bah, peut-être que j'aurais fait la même chose. Mais je pense que les gars, ils sont tous, ils sont à cran, ils sont à bout, tu vois. Et peu importe. Genre, il faut arrêter ça. Et bon, bah, malheureusement, c'est Ellie. Et malheureusement, c'était Joël. Chez à eux, j'ai envie de dire.
La boule noire. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est la boule noire de Motus, Joël.
Ah, mais de fou. Le gars, il a le poissas. Vraiment. C'est chaud. Quid de toi, Mary?
Qu'est-ce que je ferais à la place de Joël?
Ouais.
Bah, tu sais.
Et après, on va parler du hockey. Après, on va finir, mais.
Alors, qu'est-ce que je ferais à la place de Joël? Bah, en fait, je pense que. Bah, tu sais, je t'ai dit, moi, mon je préfère, c'était Silent Hill 2. Donc, déjà, il y a un truc où, moi, les dèles de famille, au sens large, tu vois, les histoires qui vont mettre la famille au centre, etc., c'est quelque chose qui me parle énormément. Je suis partie des gens qui pensent très sincèrement que sans amour à donner et à recevoir, la vie est nulle.
Je suis d'accord. Et en ça fait, vaut littéralement pas le coup.
Ouais, bien sûr. Et en fait, mais moi, je pense que je suis pas quelqu'un de foncièrement violent, mais je pense que s'en prendre à quelqu'un que j'aime pourrait me pousser, en effet, tu vois, dans vraiment, tu sais, dans ce pic d'adrénaline qui pourrait peut-être être meurtrier, tu vois, j'en sais rien, je ne le souhaite pas à la personne d'en face, mais
oui, et on ne te souhaite pas de vivre dans un monde qui devient extrême au point
bien
que
sûr,
t'es à envisager
sûr.
De peut-être défendre les gens que t'aimes passe par le meurtre,
ouais, exactement, voilà,
une forme de meurtre de masse.
Mais moi, il y a quelque chose que je comprends là-dedans, parce qu'en fait, ben tu vois, ça rejoint, comme tu disais, la thématique interstellaire, etc. C'était, ouais, si en fait t'as le choix de sauver l'humanité ou de rester avec les gens que tu aimes, eh bien en fait, je pense que je ferais tout simplement le choix égoïste de rester avec les gens que j'aime. Je pense que personne n'a apporté le fardeau de, oui, mais en fait, toi, tu vas être la personne qui a sauvé l'humanité, parce qu'en fait, les gens qui pourraient le faire ne le font pas déjà. Donc ça met un ton, tu vois.
Oui.
Et donc du coup, ouais, moi, je serais. C'est terrible parce que en effet, Joël, c'est quelqu'un d'hyper violent, etc. Mais je pense que cette rage et ce truc où vraiment il se dit que en fait ce n'est juste pas possible de perdre cette personne et de perdre cette parentalité retrouvée, je peux la comprendre. Et après, bah voilà, il y a ce moment là dont tu parles, donc quand ils sont dans cet épilogue où ils discutent et où il lui dit voilà, tu me rappelles un petit peu ma fille, etc. Et donc là, ultime couteau dans le cœur, enfin que dire, couteau. Uchigatana, oui, vraiment, c'est enfoncé de part en part, parce que, bah voilà, c'est la résolution du deuil de Joël. Je trouve que c'est un moment hyper fort où, en fait, il y a cette espèce de passation. Déjà, il y a l'acceptation. L'acceptation de ma fille. Mon premier enfant est mort.
Oui.
J'en parle.
C'est peut-être la première fois qu'il prononce le mot Sarah.
Exactement.
Depuis l'épisode 1.
Et
c'est possible.
Et c'est hyper, c'est vraiment extrêmement touchant. Et il y a ce truc de, tu vois, d'instaurer une espèce de sororité qui n'existera jamais, mais en fait, lui, ça lui fait du bien. D'essayer cette espèce
et
de passation.
Et il y a aussi 20 ans d'écart. Genre, ouais. à un moment, il dit, vous serez bien entendu, elle t'aurait fait rire. Et j'étais là, j'essaye de les imaginer, tu vois, en train de, genre, jouer ensemble comme des ados, tu vois, du même âge. Et j'étais là, bah non, parce qu'en fait, si la fille de Joël n'était pas morte, là, elle aurait 33 ans et peut-être bah, à Jackson, à un moment, il voit une jeune mère, d'ailleurs, qui a une jeune fille qui ressemble un petit peu à sa, ouais, à sa fille. Donc, en fait, elle serait vraiment adulte et trentenaire et daronne. Ouais, et quand il voit Ellie, il voit sa fille parce que sa fille, elle s'est, évidemment, elle a été interrompue. Mais du coup, il y a un peu un côté de comment je grandis. Ouais. Si tu penses que ta fille qui est morte à 14 ans, c'est moi, genre, qui je vais être?
Complicado. Oui, bah, moi, je... Ouais, ouais, je sais pas. Moi, je l'ai vu vraiment comme une espèce de passerelle, en fait, de pont qui fait entre ces deux personnes, de ben ouais, en fait, de tel moment à tel moment, en effet, cette personne, ça a été mon enfant. Et puis maintenant, bah voilà, c'est cette personne-là. Et ouais, il y a une espèce de... Je sais pas comment dire, de, tu sais, de, vraiment littéralement, il leur donne le flambeau, quoi, tu vois.
Ah oui, il y a un passage de relais qui est clair,
etc. Ouais, ouais. Je trouve ça vraiment hyper touchant.
Et ce qui est hyper fort, c'est que moi j'ai trouvé, c'est que Ellie, elle est pas à l'aise avec ça. Ouais. En fait, ils sont en train de randonner, ils sont plus très loin de la ville. C'est clairement, y a plus de danger, on a plus peur que quoi que ce soit les attaques et tout. Et Joël commence à dire, et c'est du coup peut-être une des premières fois où il prononce le nom de Sarah en disant, bah voilà, Sarah et moi, on faisait des randos et tout. Et il lui raconte tout ça qui est mignon et qui est pas en mode, enfin tu vois, il fait gaffe à dire, je dis pas que vous êtes pareil, toi, enfin voilà, elle a été un peu plus girly, toi, mais je dis pas que t'es pas girly, tu vois, en plus il galère comme un daron, ouais, en mode, ouais, ouais, je ne sais pas comment dire quelque chose sans que tu le prennes mal, I don't know, sans que ça ait l'air d'être un petit peu shiny pour toi.
Ouais, il marche sur des œufs clairement.
Ouais. Bah oui, de fou, surtout que bon, elle a quand même une vie compliquée, la gamine. Mais en fait, Ellie, elle est, tout ce moment-là, elle est pas à l'aise et elle est pas en mode « Ah, c'est cool, tu me parles de ta fille », elle est pas en mode « Ah, c'est cool, je ressemble un peu à ta fille » ou au contraire « C'est chouette que tu vois qu'on est différent », elle est pas à l'aise parce qu'en fait déjà, elle sait que probablement que le truc des Fireflies, c'est... Enfin, elle sait, elle doute. Là, elle est en full doute de... Quoi ? C'est quand même hyper bizarre, non, ça... Ok ? Et on continue. Et en même temps, encore une fois, c'est, tu vois, The Last of Us par un autre prisme. C'est une ado qu'on a confiée à un gars qu'elle connaît pas, où il y avait une autre dame adulte qui est morte extrêmement vite et qui est restée des années, enfin des mois et des mois avec un gars qu'elle connaît pas, qui est en train de lui dire ma fille elle est morte, elle avait ton âge, tu me fais penser à elle. Et je suis pas du tout en train de dire qu'il y a des trucs creepy de type creepy David sexuel, mais en vrai il y a aussi ce truc de, elle est en train de se rendre compte qu'il fait un transfert de fou, tout en lui disant je fais pas un transfert de fou, elle est là ouais tu fais quand même un transfert de fou par contre frère. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire à ça? Genre, c'est quoi son alternative? C'est de dire, je pense qu'on va arrêter de traîner ensemble, genre.
Ah, mais après, il y a
pourquoi
aussi
faire? Enfin, qu'est-ce qu'elle a d'autre dans sa vie? Qu'est-ce que lui, il est ado dans sa vie? Enfin, tu vois, elle est pas hyper à l'aise et elle encourage pas ça, tu vois, elle est là.
Ah, mais c'est la première fois qu'il souffre comme ça, Joël, aussi. Enfin, tu vois.
Ah, peut-être c'est du malaise de, oula, c'est nouveau.
Bah, pour moi, il y a tout ça
prendre,
qui est mélangé, tu vois, il y a ce côté un peu waouh. Et puis, bon, j'imagine que, enfin, voilà, c'est fait, c'est daté. Donc, j'imagine que, tu vois, ça doit être encore un peu dans le, enfin, voilà, on voit qu'elle a un peu du mal avec tout ça. Mais, et puis, très clairement, moi, je l'ai pas senti mal à l'aise, plus dans une position d'écoute, en fait, parce que, ben, elle va pas avoir des mots pour soulager tout ça, mais juste, en fait, elle écoute ce que lui, il a à lui dire. Tu vois, même quand tu lui dis, enfin, je dis pas que, sans dire que t'es pas girly, puis ça le rassure, lui, bah, si, bien, enfin, tu peux le dire.
Ouais, après, frère, je suis pas très girly, c'est pas grave.
C'est une réalité également, mais tu vois, je trouve qu'elle a quand même une douceur par rapport à ça, même si, en effet, elle est un peu dans le retrait, c'est-à-dire qu'elle a pas forcément, tu vois, emboîter la discussion, parce que, ben, on sort d'un truc, voilà, pareil, je pense que dans sa tête, ça gamberge un peu par rapport à la séquence d'avant, mais, ouais, pour moi, après, tu vois, c'est surtout la catharsis de Joël, en fait, ce moment-là.
Ok. Mais c'est marrant. Moi, j'ai vraiment senti un petit malaise côté Ellie de... Je suis pas... Genre, j'ai voulu tout le long que tu me parles de ta fille décédée, mais maintenant que tu le fais, je suis là... Parce que peut-être, je pense que tu as sacrifié le monde pour que j'existe et que je sois ta raison de vivre. Et là, du coup, ça devient genre trop de pression pour... Moi, je suis juste une meuf, tu vois, tranquille. Ouais. T'en as pensé quoi, Adibou, toi?
Mais du coup, on parle. Du coup, c'est quoi le bon call à faire? Plutôt que Joël lui parle
bon
de sa fille, c'est quoi le
Il n'y a pas de bon
faire,
call ou de mauvais call.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'Ellie elle se sente à l'aise tout en faisant en sorte que Joël puisse ouvrir son cœur? Parce que c'est vrai qu'elle a raison, Mary.
Il n'y a pas de bon
première
call ou de mauvais
fois, un peu
call
chelou,
parce que c'est la complexité des relations humaines, je pense. Et je pense aussi que Joël, il fait littéralement du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, c'est-à-dire en termes d'outils psychologiques, pas beaucoup. Il y a Steel Marty qui dit elle fait du transfert un peu, Ellie aussi, elle fait tout pour lui sauver la vie les épisodes d'avant, enfin elle aussi elle a clairement besoin de lui.
Bien sûr.
Comme enfin en fait c'est une histoire de vase communicant je pense. Il y a Guépard Solide qui dit je suis pas d'accord avec vous sur le fait que Joël fasse un transfert. Pour moi il est sincère dans sa démarche d'expliquer à Ellie qu'avec tout ce qu'ils sont traversés, ils sont plus obligés de s'infliger ça et qu'il existe une autre façon de vivre. Donc peut-être que c'est moi qui ai aussi un regard un peu pessimiste et encore une fois enfin je pense pas que Joël fait exprès pour faire que Ellie elle se sente mal ou quoi.
Ah non, non,
je pense qu'il
pas,
est 100%
maladroit,
sincère
en fait,
dans sa démarche.
Tout simplement.
Mais qu'en
fait,
il se dit pas que sa démarche à lui d'homme adulte qui vient enfin de régler le deuil de sa fille adolescente, elle est quand même très compliquée à gérer pour Ellie qui est une fille adolescente
ouais,
qui est en train de gérer ses propres traumas et qui a passé longtemps à essayer de rentrer en lien plus intime avec Joël sans succès. Et que du coup, bah, en fait, c'est pas parce que lui, il décide maintenant, genre, et je vais t'ouvrir mon intimité, que Ellie, elle est ready, parce qu'en fait, entre-temps, Ellie, elle a vécu deux, trois autres trucs, et aussi, qui vient littéralement lui mentir sur un truc hyper important de leur vie à tous les deux, et peut-être de l'histoire du monde, quoi. Donc, il y a ça aussi qui est en sous-texte. Ok, on va parler du... Ok. Et de la fin de The Last of Us Part 1 et de The Last of Us saison 1. Ah oui, elle met un peu les griffes. Désolé, il y a mon chat.
J'aime beaucoup les ronrons. J'aime un peu moins les griffes.
Vraiment, c'est un chat malou, le chat. Je vais le refaire pour le podcast. Ok, on va parler de la fin de The Last of Us épisode 9 et donc de la fin de The Last of Us saison 1 et donc de la fin de The Last of Us Part 1 puisque pour le jeu, on est d'accord qu'on est sur une fin quasiment copier-coller.
Ouais,
totalement. Il n'y a pas de différence notable. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu cette fin dans le jeu Adibou ?
C'était abrupt, c'était...
Et on est d'accord que ça a fini avec la même intensité de OK, cut to black.
C'est tout pareil.
Il n'y a pas de générique, il n'y a pas de chaîne d'épilogue, c'est vraiment genre...
C'est tout pareil.
C'est pareil.
T'es là, t'es en mode OK, et la suite ? Il n'y a pas de suite. Allez, on fait ça. Non, non, mais c'était hyper...
Je vais donc regarder mon mur et ma télé éteinte.
C'est ça. Non, non, enfin, il est dur à vivre en tant que joueur. Il laisse, en fait... une porte ouverte, enfin c'est un courant d'air immense quoi, genre c'est tout est ouvert chez toi, genre c'est terrible.
Petit donc boulevard,
t'es
quand même.
Ah mais de fou. Donc c'est le rond-point de l'étoile hein, genre littéralement donc non mais t'es à la fois soulagé quelque part de voir que les deux vont bien. Immensément triste de voir donc vers quoi ça se dirige. Un million de questions qui n'ont pas de réponse et un truc qui te enfin mais c'est aussi la marque des grandes séries, des grands films, des grands jeux. C'est que bah
c'est la marque des bonnes histoires.
Exactement, c'est
que ça tu continues à y penser.
Toujours. Après tu y penses toujours, alors j'ai pas 10 ans plus tard, j'y pense encore hein, mais en tout cas pendant un petit moment j'étais en mode putain mais vraiment quelle histoire, on peut pas me laisser comme ça, c'est terrible. Donc non, la fin elle est parfaite et encore une fois même si tout a été rentré le plus rapidement possible dans cet épisode qui est je crois le plus court de toute la saison alors qu'on parle du final et les gens disaient tout à l'heure mais moi je m'attendais à au moins une heure et demie tu vois mais tout le monde s'attendait à une heure et demie, ils ont fait deux fois moins, les salauds ouais,
ils ont fait plus longtemps salauds. Ils ont fait plus longtemps sur Bill et Frank qui sont littéralement pas dans la série puisque dans la série contrairement au jeu ils sont morts avant que Joël et Ellie les rejoignent et je ne me plains absolument pas parce que c'est vraiment super l'épisode sur Bill et Frank, c'est la meilleure chose, ok ça valait le coup juste pour ça, mais ils ont fait plus longtemps là-dessus que sur le final de Joël et Ellie,
ben,
à proprement parler, en full time, quoi.
Ça rend fou, mais c'est quand même bien fait, et le fait que ça soit aussi, entre guillemets, rushé, ça permet de tout vivre fois 2, 3, 15, 10, ça dépend de votre sensibilité, et du coup, tu ne peux pas passer à côté.
Perso,
si
j'étais à 1000.
Allez, bah, fois 1000. Et ça te permet aussi de ne pas, de tout prendre, et de pas laisser des petits trucs à droite à gauche passer. Toi, t'es obligé de tout prendre dans la gueule. Il n'y a aucun moment où tu peux bloquer la phase.
Ah bah, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de ventre mou, c'est final, ouais. C'est bam, bam, bam.
Exactement.
Clairement.
Donc,
ouais.
C'est pour ça, en jeu vidéo, et c'était époustouflant. Et en série, ça allait même, je crois, encore plus. Est-ce que c'est parce que ce sont des vrais acteurs? Est-ce que
il y a ce côté-là?
Ouais, c'est plus fort, ouais. Est-ce que c'est parce que ils sont trop forts? Pedro et Bella, ils sont trop forts. Donc, du coup, bah, c'est génial. Est-ce que c'est le rajout des petits trucs en plus? Les backstories, tu sais, les flashbacks du début qu'on adorait et tout. C'est peut-être un peu tout ça, tu vois. Mais ouais, je trouve que la série a amené encore plus d'émotions que le jeu vidéo, pour le coup. Et j'ai préféré, la série au jeu. En revanche, quand il s'agira de parler de The Last of Us 2, moi, pareil, je préférais, mais plein de fois plus, je vais pas sortir un nombre ou un chiffre, mais The Last of Us 2. Donc là, par contre, je vais dire bon chance pour faire aussi bien parce que le 2, c'est une frappe ou une dinguerie, mais,
on reviendra vous parler de The Last of Us 2 au moment de la saison 2, je le rappelle, et je rassure Omelette12 dans le chat qui dit spoiler rien. Franchement, à partir de ce moment-là, ne spoiler rien du tout, c'est très important. On ne va pas spoiler la suite. Vous inquiétez pas, on reste sur la fin de The Last of Us Part 1. Qu'est-ce qu'on en pense de ce dialogue de fin et de ce OK?
Comme je t'avais dit la semaine dernière quand j'ai débriefé avec toi l'épisode 8, je me souviens quand j'ai joué au jeu, il y a ce cet instant là d'épilogue où ils discutent dans la montagne, etc., et ça coupe sur le hockey, et c'est, comme le dit Adi, c'est tellement abrupt en fait. Je me souviens vraiment avoir mis à peu près 6 mois, une demi-année, à me dire bon, est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai pas aimé, est-ce
bon,
que
je pense pas qu'il va y avoir la suite là maintenant.
Mais vraiment, je suis restée avec trop de questions, je suis restée avec énormément de ressentis, et c'est ça en fait qui a vraiment caractérisé mon gameplay, mon relationnel avec ce jeu. C'est que c'est un jeu qui a tiré énormément de ressentis de moi, et vraiment, enfin, je dirais même, il me les a extorqués.
Oui, t'avais pas le choix de ressentir des trucs.
Voilà.
T'as ressenti des émotions, t'étais là, en fait, j'ai pas envie, mais, I guess, elles sortent. Maintenant.
C'est ça. J'avais dit.
Mais moi, un peu devant la série aussi, donc.
Mais
je
vois,
comprends.
Ça, pour le coup, c'est très bien retranscrit. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a pris mon cœur en otage, et après, à la fin, on me l'a rendu. Il est un petit peu en miettes. Je fais, bon, voilà. Mais c'était, toi, et quand je me dis, bon, est-ce que c'était bien ou pas, je savais pas trop. Et bon, au final, ouais, c'était bien. C'était bien parce que ça fait partie des rares jeux qui m'ont, ben justement, en fait, qui m'ont poussé dans des réflexions, même. Surtout la partie 2, du coup, la partie 2. Mais la partie 1 également m'ont poussé vraiment dans des réflexions sur le médium jeu vidéo, tu vois, sur ce que j'attendais moi en tant que joueuse. Est-ce que j'avais envie de faire telle ou telle interaction ou pas? Est-ce que, tu vois, ce qu'on nous raconte aussi, parce que voilà, ouais, bien sûr, c'est sur fond de post-apo, etc. Mais en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que The Last of Us, ben, c'est surtout centré sur des histoires de gens, en fait. Et donc, il y a toute cette lecture, en fait, qui arrive, mais, tard, je trouve. Je dis à chaque fois, moi, je trouve que c'est un jeu qui se digère. C'est-à-dire que tu vas le faire, et puis en fait, finalement, ton ressenti final, il se fait un peu après, parce qu'il y a trop de choses classer. Ouais, exactement. Et moi, j'ai aimé le hockey à la fin. C'est vrai que je l'ai lu plusieurs fois dans le chat, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une acceptation d'Ellie qui se dit qu'en fait, peu importe que Joël lui mente ou pas, même si bon, il est pas très fort en mensonge, donc je pense que voilà, Ellie est quelqu'un de plutôt futé.
Pas doué, quoi.
Voilà. Ouais. Je pense qu'elle a bien compris qu'il lui dit pas vraiment la vérité, mais en tout cas, elle accepte. Elle accepte que cette histoire, elle est terminée. Elle accepte que cet arc-là, il est fini. En fait, ils vont passer à autre chose. Et que, ben, ils seront tous les deux.
Et c'est là où on arrive à la question philosophique. Est-ce qu'elle accepte dans le sens où c'est quoi le choix qu'elle a? C'est quoi l'alternative qu'elle a? C'est lui dire non, tu m'as menti, et probablement que c'est pas ça. Soit Joël va continuer à mentir, soit lui dire bah oui, voilà ce qui s'est passé. Et elle sera là, ok, donc.
Oui, bien sûr, elle pourrait très bien le confronter, mais en fait, elle sait pas ce qu'elle veut, elle veut avoir quelqu'un. C'est ce qu'elle dit au début.
Oui, elle veut pas être toute seule. Donc en fait, t'as pas vraiment le choix si ton choix c'est à la fin, je suis toute seule et c'est le truc que je veux le moins au monde. Tout comme Joël, il a pas vraiment le choix. Parce que son choix c'est, mais à la fin, Ellie elle meurt et ma fille elle meurt et en fait, j'ai déjà fait. Et guess what? Je n'ai pas envie de le refaire. Ce n'est pas une attraction dans laquelle je remonterai l'attraction décès de mon enfant personnel. Donc on va pas le refaire, même si c'est pas moins mon enfant personnel et que c'est plus genre mon enfant adoptif. C'est quand même pareil. Même énergie, ça compte. Et il peut pas s'imaginer vivre dans un monde sans Ellie. Et Ellie peut pas s'imaginer vivre dans un monde sans lui. Et du coup, c'est tragique. De fou, quoi.
Ouais, de fou. Hein.
Mais toi, t'es sûre qu'avec le hockey, genre, elle sait que c'est du bullshit?
Ouais.
Mais elle l'accepte.
Pour moi, je trouve que Ellie est un personnage qui a bien trop de suite dans les idées pour une petite gamine de 14 ans, honnêtement, elle a vraiment de la finesse de réflexion, que ce soit dans le jeu ou dans la série et tout. Et encore une fois, alors c'est vrai qu'on nous on sait que Joël lui ment, mais en plus dans la série vraiment Pedro Pascal il ment genre hyper mal.
Oui, et on a clairement alors je sais pas à quel point c'est clair dans le jeu, mais on a vraiment des flashbacks, bah notamment du coup on a toute la partie au sous-sol avec Parline qui finit on arrive à Ellie dans le présent qui demande ce qui s'est passé. Et on a un flashback pour nous confirmer, si jamais on en doutait, qu'il a tué Marlene. Ce qui est genre... D'un côté, je suis là, en vrai, on le sait. Genre, vraiment, il n'y a aucun... En fait, il n'y a aucune version de Joël qui tue pas Marlene. Mais si ça peut m'éviter un an et demi de théorie sur Internet de comment Marlene va revenir dans The Last of Us saison 2, je suis là, tu sais quoi, bute là. Comme ça, au moins, on a fini avec perso. No offense to les gens qui font des théories sur Internet. Encore une fois, c'est mon peuple aussi. Mais des fois... On s'accroche un peu trop aux motos qui disent si on l'a pas vu mourir, le personnage est pas vraiment mort. Et je suis là, non, je pense que scénaristiquement, il est mort parce que c'est l'intérêt de ce perso de mourir là. Donc, autant le confirmer. J'ai pas forcément aimé cette confirmation, mais enfin ce flashback supplémentaire où j'étais là. Voilà. À part ça, j'ai pas trouvé que ça manquait de subtilité à proprement parler. En fait, je pense que Pedro Pascal joue mal le mensonge parce que Joël joue mal le mensonge.
Oui,
parce que Joël sait pas mentir et s'exprimer.
Oui,
et enfin... je sais que t'as pas dit que Pedro Pascal joue mal, mais je suis là, enfin oui, clairement, il joue mal le mensonge. Après, je me rappelle aussi qu'Ellie, elle a 14 ans et elle vit dans un monde, enfin, tu vois.
Ouais, mais elle est fine.
Mais oui, non, mais
elle
sait.
Elle a de la finesse d'esprit. C'est ce qui caractérise évidemment un peu le personnage, hein. C'est que la première fois que tu la rencontres, tu fais, waouh, mais elle a 14 ans et elle est ultra badass, en fait.
Oui.
Et donc, pour moi, c'est ce qui caractérise son personnage. Donc, ouais, pour moi, bien sûr, à la fin, elle le sait, mais elle accepte qu'en fait, bah, c'est ça et que là, c'est la fin du trajet et après, bien sûr, ce ne serait quoi qu'il arrive pas exempt, d'une conversation sérieuse, longue et posée entre ces deux personnages.
Oui, parce qu'il y a encore un truc qui peut arriver. Il y a aussi ça,
oh là
c'est
là
que
ouais,
pour
arrive.
Le coup, les Fireflies, ils avaient quand même une solution très expéditive au problème. Là, on a quand même un boulevard. Alors, on est un peu pessimiste dans ouais, Joël, il a menti à Ellie, ils sont cassés, leur relation, elle est cassée et tout, ce qui est un peu ma vision aussi de leur relation. Et encore une fois, je sais pas ce qui se passe dans le 2. Mais il y a aussi tout un monde où je suis là, et peut-être posez-vous et parlez-vous. En fait, enfin, prenez le temps. Même Marlene et Joël, ils auraient dû prendre le temps de se parler. Joël et Tommy, ils auraient dû prendre le temps de se parler plus qu'un soir avec deux shots au pub avec du whisky nul, là. Et Ellie et Joël devraient prendre beaucoup plus le temps de se parler, où on voit qu'ils attendent des mois de voyage pour arriver devant la ville, du coup, Jackson, et être là. Et c'est quand Joël, il dit « Ah, on y est presque !» Ellie, elle fait « Ah putain, il faut qu'on ait cette discussion maintenant, parce que vraiment, sinon, après, on va arriver, il y aura des gens et tout. » Tu sens qu'elle a attendu le dernier moment, mais parce que, mais en même temps, enfin, je suis là, je vais pas blâmer la gamine qui a 14 ans, tu vois, c'est pas elle l'adulte.
Ouais.
C'est pas à elle, normalement, de faire ce truc qui est émotionnellement hyper dur, de dire, on va parler du non-dit hyper chelou qu'il y a entre nous, quand même. Sachant que ce non-dit est, peut-être t'as tué 12 adultes, dont un neurochirurgien qui est peut-être le dernier sur Terre, pour peut-être l'empêcher de faire un remède à la pandémie mondiale avec mon corps. Et en même temps, merci Agnès, parce que je suis pas morte, mais, ouais. Bizarre ce
non-dit
entre nous ou pas.
Et toi, t'en as pensé quoi de la fin?
Ah, moi je le savais, parce que je savais c'était quoi la fin. Je l'ai trouvé très bien joué. Je trouve que vraiment Pedro Pascal et Bella Ramsey continuent et ont fait sur 9 épisodes un boulot phénoménal. Je trouve que c'est à la fois une. En fait, j'ai pendant toute la série j'ai attendu de piéger pourquoi les gamers étaient autant en feu sur The Last of Us. Parce que je voyais l'histoire et je savais la fin. En plus, je savais que ça finissait sur Ellie. Enfin, ils amènent Ellie aux Fireflies. Joël se rend compte que les Fireflies, pour peut-être faire un remède avec Ellie, ils sont obligés de la tuer. Joël, il dit c'est non. Il amène les Fireflies et il ment à Ellie. Et Ellie, à la fin, elle dit ok. Et la grande question, c'est à quel point elle le croit. Et c'est ça, la fin. Et j'avais vu ça, j'étais là, bon, intéressant, pertinent, un petit peu provoquant, mais... Comme je le dis depuis le début de ce débrief, je suis là, en fait, je trouve pas ça révolutionnaire, The Last of Us, surtout pour une série de post-apo, de zombies, etc. Peut-être c'est révolutionnaire dans un jeu vidéo, mais en tant que personne qui regarde plutôt des séries, qui a lu beaucoup de comics, beaucoup de romans post-apo avec des zombies et tout, je suis là, bon, ok, voilà, c'est assez connu, assez vu et revu. Mais en vrai, je dois admettre que je comprends maintenant pourquoi ça fait 10 ans que les gens, ils sont... à obsesse sur cette fin, parce que c'est une des fins qui... Enfin, c'est une fin qui réussit ce pari très très rare de te donner ce que tu veux, mais c'est pas ce que tu veux, puisque c'est une happy end, mais c'est pas une happy end, puisqu'ils finissent ensemble et en sécurité, mais c'est la pire chose, puisqu'ils finissent en n'ayant plus cette épée de Damoclès de peut-être Ellie, elle peut sauver l'humanité, mais c'est pas une bonne chose non plus, et parce qu'entre-temps, ils ont appris à se parler, à se confier l'un à l'autre, et qu'ils ont tellement... changé et tellement été blessé, notamment Ellie qui commence quand même le voyage un peu plus innocente que Joël qui a déjà malheureusement vécu des traumas aussi de son côté, mais en tout cas Ellie elle s'est pas refermée, ils font un voyage inverse en fait, Joël il s'ouvre, Ellie elle se ferme, Joël il à un moment il dit à Ellie t'as pas vu le monde donc tu sais pas ce que ça fait de le perdre, et Ellie elle lui dit quand même détends-toi, enfin j'ai quand même l'intégralité de gens que j'ai connus qui sont morts ou qui se sont barrés, sauf putain de toi, et c'est comme ça qu'il essaie de rester avec elle en partant de,
après,
de Jackson.
Il dit ça quand même en pure, comment dire, en pure ignorance, hein, parce que...
En pur bluff.
Ouais, voilà, parce que quand tu connais l'histoire d'Ellie, et d'ailleurs, elle explicite un truc, alors que tu comprends dans le jeu, qui est explicité dans la série, c'est quel est son premier meurtre, en fait.
Oui.
Puisqu'elle arrête pas de dire tout le temps, non, mais c'est pas la première fois que je tue quelqu'un, etc., et donc voilà, il y a cette idée que non, si, quand même, elle a 14 ans, mais elle a.
Ah oui,
elle
oui,
a,
je
elle
dis
a
pas,
vu du DEL quand même.
Oui, oui, elle a eu des traumas. Mais je pense qu'il y a ce truc de. Elle a pas vécu le monde d'avant. Donc elle sait pas exactement ce qu'on a perdu. Mmh. Et en même temps, justement, peut-être qu'il faut ne pas savoir ce qu'on a perdu pour pouvoir reconstruire un truc. Et peut-être aussi que ce qu'on a perdu, est-ce que ce monde-là, il a perdu, il est perfectible. Et peut-être que des nouvelles générations, et c'était tout le propos entre Riley et Ellie avant que la pandémie de zombies ne fasse son office, c'est que qu'est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on peut changer le système de l'intérieur? Est-ce qu'on peut faire un autre système et tout? C'est qu'en fait, Joël, il se rend compte aussi que sa perception du monde à lui, elle est colorée par qui il est, et que Ellie, elle a peut-être moyen d'avoir... et que Ellie, elle a peut-être moyen d'avoir une perception du monde différente de par ce qu'elle a vécu, mais en fait, en allant essayer de sauver le monde, elle a gâché sa vision du monde, quoi. Et bah, dans le Prestige TV Podcast, il y a un auditeur qui a envoyé un mail et qui finit en disant « Pendant tout ce voyage, Joël, il a appris que l'amour, ça guérit. Et Ellie, elle a appris que l'amour, ça fait du mal. » Et en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont tous les deux commencé en... Joël, il avait plus de raison de vivre et il croyait plus en aimer des gens et se battre pour des gens. Et Ellie, elle était en mode « Grave cool, la vie, trop bien, tout est super. Je vais être un petit peu, genre, un petit peu bourru et tout, un petit peu genre ado rebelle, mais en vrai... » Ellie, vraiment, tu lui montres un Rubik's Cube, elle est là, waouh, amazing, un Rubik's Cube, genre tu tournes les trucs et ça fait des cubes et tout, elle est au top de sa vie. Et elle était vraiment en mode, moi je veux de l'amour dans ma vie, j'ai besoin d'amour, et bah elle a eu de l'amour et elle était là, en fait c'est de l'amour qui me fait du mal. Et les showrunners, notamment en la personne de Craig Mazin et de Neil Druckmann, ont dit que c'est une série dont le thème c'est la face sombre de l'amour inconditionnel. Mmh. Qu'est-ce que aimer inconditionnellement nous fait faire comme horreur? Et au final, bah, du coup, c'est bien retranscrit à la fois chez Ellie qui quand même tue des gens, et c'est aussi ça qu'elle dit à Joël. C'est en fait tout ce que j'ai fait, c'est pour rien. Il n'y a pas assez de thérapeutes dans le monde pour m'aider à vivre avec ça, donc il faut que ça serve à quelque chose. Il faut comment je sauve le monde pour compenser le fait qu'à cause de moi, plein de gens sont morts, ou même moi, j'ai, enfin, elle tue un gars. Elle tire sur un gars à Kansas City, et alors oui, c'est Joël qui l'achève et tout, mais elle voit un gars qui est pas beaucoup plus vieux qu'elle, qui doit avoir 18-19 ans, qui la supplie, qui est là, je m'appelle Brian, ramène-moi ma mère et tout. Elle est là en mode, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Et elle doit vivre avec, et elle a pas le choix de vivre avec. Et elle est là, si je sauve l'humanité, vivre avec, c'est pas plus facile, mais c'est moins compliqué. Et Joël, il la prive de ça. Il lui donne pas la chance de ça. Il lui dit, on va pas faire un vaccin, ni avec toi, ni avec personne. Il y a plus de vaccin, quoi. Et c'est genre, ah, c'est vraiment, il lui tue tout l'espoir. Mais parce que je pense, il pense que s'il y a pas d'espoir, c'est plus simple. Ouais. Comme ça, on a rien à perdre. Il lui dit, on peut aller où on veut.
C'est vrai que Neil Druckmann a dit que la série The Last of Us, elle était basée sur, justement toute la thématique de l'amour. Et oui, très clairement.
Oui. Et de l'amour et de ses multiples facettes.
Oui, voilà, exactement.
Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un moment qu'on parle et il est assez tard. On va pas se mentir.
Est-ce que vous avez... voulais faire un truc court et après on fait
non,
machin.
Mais on me
et après
connaît,
on fait bidule.
J'avais des plans et tout. C'est pas grave. On va continuer à se parler de The Last of Us. Personnellement, moi, Mimi, entre moi et vous, sur mes divers streams, parce que vous savez que je suis incapable de garder un conducteur et que du coup on parlera de ce qu'on veut, y compris de The Last of Us. Est-ce que vous avez un dernier mot, une chose à dire sur à la fois, enfin, soit sur cette fin et où? Qu'est-ce que vous attendez, sans spoiler bien sûr, de la suite? À quoi on peut s'attendre? Est-ce que vous avez hâte?
Tu peux.
Qu'est-ce qui se passe avec ce qui est peut-être la meilleure adaptation de jeux vidéo en série ou en film?
En série, c'est sûr. En film, on va attendre Super Mario. Mais après, si t'aimes les trucs qui sont très... parce que Super Mario, on va juste rigoler, ça va être rigolo. Là, Last of Us, quand même...
On a moins d'enjeux émotionnels dans Super Mario. No offense, Super Mario.
Non, mais Mario le prend bien, c'est un ami. Mais, je pense que The Last of Us, meilleure série, Mario... Ça risque d'être le meilleur film. On va bien les dissocier les deux, sans trop se prendre la tête.
Je pense qu'on va réussir à dissocier.
Ouais, je pense que ça va le faire sans trop de soucis. Mais non, c'était juste insane et ils avaient une lourde charge sur les épaules parce qu'ils auraient pu se faire tacler par les joueurs, mais les gens sont plutôt unanimes. Oui, ça manquait d'action selon eux. Moi, je trouve pas, mais bon, les gens sur les internets disaient oh, quand même, un peu plus d'action, ça aurait été cool.
On en reparlera à l'occasion. Ça manquait peut-être un petit peu de la menace qui plane. Quoi.
Voilà.
Mais on en reparlera.
In fine, moi, je trouvais ça très, très cool. Finalement, est-ce que les joueurs étaient vraiment la cible? Oui et non. Je pense que si quelqu'un n'a jamais joué à The Last of Us, il regarde ça, il se dit mais la série, elle est vachement bien. Donc, c'est ça le pari, finalement,
oui,
qui a été.
C'est ce pari-là. Plein de gens, en vrai. Ouais, quand même, c'est un jeu très très mainstream, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui regardaient la série sans avoir joué au jeu
bien
du
sûr.
Tout.
Donc le pari
même
est
parfois
réussi,
hein. Sans avoir d'affect avec tout ce qui est post-apo / zombie, parce que c'est quand même c'est quand même une série de genre, quoi. C'est comme Game of Thrones. Il y a plein de gens qui regardaient Game of Thrones et qui étaient là, putain, j'aime pas la fantasy, j'aime pas les trucs en costume, mais j'aime bien Game of Thrones.
Bien sûr, totalement.
Et je pense qu'il y a des gens qui aiment pas le post-apo et les zombies, mais qui aiment bien Last of Us. Parce qu'il y a peu de zombies et pas mal de post-apo.
Ouais, totalement. Totalement. Je pense que là-dessus, t'as raison. Donc, le pari, il est réussi partout. Ça a peut-être décoincé certaines prods et surtout leur montrer comment il faut faire pour bien bosser et nous permettre d'avoir des trucs cool à se mettre sous la dent dans le futur, dans un futur proche. Évidemment, The Last of Us Part 2 and 3 and 4 et je sais pas combien pour raconter The Last of Us 2 va être attendu mais de dingue parce qu'encore une fois Mary je pense sera d'accord avec moi quand elle prendra le mic, mais on a préféré, c'est plus intense, plus fou, il y a des rebondissements, des explications, c'est débile. Moi j'y croyais pas vraiment quand j'ai joué au 2, je me suis dit mais ça va être compliqué de faire mieux que le premier, tu parles au bout de 2 heures, t'es déjà en mode bon allez c'est bon, on va mettre The Last of Us 2 tout de suite au dessus et sans avoir terminé le jeu, mais c'est incroyable, il se passe trop de trucs. Bon, on spoil rien, mais ça vaut le coup d'y jouer, littéralement ça vaut
oui,
le
alors
coup
rappelons
d'y jouer
que,
vraiment très fort hein.
Tout comme vous pouvez lire Fire and Blood pour ne pas être spoilable sur House of the Dragon parce que vous aurez tous les bails. Vous pouvez jouer à The Last of Us Partie 2, d'ores et déjà disponible sur, en exclu PlayStation, hein, quand même.
PlayStation pour le moment, ouais, mais ça
donc,
va sauter d'ici quelques mois.
PlayStation 4 et 5.
Oui, et t'as le remake.
Le jeu numéro 1, il sort sur PC fin mars.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Tout à fait.
Le jeu numéro 2 est toujours dispo en exclusivité sur PlayStation. Voilà, vous pouvez l'acquérir et avoir l'intégralité de l'histoire de Joël et Ellie, et de l'intégralité de The Last of Us, donc Joël et Ellie Partie 1. On verra partie 2, qui est là, qui est pas là, pourquoi. Encore une fois, je n'en sais rien, je ne peux pas vous spoiler, je ne sais pas moi-même. Mais j'imagine qu'il y a quand même au moins une petite continuité. Mais peut-être pas. J'étais là, peut-être il y a une continuité au départ, et peut-être en fait on commence avec d'autres persos, et je suis là, I don't know. Quelqu'un dans le chat disait, comment convaincre quelqu'un qui n'aime pas trop les zombies et les séries post-apo? Comment convaincre les gens qui n'aiment pas les séries de zombies de regarder The Last of Us? Bah, dis-leur qu'il y a peu de zombies. Hein.
Bah, clairement.
Enfin, No Offense, c'est pas vraiment une série de zombies, donc.
Clairement, c'est comme disait Mary tout à l'heure, c'est très axé sur l'humain. Quel choix tu ferais. Le but, c'est de se mettre à la place des gens. C'est pareil dans The Walking Dead. The Walking Dead, je kiffais regarder parce que tu mettais à la place les choix qu'ils faisaient. Est-ce que tu fais les mêmes, pas les mêmes? Ça, bon, j'aurais fait différemment. Et le côté action, c'est. Ouais, c'est pas le but principal. Et The Last of Us, bah, c'est littéralement le cas. Des clickers, zombies, etc. Genre, t'envoies, un épisode à la fin d'un épisode où c'est un peu chaud. T'envoies un dans le musée, un qui attaque. Ouais,
ah bah il y a deux grosses scènes de zombies. Il y a les cliqueurs dans le musée et les la horde
qui sort de sous terre
à Kansas City. Après, il y a vite fait la horde qui attaque Tess, mais elle est déjà résignée.
Elle est déjà condamnée.
Enfin, voilà. Il n'y a pas tant de scènes de zombies. Donc, si vous aimez pas les zombies, regardez The Last of Us.
Ouais, clairement.
Et si vous aimez bien les zombies, en vrai, regardez The Last of Us quand même. C'est intéressant, ne serait-ce que pour le bail champignon, c'est cool.
Et puis on attend très fort aussi, je terminerai là-dessus, le 2 pour avoir les débriefs de Mimi.
Ah ben bien sûr qu'on reviendra pour la saison 2.
On attend très 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 fort.
Mimi and Friends, Adibou, Mary, y compris bien sûr, on reviendra pour des débriefs de la saison 2 de The Last of Us, Inch'Allah 2024, mais on a le time. Mary.
Ouais, moi j'ai bien aimé. Je trouve que à la fois la série et le jeu ont ce truc hyper fort de respecter leur support. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je trouve que ils sont arrivés vraiment à transposer l'histoire en série avec les contraintes de la série, avec les codes de la série, etc. Et ça fonctionne hyper bien. Et en fait. C'est ce que je disais la semaine dernière, tu vois, il y a des trucs qui vont être vraiment copier-coller, il y a des trucs qui vont être un peu différents, etc. Mais au final, finalement, tous les ressentis, tous les enjeux, etc., tu vas vraiment les recevoir de manière qui est vraiment très similaire. Enfin, à mon sens, en tout cas, je les ai reçus vraiment de manière très similaire. Et ça en fait deux expériences qui valent le coup, chacune sur leur support, en fait. Et je trouve ça fou parce que c'est pas une constance qu'on a dans le jeu vidéo d'avoir des adaptations qui vont raconter des histoires cool dans le jeu vidéo, parce que punaise, mais il y en a tellement d'histoires cool dans le jeu vidéo, mais enfin qui mériteraient d'être racontées en film, en série.
Si vous connaissez les grosses œuvres du jeu vidéo principalement par leurs adaptations ciné-série, sachez que jusqu'à présent, on a quand même relativement peu d'exemples qui respectent l'œuvre originale, qui respectent l'histoire originale et qui arrivent en plus à respecter le gameplay et la construction du jeu dans l'histoire, ce qui est un truc que The Last of Us arrive à faire, et c'est intéressant, on en a parlé pas mal, et aussi en intégrant les comédiens et comédiennes de doublage, on en a parlé aussi dans le jeu, qui est aussi une forme de respect à, bah, c'est vous qui avez fait l'histoire et l'attachement émotionnel de dizaines, voire de centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est peut-être le premier jeu vidéo, en fait, est-ce que c'est la première adaptation de jeu vidéo à mettre dans le casting des personnages qui, à la base, doublaient les persos du jeu? Probablement pas. Peut-être que c'est la première à le faire de façon aussi prominente, dans des rôles importants et avec du budget, etc.
C'est-à-dire
sans être un projet un petit peu bricolé et tout, que c'est HBO et qu'en fait, il y a le salaire HBO vers « Toi, mon gars, t'as doublé Joël dans le jeu vidéo et du coup, on est OK pour te donner un rôle qui compte, même si il est pas assez important. » On saura que c'est toi et t'auras des dialogues et tout parce que mec, t'es Joël du jeu vidéo, tu vois, t'es quelqu'un.
Bah ouais, carrément, surtout qu'en plus, les comédiens dans le jeu vidéo font un boulot de fou. Alors bien sûr, ça passe par de la motion capture, etc. Mais il y a un vrai travail, il y a des vraies performances qui sont délivrées. Et comme c'est du jeu vidéo, ben tu vois, c'est pas forcément des choses qu'on a tendance à, tu vois, saluer ou bien juste regarder. Et c'est vrai que leur donner la possibilité de s'exprimer vraiment en chair et en os, comme l'actrice qui joue Marlène, etc., bah, moi, je trouve ça incroyable, en fait.
Parce quelqu'un dans le chat, beaucoup plus tôt, quand on parlait de Marlène, disait « Je trouve que Marlène, c'est genre le meilleur choix d'actrice. » Et quelqu'un lui a dit « Bah, en fait, c'est la meuf du jeu. » Et en fait, c'est vraiment juste c'est la meuf du jeu de base qui joue Marlène. Donc, ouais, c'est un trop bon choix d'actrice.
Ouais.
Et ça, et en fait, c'est fou de voir des gens aussi qui traversent... En fait, comme dans le jeu vidéo, tu vois pas leur physique, tu peux te dire « Bah, ils peuvent avoir un physique complètement... » varié, qui va pas forcément coller au perso. Et alors, il y a un très bon boulot de costume et tout ça, mais je suis la mère de, enfin, Anna, la mère de Ellie, oui. Marlene, oui. Troy Baker, oui. Enfin, tout le monde, ça marche, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais vraiment, il y a ce, je trouve qu'il y a ce respect, en fait, pour le support original, donc, qui est le jeu vidéo, qu'on retrouve trop peu encore dans les adaptations et qui a vraiment fait du bien. En effet, il y a un truc qui est mis en lumière, même, tu vois, le compositeur du jeu qui a repris, enfin, qui, du coup, a composé les musiques de la série, etc. Il y a vraiment cette idée que, bah ouais, en fait, on va pas trahir notre matériel de base parce que notre matériel était bien, notre histoire elle était bien, le cast qu'on a fait il était bien, etc. On va juste le réincorporer, le raconter un peu différemment et le raconter sur un support qui est différent. Et ça fonctionne très très bien. J'ai réellement hâte de The Last of Us Part 2. Alors autant The Last of Us Part 1 parle des thématiques de l'amour qui, à titre personnel, m'ont vraiment parlé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis restée vraiment sur cette fin d'histoire. Je me suis dit, ah, franchement, c'est cool et trop bien. The Last of Us Part 2, Pic 3000. Vraiment.
Ça veut dire quoi, Pic 3000?
Pic 3000.
C'est bien ou c'est pas bien?
C'est-à-dire que ça va te...
Ah, genre, si t'étais pas bien à ce moment-là, ça va être bien. Ouais, ok, d'accord. Quoi, vous avez entendu, c'est fois 3.
Oméga Pic, du coup.
Moi, j'ai Pic Pirate. Ah oui, Oméga Pic. Je l'ai, vous l'avez. Oméga Flex, German Suplex, truc de... Vous l'avez? On l'a expliqué tout à l'heure. J'ai complètement retenu. Yes.
Donc voilà. Mais ça va être super intéressant. J'ai hâte et surtout j'ai hâte de découvrir le cast de ce nouveau personnage qu'on ne connaît pas encore dans la saison 1. Est-ce que je peux la nommer ou c'est du spoiler?
Non, on va rien dire.
Okay.
C'est quoi? Dans le doute, on va rien dire.
Okay, okay.
Moi, je suis team spoiler phobe, donc dans le doute, on va rien dire. Et je sais que parfois, il y a un truc de t'as vu un truc sur internet, t'étais pas sûr, t'étais là.
Ouais, du coup,
ça a l'air d'avoir un rapport à un truc, mais je veux pas savoir. Et d'un coup,
tu as raison.
T'es là, tu regardes ton petit débrief de Mimi et tout, et t'entends un prénom ou quoi, et tu fais ah bâtard, j'ai relié les points, je voulais savoir. Donc on ne va pas vous faire ça. Écoutez, ce fut un plaisir de débriefer The Last of Us avec vous, en partie, avec vous pour le final aussi, et avec vous, internet. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans tous ces débriefs. Merci Adibou. Merci Mary.
Merci beaucoup.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Adibou et Mary dans les liens qui sont dans la description. De mon côté, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch, mes podcasts, etc., etc. C'est la fin des récaps rigolos de The Last of Us jusqu'à la saison 2, mais vous retrouvez les récaps rigolos sur mon Patreon de Succession dans 10 jours, quand la nouvelle saison commence, ainsi que les débriefs de Succession sur cette chaîne Twitch et en podcast. Ok ? Donc vous n'allez pas vraiment rater grand-chose. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous accompagner. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là chaque mardi pour parler de The Last of Us. C'était très cool. Merci de votre patience aussi par rapport à des formats très longs. Mais guess what ? Je ne suis pas une personne qui économise ses mots et j'aime bien les formats longs, donc j'ai décidé d'en faire sur Twitch. Donc des fois, on passe 4 heures à parler de The Last of Us et c'est très bien. Merci d'avoir été là, Adibou.
Ben, merci beaucoup, c'était cool à refaire quand tu veux. Et si tu fais la même avec des animés ou ou des mangas.
Ah, écoute, un jour
je
peut-être.
Je viens en
un jour
drift,
peut-être. Ok.
Mais sale drift, tu vois.
Mais tu vas encore dire des terminologies que je connais pas, mais tu me feras du vocabulaire.
Du full japonais, du franglais japonais, ça va être un bordel, mais ça va être très très sympa.
On fera des points contexte. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci Mary. Merci Adibou. Allez les suivre. Ils sont genre pouces en l'air, plus que le cordyceps. Et à bientôt sur cette chaîne et ailleurs dans le Nerdiverse, qui est l'endroit où j'habite. Bisous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de série, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.